This station is being brought to you via NOLSOFT Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
All wings report in.
Red 10 standing by.
Red 7 standing by.
Red 3 standing by.
Red 6 standing by.
Red 9 standing by.
Red 2 standing by.
Red 11 standing by.
Red 5 standing by.
Broadcast forms in attack position.
Accelerate to attack speed.
Heavy fire, boss. 23 degrees. I see it. Stay low.
There's a lot of fire coming from the right side of that deflection tower.
I'm on it.
Going in. Cover me, Porkins.
Red 6, do you see Red 5? There's a heavy fire zone. Red 5, where are you?
I can't shake it.
Hold tight.
Are you all right?
I got a little cook, but I'm okay.
I got a problem here.
Check. I can hold it.
This is it, boy. We're in position.
We're starting our attack run.
Switch all power to front deflection screen. Switch all power to front deflection screen.
Say about 20 guns, some on the surface, some on the tower.
Targeting computer.
Computer one. Getting a signal. Gun. Stop. Stabilize your rear deflectors. Watch for enemy fighters.
They're coming in. Three marks and 2-10.
Stay on target.
We're too close.
Stay on target.
I copy, Gold Leader.
It came from behind.
Rebel base, 1 minute to closing.
Keep those fighters up our back.
Right with you, boss.
Luke, at that speed, we'd be able to pull out in time.
Be just like Beggar's Canyon back home.
I'm in.
I can't stay with you.
Get clear, Wedge.
You can't do any more good back there.
Sorry.
Our two, that stabilizer is broken loose again. Keep the cap on it down.
You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home.
Luke, trust your feelings.
Great shot, kid. That was one in a million.
Remember, the Force will be with you. Always.
Bonjour, je suis Patrick Giraud, responsable du Lucasfilm Magazine, le magazine officiel de Star Wars en France, et vous êtes sur Star Wars en direct.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com. Citlan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Star Wars en direct est une présentation de SimpleNet.
Avec SimpleNet, obtenez à moindre frais une vitrine publicitaire pour votre compagnie ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinate tractor beam is pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Et bienvenue tout le monde à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Lunatique, je suis en compagnie cette semaine. Si vous regardez la webcam, vous voyez que c'est pas Sébastien, mais bien Dark Jedi. C'est le GF.
Bonjour.
Et donc, il va remplacer Sébastien, qui est survient à l'aide de l'Association Montréal de Science-Fiction, parce qu'ils ont eu un petit problème pour une conférence. Donc, il est là-bas. Et il peut pas être ici. Sa priorité n'est pas Star Wars en direct, malheureusement.
Il semble que non.
Bon, aujourd'hui, le sujet principal, c'est la trilogie classique sur DVD. Le sujet est très attendu. Le sujet secondaire va être l'entrevue avec Veronica Whitner Robinson, qui est l'auteur du roman de Star Wars Galaxies, Ruins of Dantooine, et on va suivre, évidemment l'entrevue est en anglais, donc on va la traduire par la suite. Comme d'habitude, les chroniques hyperespace, chroniques événements. Comment nous rejoindre? Par email à studio@swandirect.com, studio@swandirect.com. Sur MSN Messenger, vous pouvez rajouter l'usager swandirect@hotmail.com, swandirect@commercial.hotmail.com, et vous pouvez, évidemment, il y en a plusieurs qui nous écoutent qui ne sont pas dans le chat, vous pouvez aller rencontrer tous les autres auditeurs dans le chat, aller sur le site www.swandirect.com et aller rejoindre les autres. Le lien est sur le lien pour le chat est sur la page principale. Et il y a une webcam aussi. Ce qui est aussi un lien sur au-dessus du menu de la page principale. Donc, vous pouvez nous voir à gauche, Dark Jedi, à droite, Lunatique. Bon, vous écoutez en musique d'arrière-plan. Vous avez peut-être reconnu, comme Dalsk l'a fait, la musique de Lord of the Rings en arrière. C'est parce que, avant d'entamer nos sujets Star Wars, j'ai eu la chance d'aller voir un concert du Seigneur des Anneaux. Cette semaine, lundi passé ici.
Oh ouais.
Et puis, enfin, c'était un concert organisé par le Festival Montréal en Lumière. Et puis, j'ai aucune idée comment ils ont fait, mais ils ont réussi à inviter Howard Shore, le compositeur du Seigneur des Anneaux. Puis, il est venu faire un concert de 2h30. Sur le Seigneur des Anneaux. Ils ont joué 36 pièces des CD avec orchestre et chœur de chant. Il y avait 200 chanteurs dans le chœur de chant. Un tiers des femmes, un tiers des enfants, un tiers des hommes pour les différentes... Et c'était filmé pour la télé. Il y avait 6 caméras sur place. C'était sold out. L'ambiance était incroyable. Et puis, ils projetaient sur un grand écran en arrière de l'orchestre, au-dessus de l'orchestre, des concept art que Alan Lee a fait pour le film. Donc, des brouillons, un peu de gribouillis de dessin qu'il a fait. Puis, ça, en avançant dans l'histoire, ben, on voyait les concept art se projeter sur l'écran. C'était vraiment hallucinant. Moi, c'est l'expérience musicale la plus géniale que j'ai eue dans toute ma vie. Je peux dire que j'ai pas eu une minute sans frisson pendant 2h30 de temps.
C'est bon. Il n'y a pas d'André à carré.
Oui, il y avait une entrée. Mais ouais. Pour le concert là, en tant que tel.
Est-ce qu'on dit quand est-ce que ça allait être diffusé?
Je crois que il va. Ben, c'était un partenariat entre. Je pense qu'il y avait en plus de Radio-Canada, tu avais Bravo, New Line Cinema et puis Art TV. Donc j'imagine que ça va être diffusé à Art TV et à Bravo. Probablement à Radio-Canada au beau dimanche, selon moi.
Une heure.
Ouais. Abrégé probablement, sûrement pas le concert au complet, là. Et puis j'ai entendu le mot DVD.
Oh.
Fait que c'est peut-être un DVD, je sais pas si c'est un DVD du concert seulement, qui va être vendu, je sais pas, avec avec d'autres spectacles du Festival Montréal en Lumière, ou si ça va être un DVD séparé, ou qu'est-ce que j'aimerais, ça soit que ça soit dans le coffret.
Ouais, le Ultimate.
The Return of the King, ou peu importe. Mais vraiment, c'était vraiment bon, là. Puis, t'avais des solistes sur place. T'avais deux femmes qui faisaient des solistes. T'avais le petit jeune.
Ouais.
Le petit enfant qui fait des solos sur Fellowship of the Ring. Puis, c'était vraiment là, oh, la gueule par terre, là. C'était comme vraiment hallucinant. C'était, par contre, très dispendieux. C'était 85$ le billet.
Ouais.
Mais c'était une représentation unique en Amérique du Nord. Je pense pas que Howard Shore va faire d'autres concerts de 2h30 uniquement sur Seigneur des Anneaux.
C'était pas une tournée. Là.
C'était pas une tournée. C'était un événement. Pourquoi Montréal? Howard Shore des Canadiens. Mais c'était vraiment... Là, j'ai vraiment trop trippé. Il y avait Sébastien qui était là aussi. Il y a d'autres membres de cette clan qui viennent de ces forums de temps en temps. Comme Space Dragon qui était là avec sa copine. J'ai rencontré du monde. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu. Là. C'était vraiment hallucinant.
Cool,
là. Très émotionnel comme concert, là. Puis c'était comment dire, c'était tight parce que c'était pour la TV. Fait que t'avais même un caméraman sur scène qui se promenait entre les instrumentistes. Puis c'était vraiment l'orchestre, c'était pas des débutants, là. Vraiment, il y en a beaucoup qui avaient des têtes blanches. Autrement dit, d'après moi, il y avait 20 ans et plus d'expérience, ouais, dans leur instrument. Puis c'était vraiment là, hallucinant. Moi,
la marge d'erreur était très mince, madame.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment eu d'erreur. Je pense que les seules erreurs que j'ai vues qui vont peut-être paraître à l'enregistrement, c'est un des caméramans a accroché une chaîne ou quelque chose. Ça a fait un petit gling qu'on a entendu dans la salle. Peut-être que ça paraîtra pas dans les micros. Et puis, je pense qu'il y a une des personnes dans le chœur qui a toussé à un moment donné. Non, dans le chœur de chant. Donc, les micros sont face au cœur de chant.
Ouais.
Puis, probablement qu'on va l'entendre un petit peu, mais ils vont sûrement être capables de diminuer ça quand ils vont éditer le son, probablement. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais c'était vraiment hallucinant, là. Donc, c'était comme une petite critique comme ça. Pas pour vous faire chier parce que vous l'avez manqué, mais quasiment.
Ouais, c'est ça.
Mais ça valait vraiment la peine. Si on apprend quand que ça va être diffusé ou quand si c'est un DVD, quand ça va sortir, on va vous le mentionner. Je sais pas si ça va être le DVD de Collector's Edition de Return of the King, peut-être, mais 2h30, c'est un DVD au complet, là.
Ouais, c'est ça.
Fait que
surtout pour,
ça va être rajouté, ça sera pas 6 CD, 7 CD. À moins qu'il commence à manquer de matériel, mais je penserais pas.
Non, je pense
que avec le retour du roi, ils manqueront pas de matériel. Bon, sur ce, on va aller à la première pause musicale et on revient après la pause à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars avec la chronique Hyperspace. À tantôt.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere.
Veronica Whitney Robinson, the author of the Star Wars Galaxy novel, The Ruins of Dantooine, and you are listening to Star Wars on Direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On va faire un petit salut à ceux qui sont dans le chat.
Oui, il y a Dask, Darklight, Igloo, Kaminoan, Karin, Lunatic, ça
c'est moi.
Mémessé, Padmé Amidala, Pittsburgh, Raven, Sama 8, Sama 8, excusez, Chacal, Sammy, puis Spaceman.
Je crois qu'il y en a qui sont des doublons là-dedans, comme Karin, puis Padmé, puis Sama 8 et Sammy, mais un petit bug du chat probablement. Bon, alors donc, la chronique hyperespace, tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc, on ne parle pas de spoilers dans la salle principale du chat. Si vous voulez parler spoilers, allez dans My Room 1, qui est la salle en dessous de la liste de noms. Allez là et vous pouvez discuter librement des spoilers là. J'ai pas combien de temps tu penses que ça va prendre? Environ. On 15 minutes. Oh, okay. On va faire un blanc de 15 minutes. Donc, ceux qui ne veulent pas entendre les spoilers, baissez le volume. On va vous avertir dans le chat quand le 15 minutes va être terminé. Vous pouvez remonter le volume pour continuer à écouter l'émission sans être spoilé en mai 2005 par rapport au film. Donc, on va faire la petite intro à Hyperspace et on commence immédiatement avec la chronique Hyperspace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Cette chronique est une présentation de Star Wars en direct.
Alors, c'est parti. Vas-y, Jeff.
All right. OK. Donc, le 17 février, il y a Pablo Hidalgo, c'est lui qui a fait les 7 diaries lors du tournage de l'épisode 3. On sait qu'il a ouvert un forum sur Hyperspace. Mm-hmm. Il a fait une question-réponse qui, au début, devait être sur le service Hyperspace, mais maintenant, c'est plus rendu une question-réponse sur l'épisode 3.
L'épisode 3. Ouais, c'est ça. Puis il répond quand même à toutes sortes de petites questions.
Ouais,
on a tout le temps des petits indices à mesure que...
Oui, c'est comme il détruit les rumeurs qui sont pas vraies.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'en date du 17 février, voici ce qu'il a dit. Vader ne va pas utiliser les touches sur son armure qu'on voit sur son torse.
Self-destruct.
Ouais, c'est ça. La chute d'Anakin n'est pas la faute d'Obi-Wan ou Padmé. Anakin est responsable de ses propres actions. Ensuite, il n'y a pas de ARC Trooper. Les ARC Troopers, ça c'est les Troopers qu'on peut voir dans la série Clone War ainsi que dans la bande dessinée Republic. Mm-hmm. Puis Jango Fett est la seule source des clones. Il n'y aura pas d'image complétée du film de publier avant la sortie de la première bande-annonce au mois de novembre. La bataille spatiale ne dure pas 20 minutes. En fait, elle enclenche les premières 20 minutes du film. On va voir une grande variété de vaisseaux. Puis Pablo ne croit pas que la bataille spatiale aura un impact dramatique aussi grand que la bataille de Endor, puisque cette dernière est la dernière bataille de la série. Le premier plan du film a une durée de 2 minutes 37, ce qui est quand même long pour un...
Le premier plan.
Ouais, le plan, ça veut dire que la caméra est fixée.
Le scroll, puis le...
La caméra, après ça, reste fixée pendant 2 minutes 37 pour nous attirer dans la bataille spatiale, puis pour nous montrer le qui se bat contre qui. Sly Moore, qui est l'assistante de Palpatine, qu'on a vu dans Attack of the Clone, c'est celle qui a pas de cheveux, qui
a
comme des
cadavre.
Ouais, elle a comme des plumes, on dirait. Il a juste mentionné qu'elle avait aucun dialogue. Contrairement à certaines rumeurs que j'ai jamais entendues, mais ça a l'air qu'il n'y a aucune version longue de Phantom Menace puis Attack of the Clone qui va être présentée en salle avant la sortie de l'épisode 3.
En fait, une version Pablo, longue, avec les scènes de rajouter.
Ouais, mais c'est ça. Pablo, il dit qu'il n'y avait aucune version longue de ce film-là qui existait. Là, comme il a dit, les scènes ont été coupées pour une raison, pas pour être ajoutées plus tard.
C'est ça. De toute façon, il faudrait tout réajuster la musique.
Ah,
il faudrait que John Williams recompose la musique pour que ça puisse être continué avec les nouvelles scènes.
Ouais, c'est ça. On va voir des jeunes Padawan dans le film, si on le savait. Ensuite, le district industriel de Coruscant, où se trouve la base de Sidious dans l'épisode 2.
À la fin.
Ouais, à la
fin. C'est comme rouge out, là. Ouais, c'est vraiment cool.
Ben, on le verra pas dans l'épisode 3.
Ah, bon.
Tout ça pour ça.
Oh, merde.
il va y avoir plusieurs nouvelles planètes. Et pour le moment, il n'y a aucun Spider Droid ou Hellfire Droid dans le film, qu'on a pu voir dans la bataille de Geonosis. Clegg Lars, le père de Owen Lars, n'est pas présent, et nous n'allons pas connaître l'espèce ni la planète d'origine de Yoda.
Damn! Mais peut-être dans le roman qui va sortir de Yoda.
Ouais, peut-être, mais ça serait mieux, non.
Ouais. Il faut que ça reste inconnu à tout jamais.
Ouais, c'est ça. Peut-être pas à tout jamais. C'est un mystère. Tu fais ta propre idée. Ça donne, on dirait que ça veut comme dire qu'il est peut-être la dernière de son espèce, personne de son
espèce. Il y a Yaddle,
ouais,
elle
est
qui
mort.
Est plus jeune. Elle est morte.
Ouais, elle est morte.
Ben oui, c'est vrai. C'est plate.
Ouais. les dignitaires de l'Empire que l'on voit dans Return of the Jedi ne sont pas présents. Par contre, Pablo avait mentionné quelque chose d'intéressant. Il a dit que les vêtements des dignitaires de l'Empire ressemblent étrangement à ceux portés par les politiciens de Naboo dans l'épisode 3.
OK.
Fait que...
Fait qu'on va dans Return of the Jedi, on regarde les habits des dignitaires, puis ça ressemble à
ceux des politiciens de Naboo. Okay. Je sais pas s'il y a un lien, sûrement.
Ben, ça doit être des anciens politiciens qui sont aides à Palpatine, n'est-ce pas?
Ouais, effectivement. lors du tournage qui va avoir lieu ce printemps, la majorité des scènes vont être filmées devant des écrans bleus et des écrans verts. Le sénateur Mon Calamari, qui est la même race que Akbar, que n'ont pu voir une image dans le set diary cet été, il n'y a aucun dialogue dans le film. et vous devez avoir vu les épisodes 1 et 2 pour comprendre l'épisode 3, car le film assume que vous connaissez Anakin, Obi-Wan, Padmé, Palpatine, je veux dire, et les autres.
J'espère bien, là, quand même. Ouais, <non. rire> tu sais, il me semble que c'est le premier film que tu vois l'épisode 3.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est cool.
T'as manqué une
c'est
partie
bizarre,
là.
C'est comment ça fait qu'ils sont ensemble, eux autres?
Ouais, c'est ça. la série animée Clone Wars va sûrement se retrouver en format DVD. C'est moyen de faire de l'argent.
C'est ça.
Il y aura des batailles épiques dans le film, mais contrairement à ceux de Lord of the Rings ou de Matrix, les scènes de combat épiques impliquent seulement deux personnages. Donc, c'est le duel Obi-Wan Anakin. Mm. La raison pour laquelle on a...
Est-ce qu'on mentionnait si c'était sabre rouge et bleu, officiellement?
Non.
Non?
Pas encore.
Pas encore.
Il a juste dit que ça avait été choisi, puis qu'un des deux sabres, on le voit dans Return of the Jedi ou Empire...
Ça doit être celui de Darth Vader.
Ouais, c'est ça. La raison pour laquelle on ne voit pas autant d'images Before the Helmet de Padmé ou Obi-Wan, par exemple, c'est que certains acteurs ont des droits d'approbation sur les images. Donc, ça prend plus de temps. Il y a des éléments de l'épisode 3 qui ont été mentionnés dans l'univers étendu, mais ils sont passés complètement inaperçus. Donc, c'est à analyser.
Tout le monde, on relit tous les
ouais,
livres.
C'est ça. D'après moi, ça doit être plus dans la bande dessinée Republic. Il doit y avoir beaucoup d'éléments, vu que ça se concentre sur la guerre des clones.
Okay.
Ou peut-être le Holonet News dans le Star Wars Insider. Okay.
Mais ça doit pas être après. Ça doit pas être dans les années... Bon, peut-être. Il y a peut-être quelques indices, comme le Outbound Flight Project. Et s'il mentionne ça dans l'épisode 3, là, c'est comme...
Ah, c'est
what
ça.
The fuck?
Non, j'ai aucune idée. D'après moi, ça doit être plus comme surtout pour Republic depuis qu'ils ont commencé la guerre des clones. Ça doit être là qu'il y a des indices de planète ou de je sais pas. Il va y avoir aussi des références à l'amour, la relation Padmé-Anakin. Anakin va commettre d'autres atrocités dans le film comme le massacre des Tusken dans l'épisode 2 et certaines de ces atrocités seront vues à l'écran.
Donc
massacre des Jedi.
Ouais, des jeunes Jedi mais à l'écran. Pas du cinéma, mais dans un petit, ils vont checker une vidéo, donc c'était ça a un double sens sa phrase.
C'est vrai, j'avais pas pensé. à l'exception de Jar Jar, il n'y a pas de Gungan dans le film.
C'est déjà
c'est
trop.
Une bonne nouvelle.
C'est déjà trop.
On ne va pas avoir de nouveaux pouvoirs de la Force. Et lorsqu'une personne demande à Pablo s'il y a une bataille navale dans l'épisode 3, Pablo répond « Je vais passer la question pour le moment. » Ce qui veut probablement confirmer qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'eau.
Bataille navale, tu sais, la Imperial Navy, c'est dans l'espace.
Ouais,
c'est
non,
la
mais,
marine impériale.
Non, mais là, il parlait vraiment d'une bataille sur l'eau.
Sur l'eau. Ben, il y a des scènes dans l'eau, fait qu'on imagine.
Ouais. On va voir. Il n'y a eu aucune fin différente concernant certains événements qui ont été filmés. Comme il y avait la rumeur sur le destin de Padmé. Certains disaient que Lucas avait filmé deux fins différentes, une dans laquelle elle meurt, une dans laquelle elle survit, puis là, il allait décider à la dernière minute quelqu'un allait mettre, mais c'est pas vrai. C'est toutes les scènes ont été filmées, qui ont été filmées et suivent le scénario.
Je sais pas s'il mentionnait, dans la dernière émission qu'on avait faite, il mentionnait que finalement, le contexte de la mort de Padmé, avec qu'est-ce que Léa dit dans Retour du Jedi, c'est vrai selon un certain point de vue. Fait qu'on peut imaginer que Léa a peut-être pas été élevée par Padmé,
ouais,
mais par quelqu'un d'autre.
Oui, c'est exactement. Le rôle de Newt Gunray est plus gros que celui de l'épisode 2, mais plus petit que celui de l'épisode 1. Donc, c'est un mélange.
Et l'épisode 2, qu'est-ce qu'il fait?
On le voit juste à la fin. Quand il
comme
est
dans la salle.
Dans la salle de
Juno's War Room, ok, c'est tout.
Le duel entre Anakin et Obi-Wan est un mélange des duels Vader-Luke de l'épisode 5-6 et du duel Obi-Wan-Darth Maul dans l'épisode 1. Donc, ça doit être assez violent. Poggle the Lesser, qui est le chef des Geonosians, va être de retour.
Ouais,
c'est ça. C'est lui qui parle comme Starvin Marvin.
Ouais, c'est ça.
On pourrait avoir une discussion sur Hyperspace avec l'éditeur Roger Barton, mais il ne pourrait pas vraiment rien dire sans donner de spoilers. Fait que les amateurs de spoilers seraient ravis.
C'est l'éditeur du film?
L'éditeur du film, c'est okay. Ça. Et on pourrait aussi avoir une discussion avec Rob Coleman et John Knoll de ILM. Ça, s'ils trouvent un moment dans leur séduire.
Pas que je rajoute ça sur la liste, là, moi.
Ouais, c'est ça. les soldats clones que l'on voit dans le plus récent Star Wars Insider ne sont que des maquettes. De toutes les maquettes, il y a seulement 4 modèles qui vont être utilisés dans le film. George veut montrer l'ampleur de la guerre des clones dans l'épisode 3 avec plusieurs combats sur plusieurs planètes. C'est pour ça que... Oh, plusieurs planètes. Mace Windu n'aura pas son propre thème musical. Ouais, mais c'est chiant. Le roman de l'épisode 3 devrait paraître en avril 2005. Matthew Stover a rencontré George Lucas le 30 janvier, ce concernant le roman, et donc le travail est commencé.
Ça, j'ai hâte qu'on l'aille en entrevue, il nous l'a dit qu'il ferait une entrevue après que le livre soit sorti. Là.
C'est bien ça.
Pour notre émission, là.
Ça oh, yes. Il va y avoir des batailles terrestres épiques avec plusieurs clones, droïdes et Jedi. On ne voit aucun sabre laser sous l'eau. Kit Fisto va mourir d'une façon héroïque, mais pas aussi héroïque que Mace Windu. Azaj Ventress, qui est la vilaine qu'on voit dans Clone Wars puis dans Republic, n'est pas dans le film.
Et... Imagine là, si elle meurt à la fin.
Ouais, c'est ça.
Dans Clone Wars.
Il n'y a pas de fantôme Jedi dans le film, mais nous allons savoir pourquoi certains Jedi peuvent revenir.
Yes, enfin.
Oui. Le texte du début du film est écrit, et de tous les Wookiees que nous allons voir dans le film, seulement deux ont des noms, dont Chewbacca. Et Roon Akko, l'assistant de Newt Gunray, est de retour. Ensuite, il a mentionné que la mise à jour de la base de données avec les différents chasseurs TIE de l'Empire donne quelques indices sur l'épisode 3. Cette mise à jour a eu lieu il y a quelques semaines. Si le personnage de l'univers étendu ne fait pas son apparition dans l'épisode 3, Pablo va dévoiler l'identité de ce personnage. Aux dernières nouvelles, la scène devrait être coupée car elle ralentit le film. Donc, la preuve qu'il n'a pas un rôle vraiment important. Okay.
Mais pourquoi pas le garder, mais fait juste le faire passer en arrière, au lieu de...
Je sais pas.
J'aimerais ça voir Tron, vraiment.
Ouais, mais ils ont confirmé que c'était pas ça.
Ouais, c'est ça.
Il va avoir mention de Shmi Skywalker. Il y a plusieurs nouveaux concepts de droïdes. Les vaisseaux des soldats clones ont un look familier. C'est en référence à la trilogie originale. Et il n'y a aucune référence à Corrin Horn.
C'est juste s'approcher des TIE Fighters, j'imagine.
Je sais pas. Déjà que les Jedi Starfighter ressemblent aux TIE Fighter. Je sais pas. Surprise. Il y avait une image photoréceptor qui est comme les images Before the Helmet, mais pour la production de la trilogie classique, qui était intitulée On a Mission, qui est parue en même temps que l'image Before the Helmet du même titre. Sur l'image photoréceptor, on voit Luke dans le couloir du palais de Jabba pour libérer ses amis. Et l'image de Before the Helmet montre Anakin Skywalker. Pablo indique que les deux images ont le même titre car ils avaient une similarité visuelle. Et s'il y a une similarité au niveau de l'histoire, ce n'est pas intentionnel.
Bon,
C'est juste ça. Le général Grievous n'a pas une présence majeure dans le film. Il est dans le film assez longtemps pour établir son rôle et son importance. Le reste sera dévoilé dans l'univers étendu. Bon, évidemment,
donc,
il y aura...
A New Threat.
A New Threat, ça commence.
Le roman de Boba Fett.
Ainsi que la série Clone Wars. Ouais.
Grievous va être dans la série Clone Wars?
Ouais, le 20e épisode.
Ah, okay, je pensais dans les BD Clone Wars.
Non. Okay. Ben, il va sûrement faire son entrée, là, aussi. Il n'y aura pas de mise à jour de la base de données avec un thème de l'épisode 3 avant la sortie de la première bande-annonce. Et lors d'un set Diary l'été dernier, Pablo avait mentionné que l'acteur Rohan Nickel avait été choisi car il avait une ressemblance avec un personnage de la trilogie classique. Pablo a confirmé qu'il ne jouait pas le rôle de Tarkin.
Ah, donc le gars qu'on pensait que...
Non, c'est ça.
C'est pas Tarkin?
C'est pas Tarkin.
Il ressemble, mais c'est pas Tarkin.
C'est ça.
Bon.
Ok. Ensuite, le 18 février, Pablo a encore... répondu aux questions des fans. Il a indiqué que les acteurs Peter Mayhew, Mary Oyaya, Mimi Darafet, Nalili Krishan et Joel Edgerton vont filmer leur scène au ce printemps. Le site HoloNet News ne revient pas. Il y a des scènes importantes entre Padmé et Anakin qui nous informent de la nature de leur mariage. Le rôle de Padmé sera plus près de celui qu'elle avait dans l'épisode 1. Les fantômes de Padmé, Mace Windu et Qui-Gon ne seront pas ajoutés à la fin de Return of the Jedi, car ça n'aurait aucun sens pour Luke. Puis Padmé, c'est même pas une Jedi déjà en partant. Là.
C'est ça.
Il risque d'y avoir une discussion sur Hyperspace avec Samuel Jackson, qui serait sûrement très intéressant. Le Jedi Starfighter d'Anakin a des couleurs rouges et celui d'Obi-Wan des couleurs vertes pour les distinguer. Dexter, Jetster et Han Solo n'ont aucun caméo dans l'épisode 3. La poursuite des
spéciaux. Han Solo serait très jeune.
Ouais, c'est ça.
Il aurait genre 10 ans. Là.
Ouais.
Même pas.
La poursuite des speeders avec Bell Organa n'est pas aussi grosse que celle de l'épisode 2 entre Anakin, Obi-Wan et Sam Weasel. Les Jedi Starfighter ont des marques de brûlure comme les X-Wing de la trilogie classique, dont ils ne font pas une flambade neuve.
Ils ont fait la guerre, c'est normal.
La politique anti-extraterrestre de Palpatine n'est pas expliquée dans le film. L'évolution de l'uniforme des soldats clones n'est pas expliquée. Il y aura aussi des nouveaux uniformes pour les pilotes clones. Ces uniformes vont ressembler plus à ceux de l'épisode 2 que ceux de l'épisode 4.
Moi, si tu regardes dans la série Clone Wars, puis dans les pilotes dans Attack of the Clones, ça se ressemble déjà
ouais,
un peu. Ça risque d'être la même chose.
C'est ça. La raison pour laquelle on ne voit pas la Fédération du Commerce, la Guilde du Commerce ou l'Union Techno dans la trilogie classique est expliquée dans une scène inédite de l'épisode 4. Ils ont été absorbés par l'Empire. C'est la raison majeure pour laquelle l'Empire est une vaste machine de guerre. Je ne sais pas de cette scène-là. Là, mais...
C'est quoi, là?
C'est-à-dire qu'il y a une scène de l'épisode 4 qui explique pourquoi que...
L'Union Techno n'est pas là, puis tout?
Ouais, c'est ça. Il faudrait que je
relise le roman. Ça.
Il n'y a pas de séquence dans le film où ces trois PO agissent maladroitement. Le message de Leia à Obi-Wan dans l'épisode 4 mentionne que Obi-Wan était sous les ordres de Bail. Mais en fait, les Jedi sont sous les ordres du Sénat et non pas un sénateur en particulier. La webcam va être présente lorsque les scènes seront filmées au printemps. Et comme mentionné, le duel se déroule sur une nouvelle planète dont l'environnement correspond à ce que nous croyons depuis la première trilogie. Une planète volcanique.
C'est bon.
C'est une confirmation.
Il en reste combien de...
Pas grand-chose.
OK. On va aller jusqu'à 20 minutes. Là.
Ah, OK. OK. Donc, le 19 février, on a eu une nouvelle image Before the Helmet qui montrait la sénatrice Mon Mothma.
C'est vraiment cute.
Oui. Le texte qui accompagne l'image mentionnait « La sombre République galactique permet à certains, comme la sénatrice Mon Mothma, de réaliser que des changements sont nécessaires. » On voit qu'il y a vraiment une ressemblance entre elle et la personne qui joue son rôle dans Return of the Jedi. Le 21 février, Pablo Hidalgo encore répond aux questions des fans. Il dit que la séquence du duel n'a pas encore été donnée à ILM. Elle est encore entre les mains du département des animatiques. Yoda ne se bat pas contre le général Grievous. Il y a deux décors de la trilogie classique qui ont été utilisés lors du tournage de l'épisode 3. Obi-Wan n'a aucun contact avec Chewbacca. La relation et la maturité de Padmé et Anakin jouent des rôles importants dans les événements de l'épisode 3. Palion, Winter, les vaisseaux Z95 Headhunters, le Cloak Shake ne sont pas les éléments de l'univers étendu que l'on retrouve dans le film. L'image sur le webzine de Lucas Licensing, qui montrait un genre de montage Darth Vader, Anakin, c'est pas une version d'un poster.
C'est une question de Sébastien.
C'est ça. le premier plan, si on l'expliquait, okay. La prophétie des Jedi n'est pas expliquée. Il n'y a pas de nouvelle révélation sur la force dans le film, aucune mention des midichlorians. Mais en fait, c'est aucune mention comme celle des midichlorians. Les Jedi ne sont pas tous exterminés dans le film, mais nous voyons le début des événements. Aux dernières nouvelles, nous allons voir 11 planètes dans le film. Et le
11,
oui.
Ah ben ouais.
Le général Riken, Dodona et Madine ne sont pas dans l'épisode 3.
Okay.
Le 22 février, le site officiel a confirmé le général Grievous. Rick McCallum a indiqué que dans Attack of the Clones, nous avons vu que l'ancien Jedi Dooku était le chef politique derrière le mouvement séparatiste et il était l'instigateur de la guerre des clones. Dans l'épisode 3, nous allons rencontrer le général Grievous, le chef militaire de l'armée séparatiste. Il est moitié robot, moitié extraterrestre et Grievous est un maître stratégiste et le meilleur tueur de Jedi dans les combats 1 contre 1. À suivre. Il y a eu des images qui ont été dévoilées le 26 février, donc ils ont été retirées aussitôt.
Ouais, on a reçu une petite lettre de Lucasfilm.
Certaines, ce qui prouve selon moi que les images c'était véridique.
C'était des vrais
storyboards. Ouais. On voit que certaines images, même, on voyait que c'était quelqu'un
qui était ou
puis qui était collé sur un mur, puis quelqu'un a pris une photo parce qu'on voit la séparation.
Un peu, puis,
C'est ça. Je pense que l'image la plus intéressante là-dessus c'était le modèle de Anakin qui était brûlé. Même si la personne ne ressemblait pas vraiment à Hayden Christensen, mais je pense que c'est plus un test de maquillage.
Ça, mais brûle les cheveux de quelqu'un, puis tu le reconnaîtras pas.
OK. Ensuite, le 27 février, Pablo a encore répondu aux questions. C'est fini après.
T'as pas parlé du WebDocs?
OK. on va faire ça vite.
Ouais.
OK. Les planètes que l'on voit dans la série animée Clone War ne font pas partie des nouvelles planètes de l'épisode 3. Le style de combat de Mace Windu dans l'épisode 3 est semblable à celui de l'épisode 2. Il a des nouveaux mouvements, mais cette fois-ci, son adversaire est beaucoup plus puissant. Sans doute. George Lucas n'a pas encore choisi les images select, donc ils ne seront pas disponibles bientôt. Il y aura probablement des set diaries lors de la semaine de tournage au printemps. Toutes les nouvelles planètes ont des noms. Une de ces planètes a été nommée dans un HoloNet News du Star Wars Insider. Bon, ça va être à relire.
Ouais.
Le rôle,
ça pendant la pause.
Le rôle de Ki Adi Mundi est semblable à son rôle dans l'épisode 1 et 2, donc un peu de dialogue et un peu d'action. La théorie des fantômes Jedi va ajouter une nuance au dernier plan que l'on voit des fantômes Jedi dans Return of the Jedi. Cette nuance n'était pas présente auparavant. À suivre. Il y aura des petits extraterrestres, style Jawa, Ewok. Non, pas des Ewok, là, mais... dans l'épisode 3, ils sont présents...
Nogris, on espère les Nogris, ça serait le fun.
Ils vont être...
extraterrestres gris.
Ouais, c'est ça. Ils vont être présents brièvement, mais leur rôle est très important. Les pilotes et soldats sont les seuls clones que nous allons voir dans le film, donc aucun clone de Sidious, Obi-Wan, ou peu importe les rumeurs qu'ils disaient. Les plans avec le General Grievous sont maintenant entre les mains de ILM, mais aucun effet n'a été complété. Ils n'ont même pas encore choisi la couleur finale. Duncan Young et Kyle Rowland, c'est eux qui remplaçaient Grievous lors de tournage des scènes. Il y aura plus de 12 web docs pour l'épisode 3, puisque le service Hyperspace a commencé à les diffuser très tôt. Et jusqu'à un certain...
Il n'y aura pas plus que 12, c'est ça?
Non, il va y avoir plus que 12.
Ah ouais? Okay.
Oui. Les autres films, il y en avait 12 pour Phantom Menace et Attack of the Clones, mais on va avoir droit à plus que 12.
Yes.
Ouais, c'est bon. jusqu'à un certain point, nous allons avoir pitié d'Anakin, mais le jeune Jedi s'est mis dans le pétrin, alors il est responsable de sa chute. On va voir. Et finalement, le 26 février, l'image Before the Helmet nous présentait Chewbacca. On voyait finalement la tête de Chewbacca qui était sur une table du département des créatures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu vendredi? On a eu le quatrième webdoc qui nous montrait la création du général Grievous.
Yes.
On a eu le droit... Il y a eu des concepts vraiment très intéressants. Puis même si on regardait sur les murs quand les artistes parlaient ou quand George marchait, on voyait tous les concepts de Mustafar puis tout ça, la planète volcanique.
On voit souvent une image, une planète volcanique sur un cadre en arrière.
Ah, c'est ça.
C'est comme, wow.
C'est comme évident, là. Non, c'est ça, les concepts étaient vraiment très intéressants, sauf que ceux qui ont choisi les concepts finaux, d'après moi, c'était les plus beaux là, de ceux qui ont qui avaient. Il y en avait qui étaient vraiment laids, là. Il y en a d'autres qui étaient vraiment intéressants. Puis, comme Sébastien il avait envoyé un email pour nous mentionner, il y a une image à un moment donné de ce que les artistes sont réunis autour de la table.
Il y a des maquettes.
Il y a des maquettes de vaisseaux, puis il y a vraiment un vaisseau, c'est comme un mélange de TIE Fighter puis de A-Wing.
Ils ont pris un A-Wing puis ils ont collé des ailes de TIE
Fighter, puis je sais pas si c'est un vaisseau qu'on va voir ou pas.
Mais il faut dire que c'est dans l'étape concept aussi.
Ouais, c'est
dans
ça.
Le temps des concepts, fait que c'était peut-être juste des essais, puis
George
a dit non.
Puis, pour terminer, il y a aussi eu une dernière chronique par Pablo Hidalgo concernant les réunions de ILM, dans laquelle il a mentionné que George, lors de la dernière réunion de ILM, ils ont inspecté les têtes qui vont être utilisées pour les doublages numériques, donc celles de Mace Windu, Dooku, Anakin, et aussi que les scènes avec les scènes qui se déroulent dans le Conseil Jedi sont presque terminées. Puis, c'est ça en gros, là.
Yes. Bon, ben merci. On indique dans le chat que c'est terminé avec le délai. Donc, c'était bien résumé. Il y avait beaucoup de choses quand même.
Oui, des questions-réponses, mettons, qui prennent...
Il va falloir choisir les meilleurs le prochain coup.
Ouais.
Mais ça va compenser pour la chronique miscellaneous, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses dans les nouvelles diverses cette semaine. Donc, on fait la petite transition et on revient immédiatement pour toutes les nouvelles diverses. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant côté nouvelles diverses dans le monde Star Wars? Il y a beaucoup de nouvelles concernant les produits dérivés. Et puis... À part ça, quelques trucs par rapport à la série Clone Wars. Donc, je vais vous envoyer ça tout de suite. Produits dérivés. Le site officiel de Star Wars vient d'annoncer en grande pompe la venue d'un nouveau...
Excusez.
d'un nouveau site commercial produit par Lucasfilm. le nouveau site nommé judicieusement StarWarsShop.com serait donc ce mystérieux site secret dont traitaient les récentes nouvelles et qui a intrigué pas mal de fans et de collectionneurs dernièrement. En plus d'offrir une large diversité d'items de Star Wars, ce nouveau site commercial tiendra plusieurs pièces exclusives et rares, dont un ensemble d'épinglettes des pins des Clone Wars de la série animée, un ensemble de 12 cartes postales exclusives des Clone Wars, ainsi qu'un mini-buste d'un lieutenant Clone Trooper avec bande verte. Ce dernier article est limité à 2500 exemplaires et sera produit par Gentle Giant. Pour souligner son lancement, le site offrira aux 500 premiers clients un objet rare et historique de Star Wars qui n'a jamais été disponible pendant plus de 20 ans. Une authentique badge de collection créée pour la sortie du 6e épisode de Star Wars, mais portant le titre de production Revenge of the Jedi. De plus, on remettra à ces 500 chanceux une deuxième badge corrigée pour la sortie du film Return of the Jedi. Ces pièces authentiques proviendraient des archives du service de marketing de Lucasfilm. Je suis pas certain que c'est aussi vieux que ça parce que JJM, là, Sébastien, il ouais. y en a une Revenge of the ouais, Jedi sur son.
On va avoir, tu vas recevoir la badge, mais ça va être marqué genre 2003, 2004, si ça n'a pas été fait en 80.
C'est ça. Non, probablement que tu t'envoies sur le cercle des conventions, il y en a tout le temps des
ouais,
c'est pas si exclusif que ça. Le site serait lancé le 10 mars 2004. Avez-vous intéressé? Et je répète, c'est www.starwarsshop.com.
Donc, Cash.
Ouais, Star Wars Cash. Maintenant, Lucasfilm essaie de prendre le contrôle de toutes les boutiques en ligne de produits Star Wars, donc ça va finir par
c'est
être.
Pas très bon. Hein.
C'est ça. Ils commencent à prendre le contrôle. Là,
monopole,
c'est,
ouais.
Ouais, pas mal.
Ils vont monter les prix, puis on va se faire avoir.
C'est ça. Maintenant, le site de Hasbro. La portion Star Wars a lancé aujourd'hui une liste de questions-réponses pour répondre aux diverses questions suite au Toy Fair 2004 tenu récemment à New York. Ça parle surtout de la collection trilogie qui sort en 2004. J'ai juste quelques questions ici, je ne les ai pas toutes. La figurine 3 pouces et 3 quarts de Luke Dagobah viendra avec deux ensembles de bras et une tête supplémentaire, de manière à reproduire diverses poses du film, soit la tête en bas et harnachée de son sac à dos pour transporter son nouveau maître Jedi Yoda. Ce dernier se séparera à la taille de manière à entrer dans le sac à dos et pouvoir diriger son jeune élève. Autrement dit, Yoda, tu vas pouvoir le séparer en deux puis mettre juste sa portion supérieure dans le sac à dos.
C'est cool ça.
C'est bien pensé. Une autre question, la série de figurines Vintage Original Trilogy Collection, qui comprendra 4 figurines pour chacun des 3 films, sera distribuée avec tous les grands détaillants tels que Toys R Us, Walmart, Target, etc. On annonce même, contrairement à ce qui était inscrit sur l'endos du prototype de l'emballage montré au Toy Fair, la sortie d'un nouveau Stormtrooper sous la bannière Return of the Jedi. Donc, les figurines Vintage Original Trilogy Collection, autrement dit, c'est les... Ils reprennent les vieilles figurines. Tu vas voir pour Star Wars A New Hope, Luke, Han Solo, Leia et Obi-Wan. Pour Empire Strikes Back, tu vas avoir Darth Vader, C-3PO, Yoda et Lando Calrissian. Et pour Return of the Jedi, tu vas avoir Chewbacca, R2-D2, Boba Fett et un Stormtrooper. L'emballage qui va être différent, là, c'est quelque chose que je me rappelle, c'est que en 2004, tu vas avoir deux types. Tu vas avoir la collection Original Trilogy qui a un packaging avec un lettrage argent. Ça, c'est des nouvelles figurines.
Ouais, ils sont noirs et argent.
C'est noir et argent. Ouais. C'est pas des vintage, mais c'est juste des nouvelles figurines de la trilogie classique qui ont appelé la série Trilogy Collection. Mais, aussi en 2004, tu vas avoir les vintage qui reviennent. C'est celles que je viens de nommer, les 12 figurines. Eux autres reviennent avec leur emballage original ou presque. Très très semblable avec des gros caractères, etc. Là, pour que vraiment avec l'emballage comme il y avait avant. Mon troisième point, les nombreuses rééditions cette année sont d'abord une façon de faire face aux nouveaux collectionneurs qui auront été attirés par la sortie du DVD de la trilogie originale en septembre prochain. Également, Hasbro avoue se concentrer cette année sur la production des produits reliés au dernier épisode de la saga. Faut-il rappeler aux fans qu'épisode 3 sort en salle l'été prochain? C'est pas vraiment vrai, mais c'est
L'été 2005.
L'été 2005. Bon, aussi, une autre nouvelle. Le site Star Wars de Hasbro vient d'annoncer le lancement de sa 6e édition du fameux Fan Choice, qui déterminera laquelle d'une liste de figurines sera produite dans la série 3 pouces et 3 quarts. Ce qui peut choquer les collectionneurs, c'est que cette fois-ci, le choix des figurines candidates comprend des figurines déjà produites par Hasbro. On parle ici de reissue, des ressorties, si on peut dire, je ne sais pas comment le dire, des remises en marché.
Remises en marché, je sais pas, nouvel emballage.
C'est ça. Et non de nouvelles figurines, pas même de nouvelles éditions de personnages déjà produits en plastique, donc ils reprennent les vieux moules, puis that's it, là. Donc, les figurines en lice en compétition sont le R2-D2 with Holographic Leia, qui est la version Comtech Chip de 1999. L'Amiral Motti, version Comtech Chip de 1999. Riyi, version Power of the Force 2. Le Death Star Trooper, version Power of the Force 2. Han Solo in Stormtrooper Disguise du Trash Compactor Screen Scene sorti en 2001. Et le Imperial Scanning Crew Trooper, version Power of the Force 2. Donc, c'est un de ces six-là qui sera choisi pour être le Fan Choice numéro 6.
Il avait mentionné, Hasbro, après ça, ils ont confirmé que c'était pas le Fan Choice 6. C'était une erreur qu'il y avait eu. C'est juste un Fan Choice pour savoir lequel que vous vouliez avoir comme reissue.
C'était pas vraiment un Fan Choice.
Non, c'est ça.
Bon, c'est le fun.
C'est juste qu'ils n'ont pas le temps de faire une nouvelle figurine à temps, parce qu'ils se concentrent, comme tu disais, sur l'épisode 3.
Mm-hmm. Bon, le vote a débuté le 23 février 2004, pardon, pour se terminer le 5 mars, donc cette semaine. La figurine qui remportera le plus grand nombre de votes sera vendu dans le nouvel emballage de style vintage à l'automne 2004 sous la ligne Original Trilogy Collection. Donc, c'est tout simplement dans la nouvelle collection, ils décident, bon, lequel de ces personnages-là vous voulez qu'on remette dans la nouvelle collection. Pas très original, mettons. Bon, une autre nouvelle, ça c'est une nouvelle de nos copains qui font le fan film L'Étape. Fan film Star Wars québécois produit par Patrice et Laurent Charbonneau. C'est simplement pour mentionner qu'ils ont un nouveau site web avec plus d'informations. L'adresse c'est www.lunear.min.nu/néophyte. Donc, on va vous l'écrire dans le chat tout à l'heure. Donc, vous irez voir. C'est, je pense que c'est le premier fan film québécois en français. Donc, ça devrait être quand même bien. Maintenant, côté télévision, lors de la dernière émission de Star Wars en direct, on vous a résumé les épisodes 10 à 15. Un résumé du synopsis, un synopsis de chaque épisode. Maintenant, je vais vous présenter les synopsis des épisodes 16 à 20. Donc, l'épisode 16, Padmé, R2-D2 et C-3PO vont à la recherche de Yoda. Cependant, en se dirigeant vers la grotte, il rencontre les autres droïdes assassins. Pendant ce temps, Yoda retrouve les Jedi emprisonnés. Les Jedi emprisonnés, je crois que c'est Luminara Unduli et Barriss Offee. Ensuite, épisode 17. Anakin traque le vaisseau de Ventress jusqu'à Yavin 4. Après l'atterrissage, Anakin mène un escadron de clone troopers dans la jungle afin de retrouver le pilote. Un par un, les clone troopers sont attaqués, laissant Anakin le seul survivant. Il me semble voir un peu à la Rambo. Oh, là.
C'est ça.
Dans le First Blood, le film
premier
sort. Épisode 18, Anakin Skywalker et Asajj Ventress s'affrontent dans un duel de sabre laser. Dans la jungle brumeuse, une ancienne pyramide de pierre est révélée et les deux combattants débutent leur ascension. Ils se battent en montant.
Ouais,
épisode 19. Anakin et Ventress s'approchent du sommet de la pyramide. La rage d'Anakin commence à être visible. Grâce à une puissance poussée de force, il envoie Asajj vers l'arrière et prend son sabre laser. Ici, on imagine qu'elle tombe dans le vide.
Fait qu'elle est pas morte.
Ben, elle est peut-être pas morte, mais je veux dire, on le saura jamais. Ça reste un point suspendu. Mais ils ont dit qu'elle était pas dans l'épisode 3. Donc.
Ouais.
Elle est restée jamais sur Yavin. Là. On va la voir dans l'univers étendu à quelque part.
Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils vont la faire mourir dans Republic.
Ah, peut-être.
Hein.
Possiblement. Et le dernier épisode, épisode 20. La bataille de Munilist est gagnée. Anakin rejoint Obi-Wan sur la surface de la planète, où il reçoit un signal de détresse de Jedi qui sont chassés par le général Grievous.
Grievous.
Et il va faire son apparition. Ça va être très bref, d'après moi.
Ouais. 30 secondes.
On va le voir tomber. Ha ha ha. Fini. To be continued. Une épisode 3.
Ouais, c'est ça.
Genre, là. Donc, c'est tout pour les nouvelles diverses. Qu'est-ce qui est nouvelles de DVD, mais on n'en parlera pas parce que c'est le sujet principal.
Oui, c'est ça.
On va en parler plus là qu'ailleurs. On va revenir plus tard avec les événements à venir. Et puis, c'est cela. J'essaie de voir dans ma feuille ici, c'est tout. Côté littérature, il n'y a vraiment rien. Le prochain livre, je pense, c'est en mars. Mais j'ai même pas regardé c'était quoi le prochain livre.
Un
livre de Clone Wars, ouais, un Jedi Trial, non?
Non, c'est celui avec Obi-Wan, puis Kit Fisto, c'est pas ça?
C'est pas Escape from Dagoo,
c'est ça.
Il a pas été annulé, celui-là?
Ah, pas. Je sais pas. C'est.
On va l'avoir, là.
On va l'avoir, là. J'ai Med Star dans la tête, c'est pas ça?
C'est pas grave, vous irez le voir.
Cestus Deception.
C'est ça, Cestus Deception. Voilà. Et on l'a. Bon, je vais vous rentrer rapidement l'hyperlien.
T'es juste mentionné, quand tu parlais des livres qui sont parus, il y a le dernier Jedi Quest. Numéro 8.
Qui...
The Changing of the Guards. Qui est paru. Et supposément, selon Amazon, le dernier Boba Fett, A New Threat, serait disponible aussi, qui signifie... Et la première apparition de Grievous.
Alors, j'en vois dans le site web de l'étape. Vous pouvez aussi voir sur cette clan la quatrième version. Il y a, dans la section fanfilm, il y a une fiche aussi pour ces films. On a fait une fiche pour les fanfilms. Et ils sont mis en avant dans la colonne de droite pour les fanfilms anglophones. Donc, on a fini cette portion-là.
Good.
On va tout de suite aller à la pause et puis on revient à Star Wars en direct après la pause avec le sujet principal qui est la DVD, trilogie originale sur DVD. Désolé, là, parce que je me cherche dans ma liste en même temps. C'est pour ça, donc, on revient immédiatement après la pause à Star Wars en direct.
On me critique sur mon style de vie, mon sens critique, on dit qu'on est froid, qu'on est fait de pierre. Il n'y a rien d'autre dans le coq, sa maudite carrière. On me reproche, entre autres, de n'avoir la tête qu'à mes poches et passer aux autres. Ce qui est dommage, c'est qu'on réalise pas que le but de ma démarche est plus grand que ça. Moi je parle ici pour mes sœurs et frères qui se battent jour et nuit contre l'ordinaire. Il y avait une façon de faire, moi j'ai choisi le show. C'est pas facile, clair, mais j'ai fait ce qu'il faut. Donc je vise très haut, et plus encore, tu dis que c'est trop. Et alors, j'irai jusqu'au fond, et si c'est un mirage, je remercierai le ciel pour le stage. Sur un show, mais j'y crois, rêve de star. Je ne vis que pour ça, rêve de star. Montréal à Paris, j'irai au bout du monde, chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. Sur un show, mais j'y crois, rêve de star. Je ne vois plus que ça, rêve de star. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent, je vous le dis en vérité, une nouvelle ère arrive. Voilà, je vous explique, je viens du bas, au cœur de mer Afrique, c'est le Rwanda. Tu vois, j'ai même pas le choix, on n'a pas de George Weah ni de Cavana. Alors je suis beaucoup plus pour porter la torche, et beaucoup moins pour fumer dans ma prochaine porte. Je le dois à tout un peuple de briller fort, aussi fort que je le peux, ce qui est trop tort. En plus, honnêtement, je le cache pas, j'aime bien le luxe, rien de mal à faire. J'en vois déjà sourire quand ils seront fauchés, que je retendrai des chèques pour leur payer le loyer. Donc je vise très haut, et plus encore, tu dis que c'est trop. Et alors, j'irai jusqu'au fond, et si c'est un mirage, je remercierai le ciel pour le stage. Sur un show, mais j'y crois, rêve de star. Je ne vis que pour ça, rêve de star. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde, chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. Sur un show, mais j'y crois, rêve de star. Je ne vois plus que ça, rêve de star. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent, je vous le dis en vérité, une nouvelle ère arrive. S'en fout, mais j'y crois, rêve de star. Je ne vis que pour ça, rêve de star. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde, chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. S'en fout, mais j'y crois, rêve de star.
www.cityplan.net. Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Hi, this is Steve Sansweet, and you're listening to Star Wars en direct.
Et bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Maintenant, c'est le sujet principal, la trilogie classique sur DVD. Donc, déjà en partant, je pense que tout le monde l'attend depuis...
Depuis que les DVD sont sortis.
Depuis que ça existe, là. Je pense que c'était les DVD de Star Wars, de la trilogie classique. Je crois que c'était les DVD les plus...
Demandés
sur Amazon. Les DVD qui n'existaient pas, qui sont les plus demandés.
Ouais. Je sais que selon les sondages, il y avait ça, puis il y avait Godfather, puis Indiana Jones. Okay. Godfather, puis Indiana Jones, on les a maintenant. C'est ça, fait que Star Wars.
Y a-t-il un film qui n'est pas en DVD à part Star Wars? Bonne question.
Bonne question. Je sais pas.
Je pense que tout le monde a fait de l'argent.
Avec les DVD.
Oui, mais c'est tellement un bon moyen de les conserver en bon état, justement. C'est un début de les mettre en DVD. Combien qu'il y en a dans le chat, par exemple, qui. La cassette, ils l'ont écouté tellement de fois que on peut plus vraiment l'écouter parce que la qualité est rendue trop mauvaise. Là. C'est vraiment horrible. Moi, personnellement, ça fait hyper longtemps que je les ai pas écoutés. La trilogie originale, là, avec le Han Solo qui tire en premier, ça fait 5 ans que je l'ai pas écouté. Puis les éditions spéciales, ça fait 3 ans que je les ai pas écoutés. Donc,
ça fait longtemps.
Je suis pas un bon fan de Star Wars.
Moi, je pense depuis que j'ai les éditions spéciales en cassette, j'ai jamais écouté l'édition originale depuis ce temps-là.
Moi non plus. C'est la même chose. Donc, ensuite. Bon, comment qu'on pourrait commencer le sujet? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais dans les films là, côté effet spéciaux? Qu'est-ce qui est à changer ou pas?
Ben, je pense comme... Tout le monde va
on va y aller par film, par exemple.
OK, on va commencer par A New Hope.
Ouais.
Je pense que les deux choses qui sont primordiales à changer, il y a les sables laser entre le combat Obi-Wan puis Darth Vader. C'est vraiment...
On dirait que le sable est blanc.
Ouais, c'est vraiment, mais vraiment laid. Là. Puis on voit même le fil électrique. C'est vraiment c'est complètement absurde. Puis il y a Jabba, je pense, qui est à changer.
Ouais.
Les éditions spéciales parce qu'il est vraiment il est très mal fait. Puis même, je pense que c'est Rob Coleman ou John Knoll lors d'un chat sur Hyperspace qui espérait que George change Jabba pour mettre celui qu'ils ont fait pour l'épisode 1. Mm-hmm. Parce qu'il était vraiment bien fait dans l'épisode 1 comparativement.
Ouais, il était trop plastique.
Ouais, l'autre était trop plastique.
D'ailleurs, je veux rappeler, j'ai oublié de le mentionner, ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez envoyer vos commentaires à studio@commercial.swandirect.com. Par MSN Messenger à swandirect@hotmail.com et puis une salle de chat où vous pouvez aller rejoindre Dals, Dark Clark, Darth Vader, Igloo, Jeremiah, Skarin, Lunatique, Mémès, Spitsbury, Raven, Sama 8, Chacal, Snowtrooper, Someone et Spaceman qui sont dans le chat. Vous passez sur le site www.swandirect.com et aussi la webcam. Je suis à droite, Dark Jedi est à gauche. J'avais d'autres choses à dire, mais je l'ai oublié. oui, s'il y en a qui veulent qu'on les appelle, faites-nous signe. On va vous lâcher un petit coup de fil et puis vous pourrez dire vos commentaires par téléphone. Donc, faites-nous signe par MSN Messenger ou par le chat pour ça. Bon, on continue maintenant. Même dans le Star Wars A New Hope, juste les scènes rajoutées digitales. Quand on voit le Land Speeder avec R2 puis c'est trop peu au-dessus qui passe dans la ville. La ville est très belle, mais il me semble que le Speeder, ça paraît trop. Non, mais ça paraît trop que c'est artificiel les personnages qu'il y a à l'intérieur du vaisseau. Ça me dérange pas mal. La pire scène, c'est celle d'Han Solo et Jabba. Personnellement, je trouve qu'elle n'a même pas sa place dans le film. C'est juste pour montrer que Han Solo doit de l'argent. Dans la trilogie originale, on n'a pas besoin de le savoir. Je sais bien que vous voulez introduire Jabba, là. Mais c'était pas nécessaire, là. Surtout quand tu vois Boba Fett est là, puis tu vois l'espèce de pirate Maboule ou Barbe Rouge là, qui est là à côté, une espèce de pirate super laid. On dirait qu'il sort d'une autre dimension, il vient de notre galaxie. Y a-t-il une tache sur l'œil même? Je pense que oui.
Ah, il me semble que oui.
T'sais, il manque juste son sabre. Son sabre, puis c'est vraiment, vraiment mauvais. Y a-t-il quelque chose d'autre dans A New Hope? Il n'y avait pas tant de scènes rajoutées que ça. Hein?
Non, les autres scènes qui ont vraiment travaillé, c'était la bataille de la Death Star.
Ouais, ça a été vraiment bien fait. Ça a été amélioré, ça c'est bon.
Puis il y a aussi, c'était plus des petits ajouts par-ci, par-là, comme quand Han Solo il court après les Stormtroopers dans la Death Star. Puis il arrive, avant il arrivait face à face avec genre 5-6 Stormtroopers, mais là il arrive face à face avec un hangar rempli de TIE Fighters ouais, et Stormtroopers.
C'est ça.
Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de
scène. C'est ça, c'était tout vraiment déjà bien représenté à l'intérieur avec des décors.
Ben la seule autre peut-être, c'est celle quand les Stormtroopers atterrissent sur Tatooine, puis ils sont sur les, comme les Dewbacks, là, mm-hmm. qui marchent tout croche, on les voit, ils sont comme vraiment,
ah, ouais, c'est vrai,
ils se balancent, c'est comme... C'était vraiment...
Ils sont comme fixés sur le dos. Les Dewbacks ont été améliorés au lieu d'être des fixes.
Ouais, c'est ça.
C'est en mouvement, donc ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne amélioration, sauf les Stormtroopers qui sont...
On le voit, je pense qu'on le voit, quand ils sont faits par ordinateur, qui sont faits numériquement, les Stormtroopers, il y a comme trop de reflets. On le voit comme le soleil. Propres. Ouais, le soleil, ça reflète trop. Là. C'est comme... on dirait que c'est comme des Stormtroopers miroirs. Là.
OK, chromé.
Ah, chromé.
C'est ça. Bon, Empire Strikes Back maintenant. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon?
Qu'est-ce qui est bon?
Qu'est-ce qui ont amélioré le cockpit, les Snowspeeders, on voyait au travers.
Ouais.
Donc ça, c'est bien, c'était bien de les recoller.
Bespin.
Oui, au lieu d'avoir un mur blanc, on a vu à l'extérieur aussi, puis les décors à l'extérieur quand il faut qu'on arrive. Bon, la scène avec Luke puis le Wampa, c'est bon. On voit un petit peu plus, voit le Wampa en train de manger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il n'y a pas eu vraiment de scène ajoutée dans... Il y a eu des scènes, moi, je trouve un peu inutiles, là, comme Darth Vader qui parle de Bespin et qui dit « Alert my Star Destroyer to prepare for... » Ça, c'était comme...
Juste pour ajouter quelque chose.
C'est juste pour dire, pour faire la transition qui se retrouvait sur son Star Destroyer, mais je pense pas qu'il n'y a pas personne qui s'est dit « Hey, comment c'est qu'il est là quand il était sur la planète? » Je pense que le monde l'ont déduit. Il n'y avait pas vraiment besoin de le montrer.
Une chose qu'on n'a pas pensé, mais que c'est dans tous les trois films, c'est les TIE Fighters, que tu vois, il y a un petit carré qui suit les TIE Fighters, le mat, je sais pas comment ils appellent ça, le masque pour essayer de cacher les imperfections, donc il y a un petit carré qui suit tous les vaisseaux dans l'espace.
Mais ça, c'est là depuis la trilogie originale.
Ah ouais? Ouais. Non, je pensais que c'était juste Special Edition pour améliorer.
Non, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué, que c'est là depuis la trilogie originale. C'est comme, pour moi, c'est l'effet, parce que ça a été comme rajouté par-dessus l'écran, fait que là, on les voit quand ils se déplacent.
C'est rendu tellement clair maintenant, l'image, que là, on les voit.
C'est ça.
Probablement. C'est ça, les matte lines, comme ils appellent en anglais. Return of the Jedi, bon, là, la scène finale, c'est bon de la garder. C'est vraiment un point qui fait un lien avec la prélogie Coruscant.
Oui.
Toutes les planètes qui fêtent, ça, c'est bon. J'aime pas qu'ils aient changé la chanson dans le palais de Jabba, ni celle des Ewoks à la fin. J'aimais bien...
Moi, je trouve correct que c'est à la fin. Celle de Jabba, ça, je suis d'accord, là.
Ouais, mais c'est à la fin, ça fait trop Cité d'or. Comme les Cités d'or, je trouve, comme un peu trop péruvien ou quelque chose du genre.
Ouais. Non, mais celle de Jabba, ça, je suis d'accord, parce que je sais pas, ça fait trop...
C'est parce qu'ils ont voulu le mettre plus à l'époque. Le premier, c'était plus dans les années 70, donc c'était disco un peu.
C'est ça.
Disco, années 80, mais ils ont mis du disco un peu avec Lapkinek, je pense que ça s'appelle la chanson. Puis l'autre, c'est Jedi Rock. Bon, Jedi Rock, j'ai essayé de mettre ça un petit peu plus rock pour les années 90. Là, bon. Mais ça, c'est une gaffe, là. Je pense que vous l'améliorez toute, là. 16 Nuto, ok, oui, est mieux faite digitale qu'une espèce de...
Une marionnette qui bougeait pas avec les paroles.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas si bon que ça, mais quand même. Donc, C'est ça, puis...
Améliorer, ce qui aurait amélioré Return of the Jedi, c'est, ils l'ont fait pour les Snow Speeders, comme...
Les Snow Speeders?
Ouais, dans Empire, ils, comme, quand tu le vois, parce que dans les cockpits, l'image est comme projetée, mm-hmm. fait qu'on voyait comme les lignes noires sur le bord, ça, ils ont effacé pour Empire, mais pour le Rancor...
Ah, ouais.
Dans Return, on les voit encore, on le voit Bento, c'est ouais, double.
Le Rancor, il est vraiment. C'est une des choses qu'il faut absolument faire digital.
Ouais.
Parce disons, que... là, les changements, bon, qu'est-ce qui serait à refaire? Bon, moi, personnellement, qu'est-ce que je veux dans la trilogie qui sort bientôt? Là, on parle pas de la Ultimate Edition, on va en parler plus tard. Mais qu'est-ce que je veux, moi, qui sorte? Ça peut être très simple, ils n'ont pas beaucoup de temps. Parce qu'ils travaillent sur l'épisode 3, là, faut quand même. T'sais, ils n'ont pas une tonne de temps, là.
Qui se concentrent sur l'épisode 3.
C'est ça, c'est plus important. Mais moi, je veux juste qu'ils sortent les films version. Les premières versions, là. Première. Avec toutes les. Le son amélioré, etc. Image améliorée. Mais tu sais que t'as quand même Greedo qui tire, qui se fait tirer, c'est Han Solo qui tire le premier. T'as rien de rajouté, là. Version originale, parce que. Tant qu'à le faire, c'est le temps de faire ça. Ça demande moins de travail. T'as juste besoin de rééditer un peu, puis tourner des, enregistrer des commentaires, etc. Puis tu fais ton package de 4 CD. Voilà, c'est fini, bye bye. Mm. Si tu veux retoucher les images, etc., etc., attends plus tard. Puis ça sera la version Special Edition ou même. Plus que Special Edition, la Super Special
Super Duper Ultimate Edition.
C'est ça. Mais, je pense pas que ça va être ça qui va sortir cet automne. D'après moi, ça va être les Special Edition.
Ils vont même pas être touchés.
C'est ça. Malgré que on a reçu, Sébastien avait posé la question à Steve Sansweet, puis il a dit la version originale puis la version Special Edition n'existent pas. Il y a seulement la version actuelle qui a répondu comme ça. Donc, probablement que la version actuelle, c'est Special Edition. L'ancienne version, elle n'existe plus en tant que telle. Il y a une vision, George, puis c'est celle des Special Edition, ça. Malheureusement.
Ben, malheureusement, je veux dire, c'est pas mauvais non plus. Faut pas dire que les Special Edition, ils ont complètement démoli la trilogie.
Non. Mais c'est juste que il y a certains items qui sont vraiment mauvais.
Non,
là.
C'est ça.
C'est juste Han Solo Greedo, puis Jabba. Ces deux scènes-là, c'est comme... Ça brise complètement le film.
Surtout Greedo, là, ça... Ça pègue à faire qu'ils n'ont jamais fait.
Ben, c'est ça. Faut juste regarder rapidement s'il y a quelqu'un dans le chat qui s'est intéressé à ce qu'on les appelle. Non, vous avez pas beaucoup de couilles, tous ceux dans le chat. Je regarde rapidement. Non, pas vraiment de commentaires. Donc, on continue. Toi, qu'est-ce que tu veux voir dans la version qui sort en septembre?
Moi, la Special Edition, ben, on sait que c'est celle-là.
Ouais, c'est ça.
Moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait rien d'ajouté. Le monde, il y a bien des gens qui espèrent qu'ils vont. J'espère qu'ils vont corriger ci, j'espère qu'ils vont faire ça. Je veux dire, moi, j'aime mieux qu'ils se concentrent sur l'épisode 3, puis que ça soit bien fait, puis que ça finit là. Puis que le Special Edition, moi, tant que le transfert vidéo, puis le son va être écœurant. Moi, c'est surtout les commentaires audio que j'ai hâte d'entendre.
C'est ça. Je veux dire, les gens veulent le DVD. Pourquoi? Pour avoir une copie qui ne périra pas.
Ouais, c'est ça.
Présentement, c'est juste ça qu'ils veulent. Ils se foutent de la trilogie classique. Pour l'instant, c'est vraiment concentré épisode 3. Les gens veulent l'épisode 3. Après, ben, répondez à leur demande avec une trilogie classique retapée avec plein d'infos, plein d'extras, plein de nouvelles scènes. Ça sera le temps après. Après pour éviter le creux après l'épisode 3, ben ça va être le temps de mettre beaucoup d'efforts là-dessus.
Ouais, puis c'est évident que George, ils vont sortir d'autres versions des DVD après.
Il y a trop d'argent.
C'est
ça. Mais toi t'es un gros collectionneur de DVD. T'as vu le coffret d'Indiana Jones. C'est comment tu le comparais avec Star Wars? Qu'est-ce que tu penses qu'il va sortir? Ça va être le même style exactement?
Ouais, d'après moi, oui. Ça va être,
il n'y a pas de flafla, c'est vraiment l'essentiel.
C'est l'essentiel, les trois DVD. Sauf que les DVD d'Indiana Jones, ils n'ont pas de commentaires audio.
Ah non?
Non, Steven Spielberg, c'est pas un fan des commentaires audio. Okay. Fait que, il n'en a pas fait. Sauf que tu as un DVD avec les documentaires et tout ça. J'espère que ça va être la même chose pour Star Wars, mais en tout cas, selon ce qu'on a entendu, même ben, sur le site officiel, tout ça. George Lucas, il va enregistrer des commentaires audio.
Il y a Carrie Fisher aussi.
Carrie Fisher. Il y a Mark Hamill, lors de son chat sur Hyperspace, qui a dit qu'il était impliqué dans un documentaire. Fait que, en tout cas, on va voir, mais moi, je veux juste avoir... Les commentaires audio, pour moi, c'est l'essentiel. Il explique quand, comme il a
sa
fait...
Sa pensée, là.
Ouais, pourquoi il a fait ça comme ça, puis tout ça, c'est... C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur.
C'est ça.
Puis, vu que c'est... Mais d'après moi, le transfert vidéo va être le même que ce qu'ils ont fait avec Indiana Jones. Ils ont vraiment nettoyé complètement l'image. Fait que je suis sûr, d'après moi, Star Wars, ça devrait être encore mieux. Parce qu'ils avaient déjà tout nettoyé quand ils ont sorti les éditions spéciales. Mm-hmm. Fait que là, en plus, le transfert DVD devrait avoir une bonne image. Le son devrait être très bon aussi.
Oui, ça, j'imagine, va peut-être l'améliorer encore un petit peu plus avec les nouvelles technologies THX.
Oui, c'est ça. Ça va cracher.
Puis, on a pu aussi voir... sur Camus Web des ébauches de boîtes pour la trilogie classique,
trois prototypes,
c'est ça. Donc t'avais un prototype qui était Dark Side
versus Light Side,
et tu voyais Yoda en vert. Ça ressemblait beaucoup à, c'est ceux qui faisaient qui ont fait les coffrets de
Alien Quadrilogy.
Alien, fait que ça ressemble énormément le style.
Sauf que ce qui est très étrange sur le Light Side versus Dark Side, c'est le Yoda version épisode 2 qu'on voit sur la boîte. C'est pas c'est celui de la trilogie classique.
C'est ça.
Il y avait celui, le Empire. Il y en avait aussi, c'était un Empire Collection. Je sais pas, c'était le dernier. Puis,
tu vois comme un Star Destroyer sur la boîte.
Moi, c'est le premier que je trouvais le plus intéressant. Final Dark Conflict. Vader. Ouais.
Faut que t'ailles Dark V2 dessus, c'est comme
ça. Ça prend ça.
C'est ça.
La seule chose qui est plate, c'est bon, c'est pas, on n'a pas aucune confirmation que c'est des concepts finaux.
D'après moi, c'est un modèle 3D qui a été fait. Un modèle 3D que cette compagnie-là a fait pour suggérer à George Lucas, regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Ça vous intéresse-tu qu'on s'en occupe?
Parce que si on regarde les coffrets, ça détruit complètement le concept des deux DVD de l'épisode 1 et 2, là, les images, là, t'sais, parce qu'ils voulaient tout. Il avait tout changé lorsque l'épisode 1 est sorti en DVD. Il avait tout changé après ça, le concept des cassettes, des VHS, lorsqu'il avait sorti l'édition.
Tu parles des images?
Ouais, là, comme. Pas le poster, la couverture.
Ok, ouais, ils ont été refaits par. Comment il s'appelle le gars? En tout cas, je m'en souviens pas, mais c'est lui qui fait toutes les affiches.
Ouais, mais. Tu sais, comme si tu regardes le DVD d'épisode 1 ou 2, c'est des photos. C'est plus les posters, les images originales, le dessin qui était fait par Drew Struzan.
Ouais, c'est ça.
C'était comme un collage d'images qu'on voyait Obi-Wan et tout ça. Mm-hmm. Puis là, quand il avait ressorti l'édition en VHS, bien, il avait fait le même concept. Puis là, si on regarde ce qu'ils sont en train de faire avec le coffret DVD, ils s'en allent donner nos concepts. Fait que les DVD ne matcheront pas avec nos DVD de la trilogie.
Ok, ouais.
Mais en tout cas, on sait pas, là. On l'a pas vu.
On verra, hein. Bon, il y a eu des annonces. Les changements annoncés par le site Ain't It Cool News, que bon, on pense plus que, comme tu disais, c'est un délire, là.
Ouais, c'est ça.
Un délire de fan. Peut-être qu'on verrait plus dans un Ultimate Edition. Donc, je pourrais aller rapidement, là. Il y en a pas mal, là. Des changements espérés, on pourrait dire.
Ouais, ben, même là, dans la liste, je trouve qu'en tout cas,
il y a des choses vraiment.
Ça n'a pas de sens, là.
La marche impériale est jouée lors de la première apparition de Darth Vader à bord du Blockade Runner.
Ça a du sens.
Ouais, pas nécessaire, mais ça a du sens. Lors de l'entretien entre Luke et Ben Kenobi au foyer de ce dernier sur Tatooine, la musique de fond se change en marche impériale au moment où Ben parle de Darth Vader. Du changement de musique, c'est possible, c'est pas nécessaire vraiment. Les effets sonores et lumineux des sabres ont été refaits numériquement, ça j'espère que ça serait.
Mais le son, en tout cas, je trouve que le son est resté pas mal le même.
Ouais, ouais, le clash est bien, le clink. Ouais. Une nouvelle scène sera rajoutée où Palpatine dissout le Sénat, tournée pendant le tournage en Australie. Ben ça, je pense que ça va être dans l'épisode 3. Non, même pas.
Ça se dégoûte.
Il fait juste se déclarer empereur. Hein?
Ouais, mais c'est pas nécessaire. Pour moi, c'est pas une scène qui est nécessaire au film. Là.
Non.
C'est comme la scène que tu dis avec Jabba. Là.
Il dit dans A New Hope, t'as pas vraiment besoin de
le savoir.
De savoir. Lors de la scène de la cantina, les Duros seront remplacés par les Némodiens.
Je vois pas
c'est
pourquoi.
C'est son cousin, là, c'est pour ça.
Ouais, mais...
C'est juste pour... Bon. Ensuite, quelques aliens issus de la prélégie ont été ajoutés, dont les Dogs. On s'en fout. C'est Bulba et... On s'en fout.
Ouais, c'est ça.
Le bras coupé de Ponda Bada. sur le sol de la cantine ne saignera plus, car les bras et lasers sont censés cautériser les plaies. Détail.
Détail, ouais, c'est ça. C'est plus d'un détail.
Ouais, je pense qu'on les lira pas tous, hein, parce que c'est vraiment... Je vais y aller vite, là. La scène originale de Anne tirant le premier rideau sera restaurée, j'espère bien. La scène du hangar du Faucon a été refaite. Jabba le Hutt a été remodélisé et Anne ne lui marche plus sur la queue. Le R2-D2 trébuchant dans les escaliers du hangar du Faucon a été remplacé par R2 descendant les escaliers comme lors de l'arrivée au palais de Teed dans l'épisode 2.
Sauf
marche par marche.
Mais là, faut vraiment que tu le remarques pour le voir tomber. Je veux dire, quelqu'un qui passe attention sur les acteurs qui parlent, il verra pas, là.
Toujours dans la scène du hangar, des grosses boîtes blanches ont été effacées par des inclusions en images de synthèse, bla bla bla. La scène où le faucon est poursuivi par deux Star Destroyer a été améliorée. Le faucon exécute désormais des tonneaux et des boucles autour des faisceaux de blaster venant des Destroyers impériaux.
C'est pas nécessaire.
Non. Lors de la destruction d'Alderaan par les tonneaux, la réaction de Yoda précédera celle de Ben lorsqu'ils ressentiront les effets tragédies de la Force. Ça, c'est la preuve par elle-même que c'est faux, tout ce qu'il y a là.
Ouais,
ils montreront pas Yoda dans A New Hope.
Non, exactement.
Ils montreront pas, carrément. Donc, le diagonal de la benne à ordures de l'étoile noire sera refait en image de synthèse et nous aurons de nouveaux plans de la créature. On y voit juste l'œil, là. C'est une tentacule. Là. Nous verrons plus de Stormtroopers sur l'étoile noire, ok.
Il y en a déjà assez, là.
Dans la version US, la voix de Temuera Morrison, Jango Fett, sera utilisée pour tous les Stormtroopers, qui sont aussi des clones. Moi, j'ai l'impression que les Stormtroopers, même dans la trilogie classique, ce n'est plus tous des clones.
Ouais.
Il y a quand même 18 ans qui se sont passés puis ils sont supposés âger très rapidement, les clones.
Ouais, c'est ça. C'est plus la même chose de clone.
C'est ça.
Puis même Pablo, il l'avait déjà mentionné sur le forum, que selon lui, puis selon George Lucas, il y aurait plus qu'une source. Là,
pourtant, dans le texte de tantôt, il a dit qu'il y a seulement une source.
Ah, dans l'épisode 3.
OK. Ensuite... Le duel entre V2 et Obi-Wan sera entièrement refait, avec beaucoup plus de mouvements, les gros plans d'Alec Guinness seront conservés avec une doublure, blablabla. Les plans de l'étoile noire livrés aux rebelles par RDD2 auront un look plus moderne, peut-être en 3D comme dans Attack of the Clone. Ok.
Encore une fois, inutile.
C'est ça, c'est vraiment des détails du Ultimate qu'on pourrait mettre. La bataille de Yavin 4 sera entièrement mise à jour avec beaucoup plus de tailles et de X-Wing combattants.
Pourquoi?
Les X-Wing, c'est une petite force.
Ouais, c'est ça, c'est pas l'Empire, là. Ils ont pas 300 vaisseaux.
Les rebelles utiliseront aussi un escadron de vieux Naboo Fighters contre l'attaque de l'étoile noire. Voyons donc. Je pense que une nouvelle scène aura lieu dans le building où Dooku et Tyrannus rencontrent Palpatine Sidious sur Coruscant pour son échec et informent Palpatine d'un nouvel adversaire potentiel au sein de la Force.
Que Tyrannus est mort.
Ouais. Non, mais il fait juste dire le building où est-ce que.
Ah, ok.
Attack of the Clone. Chewbacca reçoit aussi une médaille là, de la cérémonie de victoire sur Yavin. Ok, ça pourrait être le fun, ça. Bon, la paix contre-attaque, on va faire ça vite parce que je trouve vraiment que c'est.
Inutile.
C'est pas inutile, mais c'est, non, mais... c'est des points vraiment. Comme tu dis, le gars il a rêvé, puis ouais, il s'est réveillé, puis il a écrit ses désirs, là. L'Empire contre-attaque. Les Tonton seront remplacés par des Tonton numériques. Ça pourrait améliorer un peu, sera moins saccadé. La bataille de Hoth a été rallongée avec des dropships impériaux qui atterrissent sur Hoth pour libérer les AT-AT. Ça pourrait être bien, ça. Beaucoup de Snowtroopers et de soldats rebelles ont été ajoutés. Les AT-AT, les AT-ST feront l'objet de plusieurs nouveaux plans et de nouveaux vaisseaux et véhicules seront ajoutés. Les AT-AT auront une démarche plus rapide. Non, faut pas que ce soit trop rapide non plus.
Non, c'est ça.
Les boîtes blanches autour des vaisseaux ont été effacées.
C'est ça que tu parlais.
Oui, bonne chance.
Ouais.
La limace de l'espace, qui est le Space Slug, du champ d'astéroïdes a été refaite numériquement. C'était quand même bien déjà là.
C'était bien fait, oui. C'est ça. Je vois pas la nécessité.
C'est ça. La scène de conversation holographique avec l'Empereur a été retournée avec Ian McDiarmid. Elle sera plus longue et comportera des références de la prélogie. Pas nécessaire.
Non, je crois que ce serait bien d'avoir Ian McDiarmid.
C'est vrai que l'autre, il y avait vraiment des poches en dessous des yeux.
Il
n'y a
pas, pas du tout la même voix.
C'est ça. Ça, c'est une des choses qu'on pourrait refaire. Sur Dagobah, plusieurs plans de Yoda ont été faits en numérique. Deux scènes de l'instruction de Luke par Yoda tournées en 1980 et coupées au montage ont été restaurées et ajoutées. Moi, je garderais Yoda
en marionnette.
Jim Henson a fait une... C'est Jim Henson? Non, c'est Frank Oz.
Frank Oz. Frank.
Me trompais, là.
Kermit.
C'est ça. C'est Frank Oz, vraiment, qui a fait un bon travail là-dedans, là, bien manipulé.
Ouais, c'est ça. Même,
c'est assez réaliste, même.
Ouais.
Une scène importante et nouvelle a été tournée sur Bespin. Darth Vader est interpellé par une escouade de Stormtroopers et lui présente les restes de ses trois PO dans une caisse. Vader se penche et semble reconnaître sa création. Après un instant d'indécision, il ordonne au Stormtrooper de donner la caisse dans la cellule à Chewbacca, le mécanicien du faucon qui restera. Comment le mettre en état? Bon.
Ça, premièrement, ça avait été fait ça, dans une bande dessinée d'un Star Wars Tales.
Ah oui, c'est vrai.
Darth Vader.
To be or not to be, ouais, il faisait comme sur son Shakespeare. Là.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est la personne qui écrit ça a vraiment pris exactement l'histoire.
C'est
mais...
juste pour faire un lien, mais un drôle de protocole, tu sais.
Il y en a, là.
Il y en a plein, là. Okay.
Un de plus, un de moins. Là.
C'est ça. La chute de Luke après le duel contre V2 contiendra de nouveaux plans. Un cascadeur a tourné devant un fond bleu pour allonger cette scène. Yeah, right.
Voilà, pourquoi on veut pas le voir tomber pendant 5 minutes non plus, là?
Ouais,
c'est ça. c'est pas nécessaire,
c'est ridicule, là. Bon, retour du Jedi. Jabba Dutt aura des plans en images de synthèse. Bon.
Non, faut pas.
Non. Il est bien fait, Jabba.
Exactement.
Le Rancor est entièrement en numérique et les horribles halos bleus de l'incrustation ont disparu, ça, définitivement, à refaire. Parce que le Rancor, c'est la plus hideuse dans la trilogie.
On le voit qu'il bouge vraiment robotiquement.
C'est ça, c'est saccadé. Un peu comme le Tonton.
Ouais, c'est ça.
Le duel entre V2 et Luke sur l'étoile noire sera optimisé.
Ouais.
Ça pourrait être bon.
Ouais, mais... Ouais. C'est peut-être parce que là, on a grandi avec ça.
Mais
hein,
c'est déjà mieux que celui de A New Hope. Là,
ouais, c'est ça.
C'est Darth Vader devenu meilleur au sable. S'ils
sont pour le retoucher, le duel, moi j'aimerais qu'ils remettent ce qu'il avait coupé originalement, que Darth Vader, quand Luke il lance son sable, Luke il dit « I'm not gonna fight you », puis là il lance son sable, puis là, dans la scène qui était coupée, Darth Vader reprend le sable de Luke, puis là, quand Darth Vader dit à ta sœur, si tu vas pas me suivre, peut-être ta sœur va prendre ta place.
Never.
Ouais, puis...
Il reprend le sable de
Vader. Il reprend le sable avec la force. Il semble le sable des mains de Vader, puis là, il commence à...
OK.
Ça. S'ils sont pas retouchés, qu'ils mettent ce bout-là.
OK. Beaucoup de Ewoks ont été rajoutés en numérique. Ils seront plus efficaces au combat et certains se battront comme des furies.
No more.
S'il
no
vous plaît. Je peux même pas imaginer des Ewoks numériques.
Ben, ils en ont mis à la fin là, de Return of the Jedi, quand il y a la musique, là.
OK, ouais.
Mais je veux dire, voyons donc, les Ewoks, tout le monde, c'est comme le point négatif de tout le monde.
C'est ça, t'en rajoutes pas, surtout pas. La musique, le Love Team, est insérée lors de l'entretien entre Luke et Léa dans la cité des Ewoks. Mais le Love Team est déjà là.
Ils sont pas en amour.
Ah, mais probablement que c'est le Love Team de Across the Stars, c'est ça. Quand il parle de sa mère et tout. La mort d'Anakin Skywalker sur l'étoile noire, on attendra mourir la marche impériale qui sera remplacée par le Anakin Team comme musique de fond. Bon, passer de la marche impériale au thème d'Anakin, ouf, ça brise, ça deviendrait...
Ouais, c'est ça.
Moi, le thème d'Anakin, il est trop cheesy, là. C'est trop tout doux, puis tout pas méchant, ça fait enfantin. Enfantin comme
on
musique.
On comprend, lui, qui est revenu bon côté, là. On n'a pas besoin de...
C'est ça. Ensuite, Sébastien Shaw, qui jouait le vieux Anakin mourant, disparaît au profit d'Aiden Christensen, très maquillé pour le rendre plus vieux. Plusieurs lignes de dialogue ont été ajoutées. Il s'excuse pour tout le mal qu'il a causé. Il remercie son fils pour l'avoir amené du bon côté. Il lui demande de refonder l'Ordre des Jedi. Ouf. Il lui dit qu'il aime et qu'il aime sa sœur. Juste avant de mourir, il dit « C'est fini. Nous verrons plus la planète. Bon, c'est fini. » Bon.
Mais c'est totalement inutile.
Il n'y a pas besoin de se justifier, là.
Non, c'est ça. On va l'avoir vu pendant les trois premiers films.
Nous verrons plus de planètes fêter la victoire sur l'Empire. Un plan montrant Jar Jar âgé désormais. Boss Jar Jar, ben oui, fais-moi rire. Leader des Gungans célébrant la victoire avec les Naboo sur la planète Naboo. Et un autre plan en transition montrant un vieux Watto sur une chaise Hovercraft, car désormais trop vieux pour voler.
La chaise avec les Glars.
Ouais, comme Yodo, là. D'autres plans montrant la fête au village des Ewoks seront rajoutés. Le spectre d'Anakin est désormais joué par Hayden Christensen, vieilli pour l'occasion. Et le spectre d'Amidala serait à ses côtés.
Ça, ça n'a aucun sens.
Ça n'a pas de sens.
Ça n'a aucun sens. Aucun Amidala, sens. C'est pas un Jedi. Là.
C'est ça. Ce dernier point est sujet à caution, car en théorie, seuls les Jedi peuvent disparaître sous forme de spectre.
Et voilà.
De toute façon, Pablo l'a dit.
Ouais, c'est
Amidala
ça,
ne sera pas.
Ni Mace Windu et ni...
Exactement. Donc, c'est un gros délire de fan qu'on vient de vous dire. Là. Mais ça apporte certains points qui valent mention, comme le Rancor, il faut améliorer ça.
Ben, même la fin, moi, de Return of the Jedi, voir les autres planètes célébrées, je trouve que ça...
Ça pourrait être bon. Mais ouais. Boss Jar Jar, oublie ça.
Non, ben non.
Moi, je veux que ça sur Alderaan, qu'on le suppose, qu'on le voit aller sur Alderaan, puis c'est tout. On le sait, dans une haut, puis il était sur Alderaan quand le laser a shooté. C'est une mort plaisante pour les fans âgés qui connaissent que Jar Jar est là, puis les jeunes, ils verront pas mourir Jar Jar, fait qu'ils vont être contents.
Ouais, c'est
ils ne comprendront pas. N'est-ce pas?
Oui.
Bon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous appeler? Ou qui veulent qu'on les appelle? On va regarder rapidement encore. C'est des gens... Ah, oh, bien, il y a Michael, donc on va l'appeler. Michael, veux-tu qu'on t'appelle? Je sais pas s'il est là depuis bien longtemps. Je pense pas parce qu'il était pas là tout à l'heure. On va saluer ceux qui sont dans le chat. Donc, Dalsk, Dark Jedi, qui n'est pas toi.
Mon Dieu, quelqu'un me copie.
Non, c'est celui de la LCF. Ah. Dark Jedi. Sauf qu'il prend un autre E parce que toi, tu as enregistré le... T'as Dark Light, Dark Vader, Igloo, Jeremiah, Skyrim, Lunatic, MMS, Michael, Matab, Pittsburgh, Raven, Samavit, Chacal et Someone. Alors, Michael, est-ce que tu nous réponds? Ensuite, le Ultimate DVD, qu'est-ce qu'on mettrait là-dedans? Est-ce que tu referais beaucoup de scènes en numérique?
Non. Moi, personnellement, j'aurais pas grand-chose à ajouter au film présentement. Corriger les erreurs qu'il y a. Déjà, en partant, ce serait très bon. Sinon, il me semble qu'il n'y a pas vraiment... beaucoup de choses à ajouter.
Continue.
Ok.
Non, non, c'est ça. Je fais deux choses en même temps.
Non, c'est ça. Pour moi, il y a pas. Je vois pas de scène majeure qui devrait être ajoutée comme. Non. Même pas. J'en ai pas en tête.
Moi, c'est. Il y a peut-être. Dans ma tête, j'ai bon. Toutes les batailles se passaient en numérique, ça pourrait être bon. Mais, tu sais, je veux dire, c'est déjà très bien, là.
Ouais, c'est ça. On l'a vu, ils l'ont corrigé dans A New Hope. Ça bien, on voit bien la transition. Fait, je vois pas pourquoi. Puis même, ça a été corrigé aussi lors de Return of the Jedi. Donc, je vois pas pourquoi, là, qu'ils devraient acheter. Ça a l'air qu'on appelle.
Ouais. Non, qu'on appelle Michael. Un qu'on appelle régulièrement.
Oui, bonjour.
Salut, Michael, ça va?
Oui, toi?
Oui. Et puis, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, tu as hâte sûrement que ça sorte en DVD?
Ah, bien sûr. Même si je l'ai chez nous en VHS.
OK.
Meilleures images.
Il commence à être...
Nouveau contenu, puis...
Il commence peut-être à être usé, tes cassettes. C'est pour ça que tu aimerais ça avoir en DVD pour garder la qualité.
Peut-être aussi. Mais je les écoute de moins en moins, mais c'est parce que je veux plus faire attention, justement.
Ouais, c'est ça.
Je m'interdis de les user quasiment.
Ouais, c'est comme moi, je les ai pas écoutés depuis 5 ans, le coffret original puis le Special Edition depuis 3 ans, donc ils sont encore en très bonne qualité.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que tu... comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que tu rajouterais, que tu referais ou que tu enlèverais carrément?
C'est pas vraiment, tu sais, j'aime beaucoup le produit comme il est là,
mm-hmm.
Mais plein de, tu sais, des petites scènes d'à côté, des petits détails à ajouter qui feraient des liens avec...
Ok, toi, tu veux faire plus de liens...
Ouais, peut-être plus, ça serait bien.
Okay, comme on a mentionné, dans les délires du gars qu'on a lu, là, tous les liens comme Darth Vader qui revoit ses 3PO, puis c'est des liens de ce genre-là que tu parles?
Ouais, c'est ça, des trucs comme ça. C'est pas des choses qui vont avoir un gros effet sur le film. Là. C'est juste des petits clins d'œil.
Des clins d'œil, OK.
Ou juste, mettons, ça peut être aussi avec l'univers étendu, donc... Mm-hmm. Un petit lien avec un personnage qui en parle.
Mais des liens avec l'univers étendu, il faut forcer gros. Hein. Ouais, c'est sûr que George y voit.
C'est ça, je me dis, mais ce serait bien quand même.
C'est ça.
Twitch run, là, quelque part.
J'y pensais justement, ça me passait. Il semble.
Est-ce que des scènes comme.
Au bureau de Palpatine ou
ouais.
un homme à la peau bleue sortir juste avant lui, quelque chose comme mm-hmm. ça.
Mais t'as pas de scène que tu changerais comme. Le Rancor, ou bien les scènes de l'édition spéciale que Greedo tire en premier, ça te plaît, ça?
Ah, ben le Rancor, je vais te dire, c'est. J'ai tellement ça, il y a vraiment des lignes noires en dessous, autour de la bête, puis c'est laid, ça. Faut vraiment modifier ça totalement. Ça sort super laid. Je capote à chaque fois que je l'écoute. Là.
Je me demande vraiment pourquoi qu'ils l'ont pas changé quand ils ont fait le Special Edition.
Ouais, c'est ça. Ben, je crois qu'ils disaient que c'était trop avancé pour qu'ils puissent le changer, je pense, un truc comme ça.
Qu'ils n'ont pas eu le temps de le sortir avant la deadline.
Ouais, c'est ça.
Je remarque, en tout cas, en rajoutant sur le DVD digitalement, ils devraient être capables de changer le problème. Ça, c'est vraiment laid.
Et puis, si... dans les extras, c'est quel genre de trucs que tu aimerais avoir?
Ben, les trucs habituels, les commentaires, les réalisateurs, les acteurs, là, mais les petits dossiers sur, la bataille de Hoth. Donc, c'est passé il y avait eu un article dans l'Insider, d'un an et demi ou deux ans, je crois, justement sur la bataille de Hoth. C'est sur des moments du film, faire des petits articles, voir comment ils ont tourné telle chose... ou ce que George Lucas a pris son inspiration pour telle chose.
On n'a pas parlé des scènes coupées de A New Hope qui n'ont jamais été remises, sont juste sur le CD Might and Magic, quelque chose comme ça. Gang de Magic, est-ce que tu les rajouterais dans le film?
Oui, ben, peut-être pas rajouter dans le film, mais ajouter en option pour regarder. Ou je crois que ça doit sûrement pouvoir se faire en DVD, genre que... le choix de l'écouter avec ou sans les scènes. Puis,
C'est une chose qu'on n'a pas abordée. Est-ce qu'on a une version telle que vue au cinéma ou et une deuxième option qu'on peut insérer les scènes automatiquement à l'intérieur? Je sais pas si ça se fait sûrement.
Ça se fait. Il l'avait fait pour, je pense, c'était X-Men ou je sais pas trop quel DVD. Là, tu peux avoir l'option. Je sais pas si c'était Terminator, mais en tout cas, celui de X-Men, tu avais l'option de voir les scènes qui avait été coupé à l'endroit où il devait être placé. Puis là, quand tu écoutais le film, tu avais un petit icône qui apparaissait pour dire, OK, la scène
est rajoutée.
Ça va, ouais, c'est ça. La scène est rajoutée. Puis là, après ça, ça revenait à... Tu voyais, il y avait un changement de qualité, là, parce qu'il n'avait pas retravaillé les scènes coupées.
Okay.
Au moins, ça le montrait. C'était cette option-là. Moi, je trouve que ça serait...
Ça serait bien qu'il y ait cette option-là, quand même.
Personnellement, j'aimerais mieux... Les premières versions qu'ils mettent. Là.
Ok, toi aussi. Pas les Special Editions.
Ben, tu sais, c'est Star Wars, le début, c'est comme ça que c'est parti.
C'est parce qu'il faut avoir un souvenir. Nous, les vieux, comme moi et Jean-François, qui ont vu les trilogies au cinéma dans le temps, si on n'a pas les vieilles versions sur DVD, on ne pourra jamais avoir le souvenir conservé par nos vieilles cassettes.
Ouais, c'est ça.
Puis quand les VHS seront seulement bons pour... la poubelle, on pourra même plus l'écouter.
Ouais, c'est
cassette.
Ou quelque chose qui pourrait faire, mais remarque, là, ça vient toujours au même problème, c'est de faire une version nouvelle édition ou la vieille. Là. Mais
on peut se dire que s'ils rajoutent les scènes coupées, ça va être une nouvelle Special Edition qui va devenir la version officielle de Luke, de George Lucas au-dessus de les Special Edition, ça va être une nouvelle version. Et puis, c'est certain qu'il va y avoir encore 2-3 versions. Là.
Il va dire arrêter de vivre dans le passé. Les autres versions sont plus bonnes.
C'est certain que le fait qu'il ait attendu si longtemps avant de les faire, ça nuit un peu à la trilogie parce qu'il y a vraiment un écart de qualité entre les trilogies. Un Ultimate Edition qui referait les films, je ne verrais pas pourquoi il ferait ça, mais ça serait une autre version. Carrément, la version... 2050, là. Je sais pas trop.
Director Scott.
Ouais, c'est ça. Ben, plus que Director Scott, ça serait probablement pas George Lucas qui la ferait, là. Lui, sa version serait faite, puis ce serait juste quelqu'un qui reprendrait les scènes retouchées. Mais ça doit être difficile à faire si t'as pas les originaux avec écran bleu, ça. Etc. Ça doit être épouvantablement difficile à faire. Je sais pas à quel point tu peux retoucher une image déjà sur film pour la remettre. Je sais que quand même dans les Special Editions ont bien réussi avec Bespin. Les scènes qu'ils ont mis sur un mur blanc, ils ont créé une grande fenêtre qui montrait sur l'extérieur.
Ouais, c'est
quand même spécial. Mm. Puis ça, c'est quand même sur un vieux médium qui était passé de date, qui était en train de dépérir. Là, donc, bon, mais merci beaucoup, Michael.
Ça me fait plaisir.
On se reparle à la prochaine émission.
Parfait.
Ciao.
Salut. Bye bye.
Ça, les scènes coupées, il est... Ben là, de A New Hope, j'y connais. Moi, je ne l'ai pas, le CD Bien le Magic. Donc...
Ben, il nous en montre juste une.
Je sais qu'il y a vraiment... C'est sur Tatooine, là.
Biggs, là.
Biggs, puis... Ça gagne.
Ça ralentit le film, mais ça serait...
Tu montres un peu comment il vit avec ses amis, puis...
Parce que, ce qui est sérieux, c'est qu'avec le Special Edition, ils ont montré quand il se prépare pour la bataille de Yavin, ben là, Luke, il rencontre Biggs, puis là, il est là, t'sais, comme si... Ben là,
mais la scène n'était pas là, justement.
Non, c'est ça. Mais là, ils ont rajouté cette scène-là, puis là, tout le monde... C'est qui lui? Biggs?
Pourquoi qu'il est son meilleur ami?
Ouais, c'est ça. Mais là, s'ils rajouteraient la scène qu'ils ont coupée...
Ça ferait plus de sens.
C'est ça. Ça mettrait plus de profondeur dans leur amitié.
C'est ça.
Il y a cette scène-là. Quelle autre scène qui a été coupée?
L'Empire, puis dans Return of the Jedi, n'as-tu découpé? Moi, j'ai pas vraiment le CD.
Je sais que dans Return of the Jedi, il y avait celle...
De Darth Vader que tu me parlais, là.
Celle de Darth Vader. Il y avait celle aussi où...
Excuse-moi. On est là, je regardais...
Non, c'est ça. Dans Return of the Jedi, il y avait celle quand Luke, il libère Han Solo du désert... pas du désert, mais de Jabba. Lui, quand il arrive à leur vaisseau, il y a comme une tempête de sable. Puis là, Han Solo, il... Pas il embrasse, mais il serre Luke dans ses bras, merci. Tata. C'est inutile là, comme scène, là, sérieusement. Mais...
C'est quand il se dirige au faucon.
Ouais, c'est ça. Puis il y avait une autre scène aussi qui avait été coupée quand. Ben, c'est quand Luke tombe dans le pit.
Sarlacc.
Dans le pit du Rancor. Hein.
Il saute jusqu'au grillage.
Ouais, c'est ça, puis il se pogne après le grillage. Ben, c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est peut-être juste montrer qu'il
est. Ça doit être une bonne scène parce qu'on voit pas le Rancor.
Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, à part ça, je sais qu'il y a plusieurs. Il y a une autre scène aussi dans Return of the Jedi quand que Darth Vader il a laissé passer la navette avec Han Solo, Luke sur Andor. Il retourne voir l'Empereur pour dire que une navette rebelle a pénétré
le
bouclier. Là.
Ouais.
Puis là, ben, en allant voir l'Empereur, ben, là, il y a comme les gardes qui essaient d'arrêter Darth Vader. Puis là, Darth Vader, il est dessus, puis il passe. Puis ça avait été coupé. Okay. Peut-être ça pourrait être intéressant de voir. Ça donnerait, je pense, une autre profondeur. Ça montrerait que Darth Vader, il est vraiment confiant en dedans de lui. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme, il veut vraiment voir l'Empereur, puis tout ça.
C'est ça. Moi, avoir les versions DVD, j'espère qu'ils vont faire de quoi de potable. J'espère que ça va être la Original Trilogy, ça le dit. On veut la Original Trilogy en DVD.
Mm.
Moi, c'est ça que je veux, mais je doute que ça va être ça. Parce qu'il est peut-être pas prêt à être transféré, ou je sais pas trop. Mais moi, je veux vraiment la version originale, avoir une copie. Puis, ils vont refaire les Special Edition, ou les Super Special Edition qui sortiront plus tard. Puis, on va être satisfait pour l'instant, là.
Parce que
c'est certain qu'il y a certaines générations qui ont juste vu les Special Edition au cinéma en 97 puis qui ont jamais vu les autres versions, fait qu'ils savent pas c'est quoi la vraie version.
Ouais.
Ils vont dire bof, ok.
C'est ça, les autres ils vont regarder la première version, ils vont dire
ils disent c'est pas ça que j'ai sur mes cassettes.
Ouais, c'est ça, ils vont dire c'est bien mal fait.
C'est ça. Fait que c'est pour ça que je doute qu'ils vont mettre la version originale. Donc.
Ouais, ils peuvent faire comme le coffret Alien Quadrilogy. Qui est sorti, il y a les deux versions. Il y a la version théâtrale, puis
Editors.
Puis les Special Edition sur le main disque. C'est juste une autre option qu'ils peuvent.
Pourquoi tu ferais pas ça?
C'est ça. Le Special
Parce que c'est aussi bien de faire de l'argent en deux fois qu'une seule fois.
C'est ça. T'sais, tout le monde sont là. Pourquoi qu'on n'a pas un coffret comme Alien Quadrilogy? Mais il faut pas oublier non plus qu'Alien, avant qu'ils fassent le coffret Quadrilogy, ils étaient déjà disponibles en DVD avant. Là. Tu sais, là, ils ont refait un autre coffret. Là. C'est sûr que ça va être la même affaire qui va arriver avec Star Wars. Là, ils sortent parce que je pense que là, les fans, ils ont beaucoup chialé, ils sont écœurés, ils veulent avoir les DVD. Puis, George s'est dit, OK, sors-les, on va avoir la paix. Prendre un bout, on va pouvoir se concentrer sur l'épisode 3, on va faire ce qu'on a à faire. Puis après ça.
On verra qu'est-ce qu'on va faire pour d'autres versions de DVD ouais, par ça. La suite. Ben, c'est comme un peu Lord of the Rings, sauf que Peter Jackson, lui, il sort ça rapidement.
Ouais.
Il a quand même la version du film. Ceux qui veulent la version du film, ils l'achètent tôt. Et puis ceux qui veulent la version étendue, ben, il aurait pu attendre, puis sortir seulement le collector, puis t'as les deux versions dessus.
Ouais.
Même il aurait pu la mettre aussi, la version dans le collector, mais vu que c'est rapproché, il dit bon, si on est encore sur le marché, on va laisser la version théâtrale ici.
Là, ça a l'air qu'il y a un autre coffret qui sort bientôt. Lord of the Rings, l'année prochaine.
Ah ouais. Serait.
Non, je sais pas. C'est tout ce que j'en
ai. Ultimate.
Lord of the Rings, je sais pas.
Dans un seul coffret. Ça va être un gros 500$, ça.
Ouais, sûrement.
Commencer à économiser.
Ouais, c'est ça.
Quand même. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. On va, pour nos commentaires à nous. Donc, on va aller lire les emails qu'on a reçus. Okay. Ça vient de
Django Dooku.
Juste avant, je vais aller vérifier si on a reçu d'autres. Parce que des fois, on n'est pas toujours en train de regarder qu'est-ce qui arrive dans notre boîte de email. Donc, non. Le dernier qu'on a reçu, c'est un email pour l'émission de ce soir en anglais. Donc, Django Dooku par email, il nous dit: voici mes attentes pour le DVD. Premièrement, j'attends une qualité d'image et de son optimale bien supérieure à celle d'Indiana Jones. Je l'ai pas vraiment vu, fait que...
D'après moi, c'est... Faut pas s'attendre à des miracles, là. Je veux dire, les films, là, ils ont quasiment... A New Hope, ça a quasiment 30 ans, ça, là. C'est dans ce temps-là, les Dolby, ça existait pas, c'est là.
C'était Dolby ordinaire.
Ouais, Surround, ou...
C'est ça, c'était stéréo, tout court. J'aimerais un très beau packaging en espérant que ceux vus sur internet seront les finaux. D'après moi, c'est pas finaux. D'après moi, c'est même pas des vraies boîtes. Ils ont fait, comme je disais, un modèle 3D, puis ils l'ont mis dans une pose, ils ont rajouté de l'ombre. C'est juste pour montrer. Pour donner une idée à Lucasfilm. Probablement qu'il y a des soumissions présentement, là, pour des boîtiers, puis des soumissions de différentes compagnies. Puis eux autres ont fait 3 exemples.
C'est pour ça qu'on les
D'après moi, c'est ça.
C'est pour ça quand ils ont fait l'annonce, ils n'ont pas montré aucun packaging, parce qu'il n'y avait rien de fait encore. Là.
C'est ça, exactement. Probablement que, puis en plus, ils ont resté quoi, 5-10 minutes en ligne, ces images-là, donc d'après moi, c'est juste une soumission à Lucasfilm. J'aimerais un très beau packaging, ok, c'est ça. Bon, deuxièmement, les bonus idéaux seraient des commentaires audio sur chaque film, un long documentaire du même style qu'Indiana Jones, des scènes coupées inédites, quelques featurettes sur les différentes étapes de production des 3 films, les bandes annonces et spot TV, un documentaire sur la création du DVD, un rêve personnel pour Django, des galeries de photos sur la production des 3 films, affiches et campagnes publicitaires à travers le monde, et en prime, un lien DVD-ROM vers la BA de l'épisode 3. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé.
Ouais,
c'est certain qu'il va y avoir quelque chose.
Ils l'ont fait pour The Phantom Menace quand ça avait sorti en DVD. On avait un lien spécial pour le deuxième bande-annonce de l'épisode 2. Fait, d'après moi, il va y avoir le même type.
D'après moi, il va y avoir des bandes-annonces ou des éléments spéciaux pour les membres d'Hyperspace qui vont être différents de qu'est-ce que c'est le DVD. Donc, ceux qui ont le DVD vont avoir quelque chose de différent. Ceux qui sont sur Hyperspace vont avoir quelque chose d'autre. Donc, si t'es le total package, tu vas pouvoir accéder à tout.
C'est ça.
Il faut que t'aies un DVD-ROM, bien sûr.
Dans le commentaire qui a dit, le documentaire sur le style Indiana Jones, ça serait intéressant. C'est un documentaire avec des entrevues, celui d'Indiana Jones, avec Harrison Ford, les équipes de production, les techniciens pour les scènes, les cascadeurs, tout. C'est vraiment un bon documentaire.
Très complet.
Ouais, très complet. Okay. Les scènes coupées, d'après moi, on n'en verra pas sur le coffret qui va sortir au mois de septembre. Mais on va en avoir. Je dis, George Lucas, il aime ça lui montrer les scènes qu'il a coupées, puis il aime ça dire pourquoi qu'il les a coupées, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'on va les avoir, je sais pas quand, mais d'après moi, à part ça, le reste, c'est tout... plausible.
Troisièmement, Django Dooku dit: j'aimerais une nouvelle version qui étoffe l'édition spéciale. Donc lui, c'est la version édition spéciale qu'il veut, mais encore plus visuellement amélioré. Je pense que c'est une bonne idée, sauf que je sais pas si on le temps, à moins d'engager des nouvelles personnes pour le faire.
Ah, c'est ça. Puis comme on a dit, il faut pas non plus s'attendre à des miracles. Ils sont pas pour faire le film au complet. Là.
C'est ça.
Comme tu disais, c'est parce que t'sais, les films ils ont été filmés dans des décors. Tout. Il y a une limite quand même à ce que tu peux ajouter numériquement ou qu'est-ce que tu peux enlever. Là.
Mm-hmm. Quatrièmement, en priorité, refaire les sabres laser, Jabba et Palpatine dans Empire Strikes Back. Sinon, le Rancor aurait besoin d'un rafraîchissement et quelques scènes expliquant le nouveau Sénat seraient le bienvenu.
Il n'y a pas de nouveau Sénat.
Ben, probablement le Sénat dissous, ouais. C'est ce que je voulais dire. Ben, c'est un Sénat juste avec des conseillers.
Ouais, peut-être.
Et non un vrai Sénat, est-ce qu'ils ont le droit de voter, là? Cinquièmement, pour finir, je n'aime pas du tout l'idée de la version Ultimate. Ce sera un coup commercial à la con, sans aucun intérêt. Moi, je dis qu'il va en avoir une Ultimate parce que t'as de l'argent à faire et parce qu'il n'y aura pas le temps de travailler sur
les DVD comme il voudrait.
Même que, probablement que sur les Ultimate, ils vont rajouter les scènes de Attack of the Clone dans Attack of the Clone. Ils vont faire un peu comme Lord of the Rings, d'après moi. Là. Peut-être chaque film va avoir un collector.
Ouais, peut-être.
Ça serait intéressant.
Oui, ça serait.
C'était Django Dooku. Maintenant, un email de... Je les ai-tu toutes sorties? Deux secondes. Je veux m'assurer d'avoir tous mes mails. OK. Donc... un email de Ginette Martin, je crois que c'est ça, ou Martin Ginette, Ginette Martin. Moi, ce que j'aimerais bien avoir sur le DVD de la trilogie originale, ce serait la version originale des années 80, de la trilogie classique et de l'édition spéciale pour les trois films. De plus, sur le DVD bonus, il devrait y mettre des infos sur l'épisode 3 de Star Wars, en plus de reportages sur la trilogie originale, comme par exemple une bande-annonce exclusive au coffret, pourrait inciter les gens à l'acheter. Moi, je pense que, qu'il y ait du épisode 3 ou pas, il va être très acheté, le coffret.
Ouais, non, c'est ça. Il est très attendu.
C'est ça. Aussi, il devrait refaire la musique des films de la trilogie originale et refaire certaines scènes numériquement, comme par exemple le Rancor dans Le Retour du Jedi et certains vaisseaux aussi. Moi, pour ce qui est de la musique, je vois pas pourquoi qu'on changerait la musique.
Non, moi non plus.
Elle est excellente, la musique.
Ouais.
Elle a été reconnue et gagné des Oscars, cette musique.
Ben, c'est ça.
Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Donc, c'était...
Ce qui arrive aussi, je pense que c'est une chose qu'on n'a pas abordée, mais qu'il faut peut-être mentionner, c'est que tout le monde sont là, ah, il devrait changer ci, ça. Mais...
C'est pas votre film à vous autres.
Non, il y a ça. Mais il y a aussi, les DVD qui sortent au mois de septembre, là, ils sortent pas juste pour les fans. Je veux dire, il y a plein de monde qui aime écouter Star Wars, qui sont pas des maniaques comme nous autres, là. Fait que, ils sortent surtout le DVD pour eux autres. Ben, nous autres aussi, les fans.
Pour le commun des fans.
Ouais, c'est ça. Donc, le fan ou la personne, je sais pas moi, genre, exemple, mon père, s'il ajoute le DVD, lui, il veut pas le voir, les 40 000 nouvelles scènes qui ont été ajoutées, lui, il l'ajoute parce que c'est ça. Fait que, d'après moi, c'est pour ça, là.
Puis moi, je suis un des bons exemples, j'ai pas beaucoup de DVD, mais il y a pas beaucoup de DVD que j'ai regardé les commentaires. Moi, je regarde le film.
Ah, c'est ça.
Je suis là pour voir le film.
C'est ça.
Donc, c'était Ginette Martin. Ensuite, Jeremized nous dit... Star Wars n'est pas parfait. Il y a plein de choses qui, maintenant, grâce au numérique, seraient faciles à transformer. Mais jusqu'où transformer un chef-d'œuvre? La trilogie originale a traversé les générations et s'est imposée comme une référence cinématographique du cinéma de science-fiction. Que se passerait-il si on modifiait un film qui a eu autant de succès? Pourquoi Star Wars est-il devenu si populaire? Mais, une histoire qui accroche avec ses personnages très attachants, mais aussi ses effets spéciaux, que ce soit la trilogie originale ou la prélogie. Ces effets spéciaux étaient révolutionnaires à chaque fois. Seulement, les effets de la trilogie originale ont bien vieilli, et visuellement, c'est moins beau que la prélogie. Regardons l'édition spéciale. Le travail effectué sur Bespin est superbe. Les effets spéciaux ont vraiment contribué à renforcer à l'immersion. Alors, continuons sur la lancée. Pourquoi pas refaire un meilleur Rancor? Franchement, il est vraiment laid. Ou encore modifier l'hologramme de l'Empereur dans Empire Strikes Back. Ces petits détails comme ceci, des petits détails comme ceci ne changent à rien à l'histoire qui pourrait faire de Star Wars un meilleur film. C'est vrai que c'est des petits détails, mais...
Ben, c'est tout. On remarque que tout le monde a pas mal les mêmes points qui veulent
c'est
changer.
Ça, il y a vraiment des points vraiment laids dans... même si Lucas n'est pas satisfait de Star Wars, c'est aussi un énorme moyen marketing pour inciter les gens à acheter qui ne sont pas des fans. C'est vrai que les gens qui sont pas des fans, qui ont peut-être qu'ils l'ont vu une fois au cinéma 77,
ouais,
comme
ça.
Mes parents par exemple, tu sais, qui vont peut-être l'acheter parce que bon, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vu. Il faut sûrement une motivation pour des personnes non fans d'acheter un coffret de 3 films alors qu'ils la possèdent déjà en VHS.
Ça, c'est un bon point.
C'est ça. Est-ce que modifier les effets spéciaux d'un film sera comme si on regarde un nouveau film? Je ne crois pas. Mais regarder un meilleur film, sûrement. L'histoire sera identique. Après tout, c'est l'histoire... c'est l'histoire et l'univers envoûtant qui accroche. C'est... Ouf, comment c'est écrit. Après tout, c'est l'histoire et l'univers envoûtant qui accroche.
Alors moi, c'est cette histoire.
OK, cette histoire. OK. La preuve, on regarde bien la trilogie originale et les gens l'adorent malgré que les effets spéciaux soient complètement dépassés. Alors oui, modifions les effets spéciaux au service du film et non l'inverse. Maintenant... Est-ce que la fameuse Ultimate Edition est celle-ci ou bien d'autres choses qui se préparent dans, pardon, dans notre dos? Lucas nous offre ça peut-être pour patienter, mais il y a le temps, il a le temps de il n'a pas le temps de contrôler et superviser le travail de cette fameuse édition à cause de son boulot pour l'épisode 3. Seul le temps nous le dira, mais contentons-nous de cette édition qui arrive et qui, peu importe les versions, sera excellente, car on pourra enfin voir Star Wars à la maison dans des conditions encore jamais inégalées. C'est vrai que l'autre point qu'il mentionne, Lucas, ses films, il faut vraiment qu'il contrôle tout, puis il n'a pas le temps présentement, donc c'est certain qu'il n'y aura pratiquement rien de retouché.
Non, c'est ça.
Ça va être comme Indiana Jones, comme le coffret.
C'est ça. Il ne va pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi.
C'est ça.
Là.
Il faut que je m'achète d'ailleurs.
Oui, ouais, Indiana Jones.
Indiana Jones puis Alien, il faut vraiment que je me les achète. Là. Maintenant, un email de David et Claire Ben Amiaz. Oh mon Dieu. C'est assez court. J'espère seulement que la trilogie pourra être regardée suivant les préférences de chacun. Je souhaite donc que l'on puisse choisir de regarder chaque film avec ou sans scène ajoutée à l'occasion du 20e anniversaire et de la sortie des films originaux. Autrement dit, que le choix version originale ou special edition ou même avoir scène coupée intégrée ou non. Je pense pas qu'on va avoir toutes ces options là. D'après
non,
moi,
c'est évident que.
D'après moi, il va avoir les scènes coupées, mais sur le 4e DVD.
Ouais. Puis c'est le monde qui espère encore voir la version originale, mais c'est sûr qu'elle n'est pas là. Ils l'ont dit, c'est même dans l'annonce, que pas un George Lucas n'y croit plus. Puis en plus, ils l'ont annoncé, c'était le Special Edition sur le DVD.
Il y a seulement la version actuelle qui existe.
Ouais, c'est ça.
Quote Steve Sansweet. Maintenant, un email de Benoît Aubry. Salut. Si j'aurais une scène ou deux à refaire de l'ancienne trilogie, ce serait la scène de l'épisode 4, A New Hope Special Edition, où l'on voit Han Solo et Jabba. Ce Jabba est vraiment mal dessiné. Par contre, ils l'ont très bien réussi dans l'épisode 1 durant la course, c'est vrai.
Juste à changer le modèle.
Ah, exactement. L'autre scène à modifier est toujours dans A New Hope, est le combat entre Darth Vader et Obi-Wan. Le sabre laser de Vader est vraiment mal dessiné et le combat est nul. Bon, je comprends qu'Obi-Wan est vieux, mais la chorégraphie du combat pourrait être à refaire. Je trouve que Darth Vader n'a pas l'air habile. La scène serait à refaire. Après tout, nous pourrions mettre des nouveaux cascadeurs, car Ben Kenobi a le visage caché par son capuchon. Ça ferait bizarre de regarder les 6 films en ligne et de voir un combat spectaculaire et puissant entre Obi-Wan et Anakin dans l'épisode 3, et ensuite on le voit dans le combat le plus nul des deux, même personnage dans l'épisode 4. C'est une petite revanche de V2. Ce sont les seuls souhaits que j'aurais pour faire le changement. Bonne soirée. C'est vrai que si tu écoutes de 1 à 6,
ouais.
T'as le plus grand combat de tous les temps au cinéma, combat
avant.
De sable juste avant, tu changes. Mais c'est le combat le plus nul ever là, de tous les temps. C'est vrai que...
Moi, il y a aussi ce que j'avais aimé par rapport à ça, c'est George Lucas, à un moment donné, il avait dit que la raison pourquoi le combat il se nulle, c'est que Obi-Wan il est vieux, puis Darth Vader il, t'sais, c'est plus un robot qu'un
il
humain.
Il est plus limité.
Non, il est plus limité, mais sauf que ça c'est entre épisode 1 puis épisode 2. Puis là, quand on a vu épisode 2, on a vu Dooku qui est genre 80 là, puis qui est capable de se battre de même. Là, c'est comme ouais.
À moins que l'armure soit encombrante, là, mais.
Ouais, c'est ça. Mais non, mais t'as regardé pour Obi-Wan, là, parce qu'Obi-Wan, il est. Parce que si on se fait à l'âge, Obi-Wan, il est quoi, 60, quelque à peu près dans l'épisode 4, puis le Dooku, il est pas loin de 80 dans l'épisode 2, puis il bouge super habilement.
Ouais.
À moins qu'il ait pogné des rhumatismes, Obi-Wan.
Ouais, mais Dooku, il sait du Dark Side.
Fait. Ouais, non, c'est ça.
Bon. Next email de Jaina. Ça fait très longtemps qu'on attend la trilogie classique en DVD. Pour ma part, certainement, depuis que nous avons un lecteur DVD. Je pense que je n'y croyais plus. J'étais persuadé qu'il faudrait attendre en 2006. Je continuais néanmoins à regarder de temps à autre à la lettre S dans les magasins de DVD. On ne sait jamais. C'était une recherche désespérée, je crois. À présent que ça va sortir, je suis réellement soulagé car ma cassette vidéo de l'édition spéciale de A New Hope est toute floue et pourtant j'en prends grand soin. Je ne mets jamais avance rapide en lecture, même pas les blabla au début, et je les regarde rarement. Ce traitement n'a apparemment pas convenu dans A New Hope, car les autres, en revanche, sont très bien, étrangement. Autrement dit, les autres cassettes ont bien vieilli, mais pas celle de A New Hope pour elles. Mais moi, c'est la même chose. Toutes mes cassettes de Star Wars, j'ai jamais fait de fast-forward visuel dessus.
Non, c'est ça moi non plus. Je pesais pas suppose, moi, parce
exactement.
Que c'est pas bon. Là, je pesais sur stop, je l'arrêtais quand je leur parlais.
Exactement. Ensuite, la grande question maintenant, qu'est-ce qu'il va avoir sur le DVD? Certainement de courtes séquences du tournage de l'épisode 3, histoire que de nous mettre l'eau à la bouche, comme si c'était nécessaire. je fais confiance à Lucas pour avoir conserver tout un tas de bandes de coulisses, de scènes coupées, etc. au Skywalker Ranch. Par contre, j'ai peur qu'il en garde un peu pour une autre édition. Je n'ai pas envie d'avoir la trilogie originale 4 fois en DVD juste parce que les bonus sont mieux. Au fait, j'attends de lire ce qu'il y aura dans les DVD de cette année pour réellement me décider. Ce qui me plairait vraiment, c'est d'avoir un coffret avec édition originale et édition spéciale améliorée. Il y a encore des explosions dans Return of the Jedi qui sont très fausses. Jaina. Et voilà. C'est vrai que si tu regardes même le DVD de l'épisode 2, tu as des scènes coupées qui existent, qui sont pas sur le DVD. La
ouais.
scène qu'il y a pour les membres d'Hyperspace.
Oui, c'est vrai.
Dès qu'il y a 10 minutes qui attaquent le vaisseau pour être. Ben là, présentement, on a juste le raw footage, on a juste l'extrait cru, là, tel que
avec
filmé.
Avec les droïdes qui bougent là.
Exactement, qui est vraiment pas de musique, pas de centre d'effet, rien. Et puis, t'as aussi Obi-Wan sur une falaise qui se fait attaquer par un. Pas un Nexus, mais les.
Ouais, les créatures qui ont rajouté dans le camp des Tuskins.
Exactement.
T'as
déjà deux scènes qu'ils peuvent rajouter dans un Ultimate, une version ultime, qui aussi rajouterait les scènes coupées
ouais.
De la famille de Padmé, etc. Là, mm. Donc, il s'en garde, George, et il pense à tout, hein.
Il pense à tout, oui.
Exactement. Écoute, il faut qu'il fasse un héritage pour ses enfants.
Ouais, ils ont pas assez d'argent encore.
Un email de Lex. Bonjour à tous. Pour les éditions DVD, il faudrait des scènes coupées originales. Incrusté dans le film et non dans une version finie. Un peu comme les Ultimate Edition de Lord of the Rings,
ah,
les scènes
vois.
À l'intérieur. Comme bonus, des making-of et des bons commentaires audio seraient bienvenus. Commentaires de George Lucas, bien sûr, mais aussi des acteurs pour leurs anecdotes de tournage. Là, on sait que Carrie Fisher plus
Mark
Hamill le font.
D'après moi, Harrison Ford, pas sûr, mais.
Non, je suis pas sûr qu'il va vouloir, à moins d'avoir un bon cachet.
Il essaie d'oublier Star Wars. Lui.
Ouais. C'est le seul qui a eu un avenir après.
Ouais, c'est ça.
enfin, ne surtout pas remplacer Yoda par un Yoda numérique. Je ne suis pas un conservateur endurci, mais là, ça frôlerait le blasphème. Je suis tout à fait d'accord
ouais.
pour ma part. Comme de remplacer Sébastien Shaw par Hayden Christensen, après tout le respect que j'ai pour Hayden.
Non, il a raison.
Tu changes pas ça là. Déjà que Il est tellement magané, Sébastien Shaw, dans son casque de Vader, ça peut être n'importe qui.
Ouais, c'est ça.
Pas besoin de le changer.
Tu peux pas dire, hey, c'est Sébastien Shaw. Tu le connais pas, là.
C'est ça. Et c'était les emails. Maintenant, on va aller voir le forum. Les gens qui ont laissé des commentaires dans le forum. Là, il y a eu des débats de commencer. On va sauter par-dessus les topics de débat, puis on va aller vraiment sur les topics qui sont qui se concentrent comme il faut. Sur ce qu'on a demandé. Psycho Rogue. J'aimerais que Lucas fasse changer les lightsaber. C'est... Oui. Surtout de... Ben, je dirais que c'est surtout dans le combat Obi-Wan... Darth Vader. Le reste, c'est pas si mal. On n'en voit pas beaucoup de lightsaber. Return of the Jedi, c'est déjà amélioré. Là, les
limites. Ben,
les...
même Empire. Moi, avec Empire, j'ai aucun problème. Tu vois le reflet des sabres, tout. Moi, j'ai aucun problème avec ces autres. Il y a peut-être aussi dans New Hope quand Obi-Wan donne le sabre à Luke.
Puis okay, ouais.
Là, tu vois que l'image la coupe, puis que le son vient comme dit. Il y a ouais, ça peut-être changé un peu, là.
C'est ça. Dans A New Hope, le combat V2-Obi-Wan, les épées sont super LED à comparer les autres films. Les couleurs sont pas assez foncées et le sabre pas assez large. On dirait des tubes néons. Même que l'on voit le sabre d'Obi-Wan s'éteindre à un moment donné, comme tout le monde le sait. Ouais. Dans Return of the Jedi, c'est le contraire. Les sabres sont beaucoup trop gros. Dans le combat Luke et Vader, surtout quand Vader remonte les escaliers en disant « Obi-Wan has taught you well ». On dirait que l'épée de Luke est aussi large que sa taille. Ça m'a toujours gossé.
Ouais, ça aussi, j'avais remarqué, pas dans
ce temps c'est duel, le glow du sabre, il est très large.
Non, moi, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est le si tu remarqueras dans Return of the Jedi, quand Luke, quand il soit sur la barge de Jabba, là, puis qu'il se prépare à partir de lui qui attaque, puis là, Léa arrive à fatiguer sur le pont avec le canon, puis là, quand il met son sabre, comme pour prendre Léa, après ça, puis partir, son sabre, il est un vrai gros.
Ok, son manche.
Ouais, son manche de sabre. Tu sais, c'est plus un manche de sabre ordinaire, le manche de sabre, il est genre à peu près 12 pouces, là,
ah ouais. Ok, c'était juste pour bien le voir.
Ouais, c'est
regardez, je mets mon sabre à,
ouais, c'est à, ça, mon sabre
à ma ceinture. Peut-être retaper certaines scènes avec les AT-AT dans Empire Strikes Back. Les rendre un peu plus fluides dans leur mouvement. Mais juste d'arranger les lightsabers me suffirait. Pour les extras, trailer. Ils ont besoin d'en mettre le plus possible. Et des bloopers. Pour le reste, je vais me contenter de ce qu'il va y avoir. Patrick. C'était Psycho Rogue. Fais de la pouette. Je me sens un peu masochiste dans l'âme. J'ai vraiment le goût de ne pas acheter les DVD. Même si ça fait longtemps que je les attends. Quoi? Avec la sortie de l'épisode 3, je suis sûr qu'il va s'en suivre une édition ultime de 6 films et qu'il y aura encore plus de bonus.
C'est pour ça qu'il y a eBay, pour les revendre après.
Ouais, c'est ça. Mais moi, j'y garderai quand même. Ouais. Je suis le quantique collectionneur.
Ouais, c'est ça. Puis là, si, en plus, t'as les commentaires audio sur les autres, t'es pas sur c'est les... Ça.
Comme Psycho... attends, je veux juste noter quelque chose. C'est juste que j'ai eu un flash, je vais en parler tard. Ok, comme Psycho, je suis d'accord qu'il faut retoucher le sabre laser. Il faudrait également retoucher certaines images. Observer la scène où l'empereur tente de basculer, tente à Luke de basculer pour de bon. L'image est à la fois claire, édition spéciale, et plus foncée en 1983. Et franchement, il peut aussi retoucher la scène du Rancor, la pire utilisation d'un écran bleu dans l'histoire des effets spéciaux. sinon, j'espère voir les bandes annonces originales, comment les films ont été faits, et si possible, toutes les émissions qui font référence. C'est un phénomène de société. Ouf, c'est impossible de mettre toutes les références. Mettons, tu vois tous les extraits des Simpsons.
Ben
non, non. Il y en a tellement là, de
ça prendrait un coffret DVD juste pour ça.
Juste
là.
Pour les extraits, même s'ils font juste mettre. Une minute. Les quelques secondes que c'est mentionné.
Ah, ouais, c'est ça. Non.
Ok, ensuite. Céléron. Pour ma part, je reste très attaché aux anciennes versions du film. J'ai écouté la trilogie originale très jeune, si bien que pour moi, l'édition spéciale est un massacre. Han Solo restera toujours celui qui a tiré le premier sur Greedo, dans la cantina. Quant au sabre laser et autres défauts d'effets spéciaux, cela ne me dérange pas du tout car j'y suis habitué. Vous l'avez compris, je ne souhaite pas voir en DVD l'édition spéciale, mais la bonne vieille version originale. Je pense que les plus vieux veulent toute la version originale, puis les plus récents, ceux qui l'ont découvert en 97, veulent les versions spéciales. J'ai vraiment pas envie de voir Jabba jaune et brillant. Ça fait marcher dessus par Han Solo. Jabba est le leader de la pègre sur Tatooine. Il est gros et gluant, ce qui l'empêche de se déplacer. De plus, j'imagine assez mal ne pas tuer Han Solo pour l'avoir piétiné. C'est vrai, pareil. Il se fait piler sur la queue, puis... Ah, mon bon Han Solo, non, mais... Il l'aurait tiré, surtout qu'il était accompagné de plein de mercenaires.
Boba Fett, il a arrangé le problème.
Ah, c'était Benji, son vrai nom. Maintenant, Lucille, Jedi Iris. Personnellement, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Le seul intérêt pour moi d'acheter le DVD, c'est que, un, il y aurait sûrement un meilleur son, mieux balancé que sur mes cassettes, qui sont pourtant pas si vieilles, mais bon. Et deuxièmement, le principal, je pourrais enfin voir les films en version originale anglaise. Pauvre vous, ceux qui l'ont
vu, ouais, la
version originale anglaise.
Vous êtes pris avec Chico.
Et Chico met la gomme. Ensuite. mais je rejoins quand même assez l'avis de Fait de la Pouette, à savoir que je suis également persuadé qu'il y aura une sorte d'édition ultime après la sortie de l'épisode 3. Alors, est-ce que ça vaut la peine de s'acheter le coffret de l'édition spéciale en DVD? Ça va pas être donné quand même. Si c'est pour refaire un tel investissement dans 2-3 ans.
Non plus le coffret, ça va pas être quelque chose de 80. Hein.
Ça
va
c'est
être...
ça, mais s'ils font 80 par film.
Non, je.
Hein? Non, on parle de la version ultime. Là.
Ah, ok, bon.
Parce que moi, pour moi, une version ultime, ça va être 6 coffrets. Ultimate Edition.
Non, ouais, ou un gros box set.
Ouais, mais c'est parce que, d'après moi, ils ne sortiront pas en un gros box set parce que les gens ne l'achèteront pas. Ça va être trop cher.
Non,
ça va être
250.
Si tu sors à 80 chaque, peut-être, comme Lord of the Rings. Il faut que tu étendes un peu le marché.
Non, c'est ça.
T'as toujours.
Tenter le marché avant.
Ouais, c'est ça.
Le premier, c'est pas bien qu'on sort des sautes.
Exactement. Bon, Dalsk, maintenant. Je ne compte plus les années depuis qu'on attend les fameux DVD, et voilà enfin. La plupart d'entre nous doivent être très excités, bien que la machine à sous à Lucas frappe encore. Je prévois bien un coffret en 2007 pour les 30 ans, et un coffret de 6 DVD avec les films uniquement. Et à peu près une autre version Supra Collector avec la fameuse édition spéciale avec 12 DVD, etc. Malheureusement, on va se faire prendre, pas tous, mais moi j'en ferai partie. Moi aussi.
Si, ouais, c'est ça, nous autres aussi.
T'sais, peu importe les fans, peu importe leur budget, peu importe, ils vont. T'sais, Lucas pourrait mettre la pire cochonnerie sur le marché, les fans vont l'acheter.
Ouais, c'est sûr. On est des poissons.
Ouais. Des gros poissons. Ce que j'attends de cette édition, une édition pure Lucas, juste pour l'argent. Bonus moyen, peut-être même pas d'une qualité d'image type épisode 1 et 2. J'ai tellement confiance en Lucas depuis. J'ai tellement perdu confiance en Lucas depuis l'épisode 1. Le genre de bonus que je recherche, des images inédites des premiers tournages, un making of jamais vu. Il ne datant pas aujourd'hui. Les fameuses scènes coupées dont on nous parle tellement. Moi, j'espère qu'ils prendront pas les vieux making-of qui vont les mettre sur DVD. J'espère que ce sera pas ça.
Non, j'espère moi non plus. Je me souviens, moi, j'avais vu une émission quand Return of the Jedi avait sorti, ça s'appelait Creatures of Star Wars. Mm-hmm. Puis ils montraient comment qu'elle a fait Jabba, puis tout ça. Ça serait intéressant. Mais c'est sûr que les documentaires, d'après moi, ce ne sera pas des documentaires qui vont dater de des années 80. Ça va être
récent. Ils vont refaire un montage. Ouais. Ça va être les mêmes images, probablement.
Ouais, c'est ça.
Il continue. Et j'attends les deux versions, ancienne et nouvelle trilogie, bien que Lucas ne le fera pas pour nous réserver la surprise dans quelques années. Et Pépère George nous sort un nouveau coffret. Je tiens à ce qu'il mette son édition finale avec de nouvelles images, certains effets spéciaux, revus et le reste. Il aura intérêt à ouvrir son porte-monnaie pour payer ILM car il finira par exploser. Lui veut que les versions... qu'on va recevoir vont être extrêmement chargés de nouvelles choses.
Ouais, c'est ça.
Et de nouvelles images que ILM en aille pour son argent, qu'il ne soit pas payé pour rien. En gros, je pense que le coffret est une grosse arnaque juste pour les poches de Lucas. Mais je dis quand même, pour conclure, vivement ce coffret. J'en ai marre des VIX, ça prend de la place sur un disque dur. Voilà.
Ouais. Il est contre, mais il va le faire pareil.
Ben, c'est ça. Ben, comme moi, je l'achète principalement pour les films en DVD. Mm. Maintenant, Psychose, il revient. Bon, ça, c'est...
le début du débat.
C'est ça, j'essaie de voir... on va sauter là-dessus. On va aller à Dark Vador. Moi, ce que j'aimerais, c'est la nouvelle version, la nouvelle édition 1997, avec des images de très bonne qualité, pas de la Kaamelott. J'aimerais beaucoup de bonus. Les scènes à refaire pour lui, dans A New Hope. Vador, quand il entre dans le Tantive 4, au tout début, c'est trop moche, et on se sent vraiment pas. Et on ne sent vraiment pas les 2 mètres de celui-ci, car il fait quasiment la même taille que les Stormtroopers, qui sont pourtant de 1m83. Bon, il veut un Darth Vader plus grand.
Ça, c'est joué dans le détail, là.
C'est un petit peu trop difficile à reproduire.
Ouais, c'est ça. C'est...
les droïdes dans le désert, c'est trop moche. Ben là. Grido qui tire avant, ça, bien entendu. Jabba, évidemment, oui. Le faucon qui s'approche de l'étoile noire, quand on le voit de l'arrière sur le côté. J'imagine que ça fait trop...
je cherche, là, puis je vois pas.
Probablement quand on le voit approcher, là.
Ouais, voilà. Peut-être.
Le sable laser en plein de points d'exclamation. S'il le corrige pas, je le tue. quelques scènes mal faites pendant l'attaque de l'étoile noire. Dans Empire Strikes Back, je trouve que c'est bien fait, l'étoile noire.
Ouais, c'est ça. Moi, je vois pas vraiment de problème.
Empire Strikes Back. Le sable de Luke doit se refermer en même temps que le son. Pour le moment, ça se ferme avec
non,
le son.
Non, c'est sûr. J'essaie de voir où.
Mais il faut qu'ils se disent que la vitesse de la lumière est plus vite que le son.
Et voilà.
Donc, le sable se ferme plus vite que le temps que le son se rend à l'auditeur. Tada!
Ça, ce serait une explication Jean-Lucas. Là.
Ouais, c'est ça. Pablo, il va dire, ah, ben c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Explication scientifique. Quelques petites scènes de hot, mais c'est pas catastrophique. Je veux Yoda en image de synthèse.
Ah, c'est
ça. Car je le trouve vraiment trop moche par rapport à l'épisode 2. Non, pas moi. Moi, j'aime
bien. Faut pas qu'il touche.
Non. Le casque de Vador qui bouge sur Bespin alors qu'ils sont dans une pièce fermée. Là, Vador balance des trucs. Là où on voit Vador balancer des trucs avant que la vitre explose.
Moi, j'ai pas remarqué, mais moi j'ai remarqué quand ils sont dans le couloir, quand Darth Vader dit « Je suis ton père », tu vois à cause du vent, son casque il bouge.
Ok.
Mais
ça peut être c'est normal. Si ouais, vent, son casque, il est pas fait en fibre de carbone, ouais, super rigide. Là,
c'est pas soudé après la tête.
C'est ça. Return of the... puis pour les trucs, j'avais pas remarqué qu'il y avait des objets qui revolaient dans la fenêtre puis qui s'explosaient avant que...
Non?
La fenêtre explosait avant que l'objet frappe la fenêtre. J'ai jamais
remarqué ça, moi non plus.
Toi, c'est trop pointilleux. Moi, je regarde pas ces détails-là.
Ben, moi, je pense peut-être qu'il veut dire la scène où Darth Vader lance des objets sur Luke.
Ok, que ce soit plus réaliste.
Ouais, okay. Je sais pas.
Return of the Jedi, le Rancor, bien sûr. Luke et compagnie sur la petite barge quand ils sont en trajet sur le pit du Sarlacc. Il est vraiment trop atroce de niveau visuel. Que c'est un peu comme le Rancor, tu vois que c'est superposé un peu, on dirait.
Ouais. C'est et pourtant, ils l'ont travaillé un peu dans Special Edition.
Yoda de nouveau, pas moi.
No.
L'Empereur, pas terrible, terrible. The Return of the Jedi, il est quand pourtant... même pas si mal, à part peut-être les yeux, là, tu vois, les en dessous des yeux, c'est vraiment rouge forcé, ils ont comme, tu vois que c'est forcé.
Les yeux saignants.
Et voilà, mais surtout un coffret pas trop cher. Bon, ça va être 60, entre 60 et 80.
Ouais, 60.
Comme Indiana Jones.
C'est
ça. Star Wars fan maintenant. En ce qui me concerne, qu'il retouche les scènes qui sont actuellement dans les films. Ok, ça je suis d'accord. Il y en a beaucoup comme énuméré plus haut. J'espère qu'ils n'iront pas rajouter de nouvelles scènes juste pour que ça connecte mieux avec la prélogie. Je suis pas d'accord avec ça. C'est ça. Il veut pas qu'on rajoute des scènes juste pour faire des liens avec la prélogie.
Ouais. Comme la rumeur de l'hologramme de Léa. De Padmé que Léa aurait regardé. Il y avait eu ça, je pense, l'année dernière. Ça avait sorti, c'était comme... Ouf.
Ben, un lien comme voir Coruscant dans l'édition spéciale, ça, je trouve que c'est un bon lien.
Ouais.
Tu sais, ça montre l'existence de Coruscant. Puis, avoir trois films sans Coruscant, quand les trois premiers films, tu vois Coruscant pratiquement tout le temps. C'est bon d'avoir un cliché pour montrer, bon, OK, Coruscant existe, là.
Ouais. Ils ont aussi bien rajouté Naboo aussi. Ouais. Vu qu'on va voir Naboo dans les trois films. À moins qu'elle se fasse détruire. Là.
Ouais, c'est
mais,
ça. Je pense pas.
Non, moi non plus.
Pour ce qui est d'attendre 3 ans, non, je suis pas capable d'attendre encore 3 ans pour l'Ultimate Edition. Mais quand même, mais quand elle va sortir, c'est pas sûr que je vais l'acheter, car pour moi, ce qui est le plus important, c'est les films, et non ce qu'il reste 150 bonus de plus. Ça, personnellement, je m'en fous. Car si je veux les voir, ces bonus, eh bien, je les louerai au club vidéo et je l'ai vu, c'est tout. J'ai une question. Bon, ça, c'est une question pour vous. Non, c'est, on change. C'est débat.
Nous, débat.
OK. Alcatel, maintenant. Je ferai remarquer que le DVD propose deux motifs d'achat complètement différents. Un, premier motif d'achat, la qualité unilatérale, le support numérique oblige, du son et de l'image, donc c'est un bon point pour l'acheter.
Mm.
Deuxième point qui porte à acheter ça, les bonus offerts en quantité et en qualité. Rien que le premier me fera acheter un coffret 2004. Et les bonus, j'en espère bien sûr le plus possible. Mais surtout de la qualité des commentaires. Des commentaires, des documents intéressants sur la motivation de George Lucas à réaliser ses films. Leur analyse est passionnante. Quoi qu'il en soit, je doute que Lucas écoute les fans. Il déteste que quiconque prétende le contrôler et l'influencer ses choix, qu'il s'agisse des studios ou de son public. Il voudrait être reconnu pour ce qu'il a fait en toute liberté. Il refuse même d'être l'otage de fans qui prétendent mieux savoir que lui comment il faut réaliser un film. Bon, c'est vrai que c'était lui qui fait ce qu'il veut avec. Là.
C'est vrai qu'il y en a des fans qui sont là. Ah, oh, moi, je fais ci, ça, ça. C'est pas comment ils sont là. George, c'est pas comment faire un film.
C'est ça. Someone. Une chose. Il ne faut absolument pas que Lucas fasse retoucher Yoda en CGI. La marionnette est super dans Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Contrairement à dans The Phantom Menace où elle est affreuse. J'adore toutes les scènes de Yoda dans la trilogie originale et je veux qu'elle reste ainsi. Ensuite, bon, j'attends cette édition DVD depuis 3 ans, alors je ne pourrai pas attendre encore. Et je doute que Lucas en ressorte 20 coffrets. Les films seront sûrement retouchés, mais pour les bonus, je suis absolument sûr qu'il n'y en aura pas plus. Alors, pour l'image et le son, je ne m'en fais pas. J'ai vu qu'avec le coffret d'Indiana Jones, ça va être super. Pour les bonus, on ne sait jamais ce qu'on aura comme commentaire audio de Lucas, et c'est ce que j'attends. Ensuite, des interviews et peut-être des documentaires sur les effets spéciaux de l'époque, j'adorerais voir ça. Pour le film, édition spéciale me convient très bien, à part A New Hope, que je n'ai jamais vu en édition originale. Les deux autres films sont si peu modifiés que je n'ai même pas vu la différence. C'est vrai que. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu la version originale.
Non, c'est ça. C'est nous autres, on est trop vieux.
Exactement. OK, on continue sur la deuxième page. Raven. 5 points par Raven. Mes attentes ne sont pas très élevées au niveau contenu. Pour moi, l'important, c'est d'enfin avoir les films en DVD, bonne qualité d'image et de son. Je m'attends à ce que le coffret soit à la Indiana Jones, 4 DVD, 3 films plus extra, avec une couverture à la prélogie, malheureusement. Une couverture, j'imagine, de la boîte.
Ouais, comme la prélogie, le montage de photos, de mettre les dessins de.
Mm-hmm. Deuxièmement, comme extra, j'ai juste besoin de quelques documentaires sur la création de la saga et du phénomène Star Wars, sans plus. Pour moi, les extras, c'est pas si important. La plupart du temps, je ne les écoute qu'une fois. J'aimerais avoir aussi tous les trailers incluant au moins un teaser épisode 3. Je m'attends à voir l'édition spéciale, même si je questionne certains choix de Lucas. Han Solo Shoot First, c'est vraiment la version à avoir. Et il dit que Han Solo Shoot Second et la scène de Jabba dans A New Hope, c'est vraiment à contester. Là. J'aimerais qu'il y ait la version originale et l'édition spéciale, un peu comme Alien, mais je crois que c'est plutôt rêvé. Non, parce qu'il y a l'argent à faire deux fois.
Ouais, c'est ça.
Quatrièmement, les scènes à intégrer. Aucune. Je suis Je suis un des puristes de la trilogie originale, malgré que j'aimerais bien voir la surface de Alderaan. Mais ça me surprendrait qu'il le fasse, car je suppose que George va nous la présenter dans l'épisode 3. Et il voudrait garder un peu de surprise. Je ne veux pas vraiment de nouvelles scènes pour connecter les deux trilogies. Il devient vraiment difficile de mélanger deux technologies d'image avec plus de 20 ans de différence et que le résultat soit croyable.
Oui.
Scène à retirer, Jabba A New Hope. C'est vrai qu'à Alderaan, c'est certain qu'ils ne l'ajouteront pas dans le coffret de trilogie classique parce que ça va être exclusivité de
épisode
3. Donc. Cinquièmement, et pour finir, je suppose qu'il va y avoir une version ultime un jour, mais pas pour un moment. Peut-être lorsque le DVD sera désuet et qu'il y aura une nouvelle technologie, alors là, oui, sûrement. C'est vrai qu'il va peut-être attendre que il va y avoir des nouveaux DVD qui contiennent plus.
Ouais, les rayons bleus.
Fait qu'au lieu de sortir 9 DVD, ben ça va être un DVD. Peut-être un DVD que tu vas pouvoir voir 4 versions du film A New Hope dessus, plus des documentaires. Un Empire Back, un autre DVD qui contient les 3-4 versions du film. Mm. Plus, ça va tout faire, tu vas juste avoir à acheter
un DVD.
Un coffret de 3 ou de 6, un DVD pour chaque film qui contient tout ce qu'il y a.
Ouais.
Tu sais, qui va être équivalent de 18 DVD, mettons, mais que la technologie va permettre.
Ça s'en vient.
Ouais. Maintenant, Memes. Oh, Django Dooku, okay, il nous l'avait envoyé par email, donc c'est exactement les mêmes commentaires. Memes. Quelles sont vos attentes, premièrement? Alors, mes attentes sont doubles. J'ai bien évidemment des attentes en qualité sonore, en qualité d'image, comme tout le monde, étant donné que c'est un des principaux intérêts du transfert DVD. L'autre intérêt étant le choix de la langue. Je me réjouis enfin de pouvoir profiter de la version originale des films. Moi, qu'est-ce que je comprends pas, c'est qu'en France, ils sont pas capables de l'acheter, la version originale. En cassette, ça se vendait pas.
Je sais pas. Ça doit pas.
J'imagine que non. Surprenant.
Amazon.
Ouais. tant d'années avec cette version française, plus que limite, ça va en faire un sacré changement. Je vais enfin entendre parler des guerres cloniques et pas des guerres noires. La frustration n'aura pas disparu, mais sera diminuée. À ce point de vue, pour moi, j'écouterai uniquement la version originale. Refaire la VF n'est pas indispensable. Ensuite, en tant que collectionneur de DVD, j'espère un beau packaging, un bel emballage, un coffret qui ait de l'allure. J'espère également que les DVD des épisodes 1 et 2 et le futur DVD de l'épisode 3 pourront être adaptés à ce futur packaging pour ne pas faire tâche. D'après moi, c'est le contraire. Ils vont adapter ceux de la trilogie classique avec ceux de l'épisode 1, 2, 3. C'est la Ultimate Edition qui vont un tout nouveau packaging. Malgré, si on compare les images qu'on a vues
cette semaine.
Je me souviens pas c'est quoi le site original, la compagnie qui fait les... c'est Nero quelque chose. Ouais. Nero quelque chose. Si c'est eux autres qui sont acceptés, ça va faire weird. C'est d'avoir la trilogie d'une certaine façon, la trilogie puis la trilogie de l'autre façon. À moins qu'ils refassent la prélogie par la suite, un coffret prélogie qui referait les boîtiers. En tout cas, enfin.
Comme tout le monde, moi j'aimerais ça ça prendrait les affiches originales.
Ouais.
Un jour.
Quels extras voulez-vous? Memes nous répond. Je désirais un commentaire de Lucas, des acteurs et quelques-uns d'ILM à l'époque, des scènes coupées de documentaires d'époque, des documentaires actuels, un regard sur l'impact de Star Wars 25 ans plus tard, ça c'est vrai, un bon documentaire sur les fans. Dans le Lucasfilm Magazine numéro 45, Mark Marshall, en parlant des DVD d'Indie, dit que ce que j'aime des DVD, c'est que nous pouvons enfin faire découvrir au public les documentaires que nous avons filmés à l'époque, grâce à George qui m'a appris ça sur le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue. Nous avons toujours filmé des documentaires pendant le tournage. Je veux qu'on nous le prouve. C'est ça que Memes dit. Je veux qu'on nous le prouve. Comme Lucas est un précurseur à ce niveau, je ne peux imaginer qu'il n'y ait pas énormément de documentaires d'époque. C'est certain qu'il doit en avoir pas quand même.
Ouais.
Il y en a quand même beaucoup qui ont sorti sur cassette vidéo, là, en version originale anglaise. Je ne sais pas si en France ou en Belgique c'était disponible.
Oui, c'est ça.
Mais il y a quand même eu au moins 5-6 documentaires sur la trilogie originale déjà en anglais. Moi, je regarde souvent les bonus des DVD que j'achète et je choisis souvent les versions en fonction des bonus. Mais bon, je ne suis pas un cas isolé, mais je ne suis pas Je ne suis pas le cas le plus courant non plus. Je choisis pour le tout et je regarde souvent le tout avec un réel plaisir. Des documentaires de comparaison entre deux versions du film sur la réalisation et sur la réalisation des éditions spéciales. Troisième question, c'était quelle version du film serait votre préférence? Ma préférence est la version originale avec ses qualités et ses défauts. Quelques ajouts ne me gênent pas, mais comme il y a proposé, et comme pour E.T. et Aliens, les deux versions, ce serait encore un plus, une véritable comparaison des évolutions cinématographiques. C'est vrai que avoir les deux versions, ça serait idéal. Puis ça nuirait pas. Je pense que le monde aimerait ça. Puis s'il veut faire une Ultimate, ben, il remodifiera ceux-là.
Ouais, c'est ça.
Quatrième question. Quelle scène pourrait être intégrée et retirée de la version DVD? L'idéal serait de ne toucher à rien par rapport aux versions originales et de faire quelques changements sur un DVD où on trouverait le film remanié. Comme ça, puristes, les esprits critiques s'y retrouveraient tous. Mais c'est avec assez d'utopie, je le conçois. C'est vrai que, bon, les puristes vont vouloir la version originale, puis il y a quelques trucs à retoucher. Donc, je désirais simplement un retour à la scène originale pour Solo et Greedo, et à une disparition de la scène Solo Jabba. Les autres scènes inédites se trouvent en bonus, ailleurs que dans le film. C'est vrai. C'est vrai que le pire que fait, c'est Jabba en Solo, puis Greedo en Solo.
Surtout Greedo en Solo.
Enlève ces deux-là, là, puis le film, ouais. Édition spéciale est super. Pour la version ultime maintenant, une version ultime serait un vrai rêve, mais pour moi, il faudrait qu'elle contienne tout ce qui est décrit dans mes réponses autres questions. Car si on devait prendre en compte mes désirs, il faudrait plus que 4 DVD. Là également, le packaging devrait avoir un réel impact visuel et une réelle pièce de collection. Django, c'était les commentaires de Memes. Maintenant, Django Doku, on a lu par email. Padmé Amidala pour terminer. Ce n'est pas beaucoup de commentaires à formuler là-dessus. L'édition spéciale ne me dérange pas. Pour moi, plus les effets spéciaux sont bien, plus j'aime ça. J'aimerais bien voir les bloopers, si possible, comme pour ceux de la prélogie. Les sables sont à refaire aussi. Pour le reste, un bon son et une image améliorée, ça sera parfait. Pas besoin de plus.
Non. Correct,
ça. Il y a beaucoup de fans qui sont pas très exigeants. On veut avoir les films sur DVD, point.
Ben, je pense que c'est surtout ça qu'on attend. On n'arrête pas de dire DVD, DVD.
Exactement. Donc, on a fini tous les commentaires. Là. J'ai extrêmement soif, donc on va aller une pause. Ah ben merde, j'ai pas le temps d'une pause musicale. C'est le temps de ma critique de Ruins of Dantooine.
Chanceux.
Donc, le temps que je prenne quelques gorgées, on va faire une petite attention. Bon, pourquoi faire la critique de Ruins of Dantooine? Ben, c'est parce qu'après, on passe l'entrevue avec Veronica Whitney Robinson. Donc, je vais vous lire ma critique que j'ai écrite sur cette clan.net. Vous pouvez la trouver le 25 janvier 2004 dans les archives sur cette clan. Bon, ma critique. La première chose que je voudrais mentionner avant de dire ma critique, c'est que Ruins of Dantooine, c'est pas le premier livre qui est basé sur un jeu vidéo. Vous avez la série X-Wing de Michael A. Stackpole et Aaron Alston qui mettent en vedette Wedge Antilles, les Rogue et les Red Squadron, qui étaient basés sur la série de jeux X-Wing. Il y a aussi ce jeu-là, X-Wing aussi, incluait un petit, ceux qui ont la version originale en anglais, il y avait un petit, dans les instructions, tu avais un texte qui s'appelait The Farlander's Paper, qui a introduit le personnage de Kian Farlander. Ça, c'est un autre personnage qui est maintenant dans les... Ouais. Je pense qu'il est même dans NGO, dans le Human Flying Force. Il y a aussi, bien entendu, le jeu Dark Forces. Je veux dire, les livres illustrés Dark Forces qui ont été inspirés du jeu, ouais. Dark Forces et Jedi Knight. Qui ont introduit Cal Katarn. Il y en a qui vont dire Shadow of the Empire, Shadow of the Empire. Ça, c'est le contraire. Ça, je l'ai pas inclus parce que c'est un jeu vidéo qui est inspiré du livre et non un livre qui est inspiré d'un jeu vidéo.
Ça, c'est un autre coup de marketing.
Exactement. Bon, maintenant, ma critique. Star Wars Galaxies, The Ruins of Dantooine. Que penser du premier roman basé sur un jeu vidéo depuis la série de livres sur Dark Forces? N'étant plus un amateur de jeux vidéo, l'idée de faire un roman basé sur l'énorme succès du jeu Star Wars Galaxies and Empire Divided me laissait perplexe. Bien que j'ai un intérêt marqué pour ce jeu sans pour autant y jouer, faute de temps et de matériel, je me demandais comment l'auteur Veronica Whitney Robinson pourrait retransmettre l'ambiance du jeu. L'idée par contre était excellente car on nous promettait une interactivité entre le roman et le jeu par l'introduction d'éléments de l'histoire dans l'univers de Star Wars Galaxies. Il ne faudrait pas oublier la participation de Aidan Blackman, le réalisateur du jeu, qui a été le consultant de Whitney Robinson en ce qui a trait au jeu lui-même. Je vais baisser le volume un petit peu. Ok. The Ruins of Dantooine se déroule à la même époque que le jeu Star Wars Galaxies, c'est-à-dire dans l'ère classique de l'univers Star Wars, plus précisément 2 ans après la bataille de Yavin. Dans cette histoire, l'Alliance Rebelle et l'Empire sont à la recherche d'un holocron contenant des informations. Non, ferme pas ton volume. Ferme pas ton volume parce que ça ferme tout.
Ah, sorry.
Dans cette histoire, l'Alliance Rebelle et l'Empire sont à la recherche d'un holocron contenant des informations vitales pour la rébellion. Si l'holocron venait qu'à tomber dans les mains de l'Empire, plusieurs agents et sympathisants rebelles pourraient mourir. Suite à l'exécution de son collègue Dusk Miss Flyer, l'héroïne de l'histoire, joint un homme mystérieux nommé Finn Darktrin, qui prétend être un membre de l'Alliance Rebelle. Ce dernier l'amène rencontrer Luke Skywalker et Leia Organa sur Corellia, où, à partir de là, ils sont envoyés sur la planète Dantooine vers des ruines d'un vieux temple Jedi où l'holocron est supposément dissimulé. Bien que l'histoire est prévisible simplement par la lecture de l'endo du livre, j'ai beaucoup aimé ce roman à l'histoire simple et divertissante. L'ambiance de la trilogie classique est bien présente dans ce livre, et je ne l'avais pas ressenti depuis le roman Tatooine Ghost, le fantôme de Tatooine. Les joueurs de Galaxies se sentiront familiers avec les termes utilisés dans ce roman, des termes comme Crafting Station, Travel Terminal, Outpost, en parlant d'une jeune ville, les noms de villes, de planètes, les professions, les lieux d'intérêt, comme la retraite de l'Empereur, la cache rebelle sur Corellia, la forteresse de Nîmes sur Locke, sont les mêmes que dans le jeu. Ceux qui ont l'habitude de jouer n'auront aucune difficulté à imaginer l'histoire avec le même rendu que le jeu. Mais vous n'avez pas à être un joueur du jeu pour apprécier et comprendre l'histoire. J'en suis le meilleur exemple. Je dirais même que le visuel du jeu n'affectera pas mon imagination tel que ça pourrait l'être pour ceux qui jouent régulièrement. J'imaginais que ceux qui sont tellement habitués à jouer à Star Wars Galaxies qu'ils vont commencer à lire ce roman-là, ils vont s'imaginer dans le jeu.
Ah, c'est ça.
Tandis que moi, qui n'ai pas joué, je me l'imagine d'une toute autre façon. Parce que c'est vraiment comme le jeu, là. Quand tu lis ça, il dit, bon, on part à jogger, parce que dans le temps, tu pouvais juste jogger.
Ah ouais.
Fait que tu vois, il dit, bon, ils disent qu'ils sont en train de jogger, puis fait que tu vois dans le jeu en train de courir. Là. C'est vraiment... Bon. Évidemment, pour bien consolider l'histoire, on y a inséré des caméos de personnages principaux des films. Nos héros rencontreront entre autres Darth Vader, Luke Skywalker, Leia Organa, Lando Calrissian, Wedge Antilles, C-3PO, R2-D2, Nîmes, Han Solo et Chewbacca. Un plus pour le commun des lecteurs et un gros avantage commercial pour attirer ceux qui ne sont pas adeptes de l'univers étendu. C'est vrai que si tu as des caméos de personnages connus, ça va attirer des nouveaux lecteurs. Il est évident que Whitney Robinson a basé son héroïne Dusk Mistflyer sur elle-même, puisqu'elle a aussi été biologiste marin avant de se lancer dans la littérature. Arrête de penser à George. George Costanza, qu'on parle.
Oui, c'est ça.
ceci transparaît dans l'histoire par de nombreuses rencontres avec différentes créatures sauvages présentes dans le jeu Star Wars Galaxies. N'étant pas un joueur du jeu, j'ai reconnu plusieurs créatures par le guide The Wildlife of Star Wars, A Field Guide. C'est le guide qui a une couverture verte en peau de Dubac. Pour ceux que je lis dans mes bibliothèques, je te montrerai tantôt. L'impression de professionnalisme du personnage principal, indiquait aussi que Whitney Robinson avait déjà pratiqué ce métier. Je veux dire, toutes les techniques que le personnage a pour identifier des pour manipuler des bestioles, mm-hmm. ou analyser, c'est vraiment professionnel. Ça paraît qu'elle a déjà fait ça.
Ouais, elle s'y connaît ça.
C'est ça. Les côtés négatifs sont peu nombreux. La quantité de créatures rencontrées par nos héros est très impressionnante et peut-être même un peu trop. J'avais des flashbacks du roman Approaching Storm que j'avais plus ou moins aimé. C'est vrai que ce roman-là, d'ailleurs, qui n'a pas été traduit en français, qu'il ne sera jamais. Je crois que c'est un autre oubli, un peu comme High Jedi, a été oublié pendant plusieurs années. À 286 pages, j'ai trouvé que le roman est un peu court, surtout par le fait que les caractères imprimés sont légèrement plus gros qu'à l'habitude et que l'on peut facilement passer au travers du roman en une seule journée. Je dois avouer cependant que ces points négatifs sont probablement dus au temps alloué à Whitney Robinson pour l'écriture du roman. C'est-à-dire, c'est un mois en réalité. C'est six mois à partir du moment que le jeu est sorti, mais elle n'avait pas eu le contrat encore. Dans l'entrevue, elle disait qu'elle écrit le roman en un mois, ce qui est extrêmement rapide. Je comprends qu'elle a dû rusher un peu, là. Il est donc compréhensible que l'auteur ait utilisé un personnage principal basé sur elle-même et ses expériences de vie. Elle pourra au moins dire qu'elle a vécu son moment de gloire à l'intérieur de l'univers Star Wars. Parce que c'était elle qui était là.
Ouais, c'est ça.
Vraiment. Vous pouvez aussi vivre votre moment de gloire en jouant à Star Wars Galaxies. C'est publicité gratuite ici. Je terminerai en mentionnant que si ce roman a du succès, vous pouvez être garanti que la série de romans Star Wars Galaxies aura plus qu'un seul tome. Et d'après la fin du roman, on peut facilement prévoir une suite. Je le suggère à tous les amateurs de l'univers étendu. Donc, j'ai mis 8 sur 10 à ce roman, ce qui est surprenant parce qu'il y a beaucoup de critiques négatives.
Oui, effectivement.
C'est parce que les gens, il ne faut pas t'attendre à une grosse histoire. Là. C'est, tu t'assis et tu te divertis. C'est ça que beaucoup de gens, eux autres, s'attendent. C'est pas du Timothy Zahn, là, ça, c'est assuré. Mais pour un livre de Star Wars, c'est divertissant. Donc, moi, je mets ma note par rapport au divertissement que j'ai eu à lire.
C'est comme les Jedi Quest, à peu près.
C'est ça.
Ouais.
Alors voilà, c'était ma critique. Donc, immédiatement après la pause, on va aller à l'entrevue avec Veronica Whitney Robinson, qui a été préenregistrée à notre dernière émission en anglais. Ça dure 40 minutes et on revient immédiatement après avec la traduction en français de toutes les questions.
And this emptiness fills my heart. At SimpleNet, you will get, at a very reasonable cost, an advertising space for your company, a website built for you by our team of professionals, or quite simply, a space to put your personal site online. The online gamers are not forgotten. We can offer fixed prices of bandwidth, as well as solutions for turnkey pre-configured game servers. Join us at www.simple-net.ca. Legends Action Figures, the place for Star Wars figures and collectibles in Canada. Visit our website and compare our prices. We've got customers from all around the world and the best service around. Come meet the staff at our Montreal store or visit our website at www.legendsactionfigures.com. All prices in Canadian dollars.
Hi, this is Lisa Stevens, president of the Star Wars Official Fan Club, and you're listening to Star Wars on Direct.
And welcome back to Star Wars on Direct, the voice of Star Wars fandom. And we're back on the air with Veronica Whitney Robinson with us right now. How are you doing, Veronica?
I'm good. How are you tonight?
We're very fine over here up in Canada. Yeah. Cold. As on hot, I would guess. We're going to do a little introduction on you. Veronica's been writing multiple novels, including Spectre of the Black Rose, which was a Ravenloft novel, The Halls of Stormweather, Forgotten Realms, Sands of the Souls, Forgotten Realms as well, Kindred of the Hibbony Kingdom, which was a Vampire the Masquerade book, Gazadir 4, which was another Ravenloft novel, Crimson Gold, which was a Forgotten Realms novel, and more recently the Star Wars Galaxies novel, The Ruins of Dantooine. Star Wars Hungry welcomes the fastest fan of the Star Wars universe, Veronica Whitney Robinson.
Yeah, I like that title, too.
Well, you sure earned it, because how long did it take you to write the Ruins of Dantooine?
After the outline was approved, about a month and a half while I was working full-time at a day job.
Oh, that's while working, wow. So that's like 2 full-time jobs. Okay.
It felt like 3, but yeah, definitely.
Yeah. Okay, we're going to go to a few questions now.
Sure.
We'd like you to tell us a little bit about yourself, your career, your hobbies, and how you became a writer.
Well, up until a couple of months ago, my primary occupation was a marine biologist with the Seattle Aquarium here in Washington State in the U.S., and I just semi-retired from that because the writing has become pretty much a full-time job at this point.
Okay.
But for 9 years, I spent quite a bit of time underwater blowing bubbles. A lot of people always comment that I've got a very pasty complexion. I said, well, you know, I live in Seattle and work underwater, so there's not much I can do about it. And then I started writing. The first novel was Specter of the Black Rose, the first thing I had published, and that was back in March of 99. And that's what started me down this dark and twisted road of writing.
And do you still like it? You is it your main career now, writing? Yes.
It is now, yeah, because it's like the have enough work lined up that I really was doing two full time jobs there at the end, and I had to make a choice.
Okay.
That I was going to pick one and try to do it well, as opposed to trying to juggle two of them.
Okay, so now your hobby is marine biology.
Exactly, it's quite a bit of fun. I was just doing some work with some colleagues of mine, and we have a lot of ongoing research projects that I am still assisting in, because I'd like to see them finished.
Okay.
Well, that's great.
That's on the back burner. So.
Okay.
More time staring at computer screens.
Yeah, that too.
And pulling out my hair going, what do I do next?
So, can you tell us how you got chosen to write this particular Star Wars novel, Ruins of Dantooine?
Well, the opportunity came up this past summer. A colleague, a fellow writer, and I were approached to work on the project because they knew that we worked pretty well together and could work fairly quickly if we had to. Unfortunately, because of his work schedule, he wasn't able to accept the offer, and I was crazy enough to say, sure, I'll do it for you. And that began the process. I'd say this one was definitely out of all the work I've had published so far has been work in what's known as the shared world writing, mm-hmm. which means that you don't own the creation.
Yeah.
You're working with a universe or galaxies that have already been established, so there's always a lot of rules and histories to brush up on.
A lot of research to do, I think.
Yeah, I mean, I've loved Star Wars since the first movie, so I
know
a bit about it. I wasn't totally going in blind, but this one was interesting in working with the publisher and the fact that we were coordinating mm-hmm. with LucasArts.
Okay.
So there was, at times, for a very brief period, a lot of outside input, and after that they said, just run with it. The clock was definitely ticking.
Okay. Well, as we've seen in your book, which you dedicated to your mother, have you seen this movie called Star Wars? I think you're going to like it.
Yep, she was the one. I was visiting some relatives for a summer holiday, and she called me up to tell me about it. She's not a science fiction fan at all, but she knew, even when I was really young, how much I enjoyed it.
Mm-hmm. Well, apparently it led you in a good way.
I think so. I think she would agree it has now, too. And unfortunately, I forced her to see that movie at least 5 or 6, maybe even 7.
Did you actually have a chance to read some of the other Star Wars books from the extended universe?
In fact, the first one outside of the adaptations of the original movies, the episodes 4, 5, and 6,
mm-hmm.
was, of course, Splinter of the Mind's Eye, which, when it came out, I just grabbed it immediately. I was so excited that there were continuing adventures of all of that. And so I have read some of the Expanded Universe books as well.
And do you have read some recent Expanded Universe books?
I'd say the last one that Troy Denning did I picked up, and a couple others. Unfortunately, I've noticed as my writing work increases, my fun reading time decreases. That's really kind of a shame.
Yeah.
Sadly, the ways of life.
And up until a couple of months ago, everything I was reading was the Star Wars Guide to something.
Yeah.
Pickles, planets, droids.
In order to get up to date.
Yeah. For that, you know, when you put in those touches that are the details that make a story a little bit more grounded in that universe, that you're using the right terminology, the right things.
Mm-hmm.
And it's angry.
How much of a Star Wars fan were you
version
before?
Version of a droid. That doesn't exist, you know. Do that.
Well, you just invent new ones, that's all.
That's true. You have a little bit of leeway.
That's right.
But then you've got, you know, some of the game folks going with the Star Wars Galaxy game going, you can't do that. We can't do that in the game yet.
Yeah.
So there was definitely a bit of juggling.
Okay.
Must have been a ton and tons of hours of fun. to write that novel.
4 tons of hours to do it. But it was fun.
Well, how much of a Star Wars fan were you before writing the Star Wars novel? Would you say you're a bigger fan now that you actually done all the research and all the work and everything?
You know, I don't think it's changed, because I have to admit that to me is the first movie, but Episode 4, when that came out, The New Hope, I literally did go see it about 11 times, and I just was
blown out.
I'd grown up with reruns of Star Trek and things like that, you know, so the special effects were, for that time, that was phenomenal.
Mm-hmm.
The storyline, I thought, was great. I remember sitting, I was 12 when it came out, and when Luke gets pulled in the trash compactor, when he gets pulled under by the creature, and it took, you know, just a beat longer for him to come up than I thought he should have. It was interesting. I remember looking at my mother saying, they can't kill the hero in the middle of the movie, can they? No, and I liked, yeah, that movie was, it pretty much caught me. I mean, I stood in line for the second one. I stood in line for the third one, Return of the Jedi, when those came out. So
Now that you know George Lucas's style of making movies, do you believe he could have killed the hero in the middle of the movie?
Well, now I see no. And, you know, I have to admit, I admire him for doing the first three movies. To me, now those are, you know, quite a challenge. I actually just only recently saw the Attack of the Clones. Because, you know, the fans going into it, they know what's going to happen. So he has this challenge of still making the story exciting and interesting, even though we know
the
road, what's the fate that's going to befall all these characters.
Mm-hmm.
Okay. There's been many reviews for Runes of Antuin, and they're very divided. Some are positive, some are very negative. Are you the kind of author that read the reviews and try to get better after that, or?
You know, I think when I did the first book, Spectre, I followed reviews a lot more closely than I do now. I don't think anyone is going to write something that everyone is going to think is wonderful.
Mm-hmm.
And if that's what you're trying to do, it's going to be a really frustrating job. I try to look at the writing as what I'm doing is a story that, for the most part, aside from some editorial input here and there, is the story I want to tell. And I'm writing it first for me, and I hope I'm doing justice to the genre.
Mm-hmm.
But I'm not aiming it for specific people, because I think that's a fruitless task. You're not going to make everybody happy.
Yeah, that's it.
And you really shouldn't. I mean, it's some people, you know, I understand some people are not going to like it, and some people are going to love it. And that's just how it works out.
Yeah.
Which dilemma we can actually call the killing Chewbacca syndrome.
Okay.
What's the feeling of having written a chapter in the saga as big as the Star Wars saga?
I'm sorry, would you repeat that question?
Yeah.
How do you feel about writing a book in the a chapter of the saga, as a matter of fact, for Star Wars?
Yeah, you know, I was, that was one of the reasons why I accepted the job. It was, for me, very exciting to at least even in a small degree, because again, this is based off of a game, so there is some question as to, you know, well, it is part of the expanded universe, but is it, quote-unquote, real Star mm-hmm. Wars history, or a real story? That's up for debate, but I certainly liked getting to be a part of that.
Mm-hmm.
I said, for me, the first movie made such an impact, and it's so sort of nice to come full circle and, as a pseudo-adult, be a little bit more of a part of that than just an observer.
Yeah.
So for me, that was very exciting.
There you go. You've actually answered that question a little bit earlier. You only had a month to write Runes, from signing a contract to getting the final manuscript. Can you give us a chronology of the events and short deadlines surrounding that endeavor?
Well, let's see. Like I said, I think it was at the end of July that my colleague and I were approached about this, and there was some discussion for a while in terms of what was going to be the timeline, what outside inputs were going to be included in the book in terms of who did we have to work with, and what elements of a story that we wanted to write would be ours and what things we would have to include for someone else. And it was probably, I want to say now, at the end of August that I actually got the go-ahead to write it, and was given about 10 days to turn over an outline.
Oh.
So mid-September that went both to editors at Del Rey and then to Hayden over at Star Wars Galaxies and also over to LucasArts. So there were three different people that, or three different groups anyways, that looked at it, each one having different questions or wanting different elements included, and it came back to me to revise and go back out to all of them to see if they were all right with it. And it really was about, the beginning of October that I got the final clear go-ahead from everybody and pretty much needed to have things in by the end of October.
Oof, that is short.
That was still to leave us a little bit of time to do a possible second draft and make revisions as needed. Simply because they had to have it physically at the publisher by, I believe, the end of November to get those books in print so it could be out by the December 30th publication date.
Very fast indeed.
It was a race.
The professional.
I recall just getting the outline approved, and the book was already listed on Amazon with like the December 30th date. And I went,
yeah.
Oh, good to know when it's due.
No pressure.
That's it.
You just hear that clock in the background, kind of loudly.
The professional profile and physical description of your main character, Deuce Miss Flyer, is very much like yourself. Did you actually model her after yourself?
I did a little bit, especially with the deadline looming so close. It was the most comfortable to write about someone that I knew a little bit. And especially at that point, one of the things I had to take into consideration in writing the book is I was limited to the way the universe was set up in the game. And basically, other than the Empire, which is obviously an incredible threat, the only other things that the players of the game come across, and they come across on a regular basis, at that point, were fighting animals.
Mm-hmm.
So to make the main character somebody who knew something about animals or dealt with animals was also sort of a logical choice. Because like I said, at that point, that was the main thing. There were no player vehicles, so basically all the characters in the game, you're either running on foot or you hop a shuttle to go to another planet, but yeah. At that point, that's all you were doing was your character was running around.
Mm-hmm.
And so that, to me, like I said, that made the most sense to have that character involved with that profession.
Great.
Good. There were a lot of galaxies references, cameos, location and ambience in Runes of Dantooine, which was great for players. But for the benefit of the non-players, can you tell us some of them that we've missed?
Some of the things about the game?
Yeah, yeah. Some of the locations or...
Well, you know, actually, in the book I didn't cover, there's still several really neat places in the game to play. The planet of Dathomir is mm-hmm. extremely popular right now. It's got a lot of great threats and things for people to fight, the Night Sisters, mm-hmm. Rankers, things like that. It's a very popular place. Also, Endor, people can interact with the Ewoks, Yavin 4. There were several planets that I just either didn't have the time or it didn't sort of logically make sense to cover them all. I believe there's 10 planets in the game altogether that you can play on. And there was just no way to fit them all into the story and have the story make at least a certain amount of sense.
Yeah. There's a lot of planet hopping already.
Yes. And, some of that was also input just, again, from gaming department, things like that, to mm-hmm. give it the feel of the game.
Yeah.
That is what players do.
Mm-hmm.
You are, in fact, some of the quests that a player of Star Wars Galaxies might undertake would involve them going to 3, 4, possibly 5 different planets before it's all finished.
Mm-hmm.
So that is a big part of the game.
Which makes it fun.
Yeah.
It was refreshing to see the adventures of original and new characters in the classic era. But concerning the use of already established characters from the movies and other games, were there any restrictions at all?
Basically, they were just supposed to be cameos, and they were only supposed to be, secondary players, and that this really was to introduce the new characters. And in fact, at this point, Hayden and his team of developers are working on incorporating those characters into the game. So Dusk and Finn will become NPCs in the Star Wars Galaxy game.
That's great.
Yeah. And in fact, part of the mission that they were on will continue in the game. Again, that was done intentionally.
Yeah. That's good.
That was one of our later questions.
Mm-hmm.
the Star Wars Galaxy game actually came out in June. Did you have access to the game before that during the beta testing? And how much time did you spend in the game?
Well, about the same time my outline was being approved, I was given the game and an account to go in and use that as reference. So my game playing occurred at the same time that I was writing.
Okay.
and what I ended up having to do was involve some people who were already playing the game. I made a few friends and got them to help me out so I could get to some of the places I needed to for the book,
mm-hmm.
simply because my character in the game was a very much a newbie and was getting killed left and right. I couldn't walk 10 feet without something killing me, so
yeah.
I needed some help. And in fact, in the book at the back, there is a thank you, an acknowledgement to one of the players who was a very big help to me in doing some of my research.
Mm-hmm. Okay. Well, I'm pretty sure that if you ever need some help, if you ever decide to go back into the game, you can look for Wookie Mart, one of our friends here at Star Wars on Direct.
Our Star Wars Galaxy panelist.
That's right.
Okay.
Were there situations and events you encountered that inspired you during that research, the playing?
You know, I think because when I started the game, the game was more, again, to just help me ground the novel to make it feel more like a part of the game. I had the story fairly well plotted out, other than the fact that the game offered a lot of inspiration in terms of animal threats to throw into the novel and things like that.
The first scene of the novel in the not the gladiator arena. Was there something about this being in the game?
Yes, that was actually a player-sponsored event that had happened, and it was something Hayden was very pleased about using to include that in there. That there, and at that point, there were not many player-sponsored events yet. That's becoming, as I understand it, more popular within the game now for people to do these things.
Mm-hmm.
But at that time, that was kind of unique, and so we wanted to put that in so that the people who were playing the game realized that the developers were watching what they were doing and enjoying it.
Mm-hmm. So you kind of started a trend by putting that in your book.
Yeah.
As a reward for writing the book in such a short time, do you still have the account and do you still go play the game nowadays?
I do. I get to keep that, and I do pop on every now and then and play a little bit.
Oh.
Because yeah. Unfortunately, I think I've hooked my husband as well.
Oh.
Which now reduces your time on the computer.
It does. In fact, I tried to get him involved at the beginning to also help me. So if I was writing, I'd ask him to go to a certain place and tell me what some of the descriptions, what it looked like, things like that. And I'd find him going off doing something else because he'd just get involved. And I'd go, that's not helping me. And he goes, wait, let me just kill this one thing and I'll be there.
Please, honey, I want to destroy that AD-ST now.
Exactly. Just need to take out that layer, and I'll be right there.
That's it. Or as something happened to one of our friends, if your husband decided to be a Wookiee, at one point in particular, you could actually get stuck in an elevator. but I'm stuck.
I think he's regretting that now since he can't wear armor, but...
Yeah.
You referred to Hayden Blackman a couple of times already. What was exactly his implication in Runes?
Well, again, he was one of the three that was involved in the approval process, and he was pleased enough with the first idea that I had for the novel that he sort of ran with it as well, and you know, put in a couple of suggestions on elements to include in the book, and then that way he could then go and take what I was writing and then later on include it in the game. One of the things that our heroes are trying to retrieve will become, again, like I said, I mentioned before, part of the game. It'll become some of the quests that players can take.
Okay, players will be able to do the same mission that Dusk and Finn did?
Well, they'll be able to approach either one of them to sort of continue that mission.
Okay.
At least that's at the last I heard, that's what they were working on. I know Hayden on the Star Wars site put an introduction into the book, and he actually mentioned the fact that the developers are are working on including all of these things now. And this is what went into, was involved in our discussions at the very beginning of the planning process for the novel, is certain things that we could use that the few, you know, dangling threads at the end of the novel could then be incorporated into the game.
Yeah, okay.
And there were certain elements that he wanted to see included. For example, even at the player event that we included, at that point in the game, people could not mount animals yet when we were talking about it. But, you know, he let me know that this was coming. He let me know about the vehicles that were coming. He wanted to include the mount because that patch was supposed to hit right around Christmas time or a little bit before. So there were smaller things like that he said, you know, put this in here too because it will happen, or it you know, it's about to happen, or it just happened. But it was mostly minor suggestions along the way.
Yeah, great.
And he had a couple of favorites. I think Nim is one of his more favorite
It's a great
creations
scene.
In the game, and so that's why we had to have a quick trip to Loke.
Yeah.
So it's still pretty helpful.
Oh, very much so. I mean, he was available at any time for questions that I had, and especially considering my ability within the game at that point to maneuver around was pretty limited. He was always sending screenshots and different things to me as I needed them, so he was very available.
I could almost see it happen, you know, you calling him at 3 o'clock in the morning. Yeah, I'm stuck in this elevator. Can you come and get me out, please?
Or at least take a picture of what I'm trying to look at and send it to me.
Yeah,
that's it.
Yeah. He was a big help.
Okay.
Very nice man.
The way that the story ended invites the possibility of a sequel. Can we expect Del Rey to do a follow-up book or even a Star Wars Galaxy series?
You know, to be very honest, I think it's going to depend on sales and how well it's received. I think that Del Rey is thinking about it, as is LucasArts. I don't know for sure how far down the road they are in planning the next stage. Like I said, I really do believe they're watching to see how this does.
Mm-hmm. Okay.
How it's received.
Because it's a great idea to have an interactivity between the book and the game.
I think they think so. I certainly do. I wouldn't mind doing another one, continuing the characters, or starting on another thread.
Mm-hmm. Okay.
There's a lot of possibilities within the game.
Yeah.
Actually, I'm going to ask a question to the producer. The X-Wing series, Michael A. Stackpole, how many books did he do?
Five or six? Yeah.
Six. Okay. Would it be something that would interest you to do five or six more books, you know, for the Star Wars Galaxy series?
Oh, I wouldn't mind at all. It was a mad dash, and it was crazy, and it was fun and exciting and all of those things, and I wouldn't mind continuing it, actually, at all.
But you probably would have more time.
I would certainly hope so. I'm a little concerned when I saw that Star Wars Insider with the title, The Fastest Pen in the Galaxy. I don't know if I want to be remembered that way. Right. I actually like normal deadlines, too. Because only one or two of the books I've had have actually had some sort of reasonable deadlines. The other ones have been, you know, geez, we're in a crunch, can you do it? And foolish me goes, sure.
Uh-huh.
Go ahead.
Yeah, really.
We got a question from a fan of yours, Danny here.
Oh.
Do you think that the synopsis on the back of the book was giving away the surprise and made the book a bit more predictable?
You know, to some it might have been... I didn't have a part in writing that, so I can't say, well, yeah, that's my doing, and I meant for this to happen or for that not to happen. You know, there's, I think in a lot of books, you do get a sense early on of what's going to happen.
Yeah.
I thought the only input I got from Del Rey on part of the plot was simply that they wanted to make sure that anyone who read the book didn't feel cheated at the end, and it didn't come as too much of a surprise.
Okay.
So they may have put that in just to also make sure that some people might have seen what was coming.
But I gave a good review anyway, so.
They mentioned on the Star Wars official website that there will be a crossover from the book to the game. I suppose that Dusky Misflyer and Finn Darktrin, will be appearing in the game.
That is the idea, that they'll become sort of static NPCs like Leia and Mara Jade and Han Solo and the others that are in the game. So something that players can interact with in terms of getting missions or quests or things from them.
Mm-hmm. Anything else you think that the players could expect that you could tell us?
Well, you know, I think, because I do check the boards every once in a while, I think the players are pretty up-to-date as far as knowing what's down the road as much as I do. Mm-hmm. I think everybody's looking forward to the space expansion, yeah, which is supposed to come this summer, mm-hmm, in the game, which will allow players to have their own ships, which will cut down. I think the one thing that I noticed with the bit I do play is that everybody complains when they're waiting at the starport. They're waiting for the bus, and I know a lot of people are looking forward to being able to fly themselves.
Yeah.
Okay. Did writing in runes change you in any way? Because when we take a look at your bibliography, you were more of a fantasy writer. Did going into sci-fi made you realize new things?
Well, to be honest, that was always the genre as a child that I enjoyed reading or watching more than anything else. So, for me, it definitely was different to actually be a part of it for a change on the inside.
It maybe changed your discipline in coming out with a strip so fast?
That even surprised me, yeah, that I could do that. Okay. In the end, when you think about it, you turn over a whole book in about a month. I think it made me, part of it was instrumental in me changing the direction that my career is taking, and I'm definitely expanding my horizons as in terms of different genres that I probably be writing in after this point.
Okay, so it still was kind of a milestone for your career.
Yes, it was, actually.
There you go. If you would have another chance to work on the Star Wars universe, something else than Star Wars Galaxies, what stories would you like to tell?
If I stayed within the Star Wars The Galaxy game?
Yeah, well, no, Star Wars universe itself.
Well, I guess if I could, again, for me, always the characters that have been the most interesting to me have been, you know, the Luke, Leia, Han, and those characters.
Mm-hmm.
To be able to write a story that involved them more fully than the little bit I was able to squeak in here and there in the ruins would, for me, pretty much be a dream come true.
Yeah.
Well, we'll forward the message to Del Rey. Any comments on the prequel movies up to now, and what's your expectations for Episode 3?
You know, out of all of them, Episode 3 is the one I'm really looking forward to. Like I mentioned earlier, I'm really impressed with George Lucas, because I still hold to my opinion that to do these movies is definitely the most challenging, because we know what's going to happen. We don't know all the fine details, but we know the path Anakin's going to choose. We know Obi-Wan's eventual fate. And for him to be able to put these movies out and still make them exciting to us, I think is very impressive.
Yeah.
Because we do know what's going to happen.
Yeah.
But I think I am looking for that sort of climactic battle between Obi-Wan and Darth Vader. That's what I'm looking forward to.
Okay.
Okay. We actually received some questions from a fan.
Okay.
I'm just going to have the producer take a quick look at it.
This one we asked.
She talked about that. That one, okay. If you ever got the question is from Christopher Walker, and he'd like to know, if you got a chance, would you develop your Imperial Inquisitor character further on in other stories? He's always been intrigued.
Oh, definitely.
Yeah?
I had a lot of fun with a little bit that I did write about him. And to be very honest, I'm very intrigued with the Imperial side of the universe,
mm-hmm,
and would like to do more with him. I definitely had some ideas of things I would like to do further with him down the road. Again, that all depends on if that opportunity arises, but I definitely would.
Okay. I'll also take the opportunity to extend an invitation from him. if you ever go back to to some servers, try to go on Starsider server and meet Jans Walker, and he's inviting you for a little hunting game party.
Well, that's very nice of him.
There you go.
As long as I'm not the prey.
Yeah.
I think he was meeting dewbacks and stuff like that. Okay. Today our main subject on the show is women in Star Wars fandom. And sadly, you're a woman. So you kind of fall into the show's topic. So you're going to have to answer some more questions.
Okay.
How would you explain the growing popularity of female character in the Star Wars universe?
How would I explain it? Well, to be honest, again, going back to when I first got into this, and I've been a gamer, comic book reader since I was very young, and as a female, that's always been been the odd person out because of it. That's one of the things that, and maybe the only thing that really bothered me about the first couple of movies in Star Wars, if you notice that there are no female characters. There's Leia, there's Aunt Beru, and the general in the Return of the Jedi, mm-hmm. but there's really no other strong female mm-hmm. characters, even some secondary players.
Oh yeah, because Luke is so masculine.
but if you do notice, it is lacking in there,
yeah.
And it may just be that over time, that issue is being addressed because we're out here too. I sort of wonder if part of that is because, like I mentioned, a lot of these genres, they seem to appeal to a majority of males more so than females, and even in the fantasy writing too, I notice it's a lot more rare in a fantasy line that you come across a character where the lead is a woman. I think Alien was one of the first movies that really put a female in science fiction in a commanding role with Ripley.
Yes.
Those movies were wonderful, and it was about time that a woman got to be seen as something more than just a damsel in distress or as fodder for a hockey mask, axe-wielding murderer, that we're out there, too. And, the expanded universe, I think it's changing, with characters like Mara Jade, introducing those into their Han's children, his daughter, things like that, realize that we girls are out here, too.
Okay. How does your husband react to your passion for Star Wars? For Star Wars, actually, is he a fan himself? You told us that you hooked him onto the Star Wars Galaxies game. How does he like watching the movies with you?
You know, that's still not something that really grabs him. And after he was about a month into the game, he looked at me and said, "Is Darth Vader a good guy or a bad guy?" And I almost hit him on the head with it. He doesn't follow that one as much. He's always been more interested in science fiction and fantasy that involves time travel.
Okay.
That's been one of his biggest interests. I think this is growing on him. And now the fact the Star Wars music isn't playing incessantly, the movies aren't on the TV all the time, and the books aren't spread all over the house, he might actually sit down and watch some of those with me. But up until, like I said, a few months ago, it was all work, and he was avoiding it with a passion.
I see.
Yeah, I was a bit maniacal about it.
Well, I'm sure you can actually turn him a little bit onto that.
I think so. Like I said, now that it's not work, now that it's fun, I think he might be interested in a few of them again.
Okay.
And he did see them all originally when they were the older ones when they were in the theater a long time ago. Not nearly as many times as I did. That's probably a good thing.
A long time ago in a little town far, far away.
Exactly.
Well, we're going to ask you right now what you're doing, if you're working on a new book project, if you got something to promote that you'd like to get out there, people to go buy some books. I'm going to actually ask you a question first before you do that. Which book do you actually consider to be the first book someone should read from you?
Well, the books that I have out now, and you've actually listed most of my work. The things I'm doing for Forgotten Realms, several of those books were part of a series, and those are best to read in order, starting with Halls of Stormweather and then going to Sands of the Soul, and then somewhat of a conclusion in Crimson Gold, although that character's journeys are far from over. And I will have a new book coming out through Wizards of the Coast on the Forgotten Realms novel. It should be out next spring.
Which is titled?
Which is titled Queen of the Depths, which is actually set underwater. a nice mix of...
Inspired by your real life again, or...?
Well, it worked out well. It's one of the things that, and Crimson Gold is a part of it, one of the things that Wizards of the Coast is doing now is in the Forgotten Realms line, they have several series that are based on character classes. Crimson Gold is actually part of the Rogues series, and one of the next series that's starting up is the Priest series, and they actually wanted to do one on a Priest of Umberly, one of the underwater goddesses of the Forgotten Realms, and actually they came to me for it because several of them know of my alter ego and my exploits underwater, so they thought that I might be a good choice in that. I'm very excited about that. In much of the way I liked doing ruins and dealing with the animals, I'm going to enjoy writing about a place that I do spend a lot of my time.
Yeah.
Underwater.
So basically, if we go back to a kind of book you'd like to write in the Star Wars Galaxies universe, actually, I'm probably sure at some point the characters would end up on Mon Calamari.
You know, probably a very good chance of that. In fact, I've got one of the folks I do play with every once in a while. He's a Mon Calamari, his character, and he's so desperate for them to include that planet into the game. I think that'd be a neat challenge, and I'm sort of thinking that's one of the places they haven't gone yet. Is they haven't explored a lot of the underwater aspects of some of the places. So I'm kind of hoping for that too.
Maybe after the space extension.
Could be. I mean, they have to go somewhere else, and if we go in outer space, that only leaves inner space left, and they're, you know, with some of the caves and dungeons, they're already covering underground a little bit.
Mm-hmm.
It'd be kind of nice if they explored some of the water.
Well, there you go. Well, now we're done. We actually sent you, Danny should have sent you a little promo line that we have all our guests who come on the show do. Right?
Mm-hmm.
Okay. We're going to have to ask you to do it now. And right after that, we'll be going to a really short musical break, which now will be Cyndi Lauper and Girls Just Want to Have Fun.
Yes.
Very appropriate.
And we'll be right back after that on Star Wars on Direct. So
stay on the phone
with us.
Okay.
Go ahead.
This is Veronica Whitney Robinson, the author of the Star Wars Galaxy novel, The Ruins of Dantooine, and you are listening to Star Wars on Direct.
Thank you very
Wonderful.
Much.
Wonderful. So, ladies and gentlemen, we'll be right back here on the show.
Et nous revoilà Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Comme il est quand même... déjà 30 minutes dépassé le temps limite de l'émission. On va faire ça vite. Alors, première question qu'on a posée.
Première question. C'est ça?
Oui.
Okay. Alors, on lui a demandé si ça pouvait nous dire exactement d'où elle vient.
Okay.
Quel est son background, finalement.
Bon, elle travaille pour le zoo de c'est l'aquarium de Seattle dans l'état de Washington. Elle a travaillé là beaucoup d'années dans sa vie et puis elle a eu une opportunité à un moment donné d'écrire un roman qu'elle a fait avec un confrère, mais maintenant le travail est de plus en plus elle a reçu d'autres offres de romans, etc. Donc elle a transigé plus sa carrière vers l'écriture. Puis maintenant, c'est plus son hobby, le
Marine biology.
Oui, en français, c'est biologiste marin.
C'est ça.
Exactement. Donc, c'était ça, plus. Elle a mentionné... continue. On va y aller à mesure.
OK. Ils ont demandé pourquoi qu'elle avait été choisie pour écrire ce roman. Je sais qu'elle avait dit qu'il y avait elle et la personne qui écrivait, qu'on n'a pas su c'est qui. Là.
C'est ça. Bon, elle a dit le nom, je me souviens pas. Puis, la deuxième personne ne pouvait pas, à cause son arrêt était trop chargé, ne pouvait pas faire le roman. Donc, elle, justement parce que le roman devait être écrit rapidement, puis elle puis l'autre gars étaient reconnus pour écrire rapidement.
Mm-hmm.
Mais là, le gars ne pouvant pas participer à ce livre, Veronica, elle a dit, « Oh, je vais le faire, moi. » Fait qu'elle le fait seule.
Oui, tout seul. Et lui, pas grand temps.
Ouais, c'est ça.
Ok, on lui a demandé ensuite si elle était fan de Star Wars.
Elle a dit oui.
Elle a dit oui, qu'elle avait vu...
Avec sa mère, quand elle était très jeune. Elle l'a vu 14 fois, je crois, au cinéma qu'elle a dit.
A New Hope.
Exactement. Donc, elle est quand même une grosse fan, déjà en partant, surtout de la trilogie classique. Là.
Oui. Ensuite, on lui a demandé si elle avait lu des livres de l'univers étendu. Elle a dit qu'elle avait lu Splinter of the Mind's Eye.
Yeah.
Puis qu'elle avait lu aussi dernièrement un livre de Troy Denning.
On suppose si c'est dernièrement que ça doit être...
Tatooine Ghost.
Tatooine Ghost.
Aussi, elle a dit qu'elle avait lu d'autres romans. Bon, c'est pas...
C'est ça.
Elle n'a pas dit lesquels. Ensuite, on lui a demandé... On lui a demandé si elle était vraiment un fan de Star Wars avant qu'elle écrit le roman. Puis...
Elle a dit que... C'est ça. Elle était déjà fan. Puis maintenant... Avoir écrit un livre, ça n'a pas changé vraiment de quelque chose, même si elle a plus de connaissances maintenant.
Elle a juste dit qu'elle jouait beaucoup à Star Wars Galaxy.
C'est ça.
Ensuite, on lui a dit que les critiques de Runes of Dantooine sont pas mal divisées. Il y en a qui sont très positives, d'autres très négatives. On lui a demandé si c'était le genre d'auteur qui lisait les critiques.
Les critiques. Au départ, quand elle a commencé à écrire... d'autres romans, là, ses premiers romans, elle regardait beaucoup les critiques. Mais maintenant, elle les regarde pratiquement plus. Elle se dit qu'elle ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Ça ne sert à rien de trop se prendre la tête parce qu'on on réussira jamais à plaire à tout le monde.
Exactement. Ensuite, on lui a demandé comment elle se sentait d'avoir écrit un chapitre dans la saga Star Wars.
Ben, elle a répondu c'est une des raisons pourquoi elle a accepté à faire le travail. Parce qu'elle aimait beaucoup Star Wars, puis même si c'est seulement basé sur un jeu et non nécessairement dans la continuité, elle dit que c'était juste avoir écrit dans l'univers Star Wars, c'était comme
un rêve. Ensuite, on lui a demandé combien de temps elle avait pour écrire Runes of Dantooine, de la signature du contrat jusqu'au moment où elle doit donner le produit final.
C'est ça.
Elle nous a dit que le livre, elle avait écrit dans 2 mois.
C'est ça. Elle a été signée, je me souviens pas exactement la chronologie, là, genre fin août. Elle a eu 10 jours pour écrire le synopsis, pour le soumettre. Après, elle a eu une révision. Après, elle a eu 1 mois pour vraiment écrire le roman. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'elle a répondu dans une autre question. Vas-y, continue.
Okay. On lui a dit ensuite que la description de son personnage, Dusky Mistfire, elle lui ressemble beaucoup. On lui a demandé si elle l'avait basé sur elle-même. Elle a dit oui.
En partie, oui.
En partie, oui. Justement parce qu'elle était biologiste.
C'est ça. Elle n'avait pas beaucoup de temps, elle avait juste 1 mois, donc écrire sur des choses qu'elle connaît, ça va plus vite. Donc, elle n'avait pas vraiment le choix, c'était comme... elle écrit sur quelqu'un qu'elle connaissait elle-même.
Ensuite, on lui a dit qu'il y avait beaucoup de références au jeu Star Wars Galaxy dans son livre, donc des caméos, des endroits, des ambiances. Ouais. On lui a demandé aussi s'il y avait quelque chose que les non-joueurs auraient manqué dans le livre.
Fait que là, elle a parlé des autres planètes qu'il y a dans le jeu. Planètes qui sont pas mentionnées dans le livre comme Datomir, Yavin 4, des trucs de genre. Elle parle des choses que ceux qui sont juste lecteurs, qui connaissent pas Star Wars Galaxy, ont pas pu voir dans le roman.
Ensuite, on lui a dit que c'était bien de voir les aventures d'un nouveau personnage dans l'ère classique. On lui a demandé s'il y avait des restrictions concernant les personnages de la trilogie classique qu'elle a utilisé dans son livre.
C'est ça. Elle a dit oui, il fallait seulement que ce soit des caméos. Elle ne pouvait pas aller plus loin que ça avec les personnages. C'était interdit dans le fond parce que c'était en pleine trilogie classique. Tu peux pas faire mourir Léa. Là.
Tu peux pas faire qu'est-ce que tu veux.
C'est ça. Donc, c'était juste en caméo que c'était accepté.
Ensuite, on lui a dit que le jeu Star Wars Galaxy est paru en juin dernier. On lui a demandé si elle avait eu accès au jeu durant la phase bêta et combien de temps elle a fait de recherche pendant combien de temps.
C'est ça. Le nombre de recherches, je me souviens pas, mais elle a eu le jeu juste quand il est sorti.
C'est ça.
Puis elle s'est fait aider par des gens là, parce qu'elle se faisait, c'est ça, parce qu'elle se faisait tuer tout le temps au départ, elle était pas bonne.
Ensuite, on lui a demandé quelles étaient les situations ou les événements qui l'ont inspiré durant sa recherche ou le temps qu'elle a joué au jeu.
Elle a parlé des environnements, beaucoup de jeux. Elle a aussi parlé que au début du livre, il y a comme une scène qui se passe dans une arène de gladiateurs avec des créatures. Puis ça, c'était un événement de joueur qui avait été organisé dans le jeu.
Ouais.
Fait qu'elle a repris cet événement-là, puis elle l'a inséré dans le livre, modifié, pour montrer vraiment que ceux qui ont fait cet événement-là, bon, pas pour les récompenser, mais vraiment pour montrer que c'était interactif avec ce qu'il y avait dans le jeu. Là.
Mm-hmm. On lui a demandé si elle prend encore le temps de jouer au jeu. Elle nous a dit oui, qu'elle joue encore avec son mari.
Un petit peu de temps en temps, son mari qui l'a aidé dans sa recherche. Sauf que des fois, quand elle avait besoin de certains détails, lui était en train de jouer, puis il dit attends quelques minutes, je veux finir de tuer cette créature-là avant de t'aider. Là. Fait qu'il est devenu un petit peu addict, un petit peu dépendant son mari au jeu aussi.
Puis qu'il n'était pas très fan de Star Wars auparavant.
C'est ça.
On lui a demandé si Aiden Blackman était impliqué dans Runes of Dantooine. Elle a dit que oui, mm-hmm. qu'il était impliqué pour les recherches.
C'est ça, des révisions, fallait absolument qu'elle mette des éléments qu'il y avait dans le jeu présentement. Comme elle ne pouvait pas utiliser les véhicules,
ouais,
parce que dans le jeu, il n'y avait pas de véhicules ni de monture. Fait que les gens se déplaçaient toujours à pied, les gens se déplaçaient seulement en shuttle, en navette. Parce qu'il n'y avait pas ça dans le jeu. Elle ne pouvait pas aller plus loin que ce qui était présent dans le jeu. Donc, c'était beaucoup de courses, beaucoup de planète en planète, en navette, etc., etc. Là.
Mmh. Ensuite, on lui dit, la façon que l'histoire se termine, ça l'ouvre une possibilité à une suite. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Delry fasse une suite ou un autre livre dans la série Star Wars Galaxy? Elle avait dit que tout dépendait
des ventes. Exactement, ça dépend des ventes. Elle est intéressée, vraiment. Elle a même pensé à une suite avec l'inquisiteur impérial qui est au début du roman, parce qu'il est intéressant, ce personnage-là, puis qu'elle aime beaucoup le côté impérial de Star Wars Galaxy.
OK, on lui dit ensuite le synopsis sur la couverture arrière du livre, c'est, elle donnait trop... Ça en disait trop, finalement, sur l'histoire.
Ça vendait le punch.
Ça vendait le punch, merci.
Exactement. Ça vendait le punch. Elle dit, en fait, c'est pas elle qui a écrit le texte en arrière du livre. Elle, la raison qu'elle l'a donnée, c'est que les gens de Lucas Books, ils veulent pas que ça soit toujours totalement une surprise. Ils veulent, des fois, donner des indices. Puis bon, il y en a qui vont l'avoir attrapé, l'indice, puis qui vont l'avoir deviné, puis d'autres que...
Ça va passer inaperçu. Okay. Ensuite, sur le site officiel de Star Wars, il était mentionné qu'il allait avoir je sais pas comment on dit ça en français, un crossover entre le livre et le jeu.
Un pont.
Ouais, merci.
Un lien,
c'est ça. On suppose que Dusk, Mystic Flyer et Finn Darktrin vont apparaître dans le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles les joueurs peuvent s'attendre?
C'est ça.
Elle a dit qu'il y aurait beaucoup de... avec Léa, Mara Jade,
c'est ça. Ben,
il y aurait des missions.
C'est ça, des missions. Les gens vont pouvoir continuer l'histoire du jeu en rencontrant, parce que Dusk, Miss Flower et Darktrin, ils vont devenir des personnages non-joueurs dans le jeu. Puis les joueurs vont pouvoir les rencontrer puis recevoir des missions pour continuer l'histoire qui avait été commencée dans le roman, c'est-à-dire trouver le locron, essayer de protéger des noms d'infiltrateurs rebelles des impériaux. Là. Probablement que ça va retourner autour de ça, encore de la recherche de Locron.
Ouais. Ensuite, on lui a demandé si le fait d'avoir écrit Runes of Dantooine l'avait changé. Il avait changé sa personnalité.
Elle dit pas vraiment.
Pas vraiment, non. Elle continue à être, elle a toujours été fan. Puis que
c'est ça.
Ça a pas changé.
Même la discipline. Je veux dire, moi, j'ai demandé, est-ce que ça a changé ta discipline, quelque chose? Elle a dit peut-être un peu. Parce que, je veux dire, écrire un livre en un mois, là...
Non, ça, il faut.
C'est ça, c'était pas discipliné.
Non, c'est ça. Ensuite, on lui a demandé si elle avait la chance d'écrire un autre livre dans l'univers Star Wars. Quelle histoire elle aimerait raconter? elle disait qu'elle aimerait beaucoup raconter une histoire sur Luke, Léa ou Han, puisque c'était ses personnages préférés.
Elle est une grande fan de la trilogie classique, donc si elle pouvait, elle se croisait les doigts, elle aimerait ça écrire dans cette époque-là.
Oui. Ensuite, on lui a demandé si elle avait, c'était quoi ses attentes pour l'épisode 3 ou si elle avait des commentaires sur la trilogie. Je sais qu'elle a dit qu'elle admirait beaucoup George Lucas pour qu'est-ce qu'il fait. Parce que, veut, veut pas, la trilogie, ça prend plus de temps, c'est plus de travail que la trilogie classique, parce qu'on sait déjà comment ça va finir.
Exactement.
Fait que c'est de mettre des éléments de surprise, même si on sait de la façon que le,
ça, finit,
ça se finit. Ouais. C'est ça. Ensuite, on lui a demandé si elle pouvait expliquer la popularité grandissante des femmes dans l'univers Star Wars. Elle a dit que c'est surtout avec la trilogie que ça a changé, puisque dans la trilogie classique, il y avait juste Léa comme personnage, puis il y avait Mon Mothma, mais qu'on voit genre 5 minutes dans le film. Mais elle dit qu'avec la trilogie, puis surtout avec l'univers étendu maintenant, avec les enfants, avec la fille de Han Solo, puis Mara Jade, puis tout ça, c'est là que ça s'est vraiment
ça
développé.
C'est un boom,
Puis ensuite, on lui a demandé comment que son mari réagissait à sa passion de Star Wars. C'est ça, au début, elle disait que son mari n'était pas un fan, lui, il était plus genre... c'est tout ce qui a trait au voyage dans le temps.
Et la science-fiction avec le voyage dans le temps. Ouais.
Mais maintenant, comme on l'a dit plus tôt, lui joue à Star Wars Galaxy. Tout. Ça, il commence à embarquer.
C'est ça, mais quand même maintenant que c'est pas seulement... pour maintenant que c'est plus pour le plaisir et non pour le travail, il va peut-être commencer à aimer mieux...
Puis la dernière question, c'est on lui a demandé sur quel livre elle travaillait présentement. Elle a dit que c'était un autre livre dans la série Dungeons and Dragons.
Oui, c'est ça, dans les Forgotten Realms. C'est une histoire qui se passe sous l'eau. Encore une fois, on a dit encore une histoire qui a rapport avec ta carrière. Sa carrière, ben, elle a dit, ouais, ça a bien tombé. Puis on lui a dit, donc, si tu réécris un livre de Star Wars, les personnages principaux vont sûrement se retrouver sur Mont Calamari à un moment donné. Puis elle a dit, ouais, il y a des grandes chances.
S'il rajoute la planète dans le livre.
Dans le jeu.
Elle a dit, si ça serait fait, ça serait après le Space Expansion. Ça va paraître cet été. C'est tout.
Et voilà. Fait qu'on a quand même résumé. Vous pouvez la réécouter pour avoir le plus de détails, en espérant que vous comprenez bien l'anglais.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui se sont dites que qu'est-ce qu'on... on vient de résumer. Donc, Community Update. Bon, on va faire ça vite. Parce que là, je suis déjà attendu au restaurant. Donc, dans les événements, le championnat de France de Star Wars TCG, le tournoi national de Star Wars TCG se déroulera à Metz le 17 et 18 avril 2004. Il est sponsorisé par la boutique La Caverne du Gobelin ainsi que Wizard of the Coast. Ce tournoi sera le championnat de France 2004 de Star Wars TCG. Il s'intitulera Choose Your Destiny. Et les pré-inscriptions sont ouvertes. Il vous suffit d'un numéro DCI Wizard of the Coast, ça doit être un numéro du joueur, j'imagine. Pour plus d'informations, communiquez par email à metz@caverne-du-gobelin.com metz@caverne-du-gobelin.com ou par téléphone à la Caverne du Gobelin au 03 87 18 42 08. Il y a une sortie Star Wars Universe qui est organisée à Paris le 13 mars prochain au programme. Repas dans un fast-food le midi, magasin de Saint-Michel dans l'avant-midi, cinéma en fin d'après-midi, dans une ambiance conviviale et surtout bon enfant. Venez nombreux. Pour plus d'informations, allez dans leur forum Jedi Star Wars Universe sur starwars-universe.com. Ensuite, au Québec, le Salon national des collectionneurs. Le salon se tiendra le 24 et 25 avril 2004 de 10h à 17h. L'admission est 5$. C'est au pavillon Les Pionniers de Saint-Hyacinthe. Il y aura des vendeurs de tout genre et d'objets de collection, dont Star Wars. Pour le 5e anniversaire de Sith Clan au Québec et en France, on vous en parlera à la prochaine émission parce qu'on n'a plus de temps. Donc, on vous rappelle que ce soir, une émission en anglais à 19h. C'est le même sujet. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses en anglais, c'est hallucinant. Donc, c'est dimanche à 19h, ce soir à 19h, heure du Québec. La prochaine émission, le sujet est le CGI à l'attaque d'Hollywood, qui est le 14 mars 2004. Donc, on va parler des effets spéciaux et puis comment ça devient de plus en plus courant à Hollywood, même remplacer les acteurs. Ça peut aller jusque-là. On remercie nos commanditaires siteclan.net, Legend Action Figures et simple-net.ca, nos partenaires Star Wars Galaxies France, Fan Wars en Belgique, la Ligue Costumée Francophone, Star Wars Universe, R2-D2 Menace, Roger One, Camus Web, Anakin World, Star Wars Connection, Bolton Online et le plus dernier qui est une ville de Star Wars Galaxy, la ville Mos Umbra Vegas.
Qui est une ville?
Qui est une ville de joueurs qui est nos partenaires. Tous les liens sont disponibles sur StarWarsEnDirect.com. Réponds. C'est ça. OK. Si vous avez des commentaires ou suggestions, écrivez-nous à l'adresse studio@starwarsandirect.com, studio@starwarsandirect.com. Je vous rappelle que si vous aimez cette émission, parlez-en autour de vous. Le bouche-à-oreille est la meilleure publicité que l'on peut avoir de la part de nos auditeurs. Donc, on peut respirer. On vous revoit dans 2 semaines. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Cette émission vous a été rendue possible grâce à SimpleNet. Que vous soyez webmestre, joueur en ligne ou administrateur de serveurs de commerce électronique, chez SimpleNet, nous aurons toujours une solution pour répondre à vos besoins.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Surveillez StarWarsEnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission. Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
La fréquence de leur émission pirate, Star Wars en direct.
D'où émettent-ils ?
Ils émettent depuis Hoth.
Changez de cap. Nous partons éliminer ces rebelles. Personne ne se mettra sans trompe.
Oui, mais les rebelles sont menés par un certain lunatique.
La force est puissante en lui.
Oui, on l'abandonne ?
Oui. C'est trop risqué. Ne prenons aucun risque.
Sir, if you'll not be needing me, I'll close down for a while.